Nous sommes en compagnie du docteur Jacques Benveniste, que nous avions reçu en 1995 et que nous remercions de sa présence à nouveau avec nous. Nous l'appelons docteur car il n'aime toujours pas le titre de professeur, n'est-ce pas? Bonsoir Jacques Benveniste.
Oui, bonsoir. C'est, docteur, c'est plus court, quoi.
Voilà, on va parler de biologie et on va dire également que vous êtes renommé dans le monde entier. C'est, votre temps est précieux, c'est une grande chance pour nous, un grand honneur de vous recevoir. Et on va peut-être commencer par un exemple d'une prescription médicale moderne ou toute proche de nous, où le patient se rend dans une officine disposant d'un ordinateur et se voit prescrire un liquide avec l'impression du médicament plutôt que le médicament traditionnel. Ou l'autre exemple que vous préférez, c'est la détection à distance d'un virus dans une, qui sévit dans une contrée lointaine, et tout cela grâce à la détection du symptôme par la fréquence et puis le transfert par le moyen d'un modem, d'un téléphone, autrement dit de l'internet d'aujourd'hui. Comment ça se passe?
Bien, si vous voulez, nous en sommes pour ce qui concerne ce que vous venez de décrire à la fin du 19e siècle, quand on commençait à se rendre compte que, notamment avec les premiers balbutiements des gramophones et de l'enregistrement sur cire, puis ensuite du téléphone, que la voix étant faite d'une série de vibrations, donc de fréquences, on pouvait transformer cela en impulsion électrique par l'intermédiaire d'une membrane et d'une bobine électromagnétique. Alors, entre ça et le téléphone moderne, il y a eu quelques années quand même. Or, ce qui est apparent maintenant, c'est que les molécules qui sont à la base de la vie, qu'elles soient toutes petites, prenons une molécule de calcium par exemple, ou qu'elles soient très grosses, prenons un anticorps que vous fabriquez, que nous fabriquons lorsque nous sommes en présence d'une bactérie ou d'un virus, eh bien ces molécules ont besoin de communiquer les unes avec les autres. La vie repose sur une cascade de communication. Et les biologistes s'en rendent compte, puisqu'ils utilisent de façon très courante, quotidienne, le terme signal moléculaire. Sauf que personne jusqu'ici n'a défini la nature physique du signal. Moi, je n'ai pas cherché à trouver la nature du signal moléculaire, mais d'expérience en expérience, nous sommes rendus compte que les molécules communiquaient au moins, peut-être par d'autres, dans d'autres zones de fréquence, mais au moins dans une bande de fréquence comprise entre 20 Hz et, comprise entre 20 Hz et 20 kHz.
Et pas nécessairement par contact.
Le contact favorise. Je veux dire que si vous voulez parler, représentez-vous le dialogue de deux molécules, c'est deux personnes au milieu, parlant au milieu d'une foule d'un million de personnes sur la place de la Concorde et Champs-Élysées, quoi. C'est à peu près ça. Alors, il vaut mieux être en contact l'un avec l'autre. Et donc la transmission d'informations, la co-résonance de deux spectres de fréquences co-résonnants, comme ce qui se passe en ce moment d'ailleurs à la radio, se fait mieux si effectivement il y a une identité ou une similitude de structure entre les deux molécules qui se parlent. Mais ce n'est pas, comme le croient les biologistes actuellement, croyance qui est grave et qui est à l'origine de la paralysie actuelle de la biologie sous les dehors triomphants de technologies assez élémentaires, et bien ce n'est pas le simple contact de deux molécules, le simple contact de deux substances physiques qui n'a jamais produit la moindre énergie, sauf s'il s'agit d'uranium 235. Alors, c'est une autre histoire. Donc voilà. Alors à partir de là, c'est comme si on avait trouvé la roue, quoi, et que vous me demandez, est-ce qu'un jour, au lieu de se traîner les charges comme ça sur le sol en les faisant glisser, on va pouvoir les faire rouler probablement oui, si on a l'intelligence de se servir de la roue. Alors, sachant qu'on peut mettre des molécules biologiques dans des médicaments sur un disque dur d'ordinateur, non pas la molécule, mais l'activité de la molécule. Sur un disque d'ordinateur, on met pas le chanteur, on met pas la parole, on met pas la personne qui parle, on met le spectre de fréquence correspondant à l'image ou à ce que racontent ou ce que chantent les gens. Et bien, sachant qu'on peut le faire, oui, un jour, on distribuera des médicaments par Internet. Alors, non pas le médicament, je le répète, mais l'activité du médicament, c'est absolument inéluctable, ça se fera comme ça.
Et pour la détection d'un virus à distance, de l'activité d'un virus?
Oui, alors le virus ou la bactérie ou le parasite ou le contaminant également émet une série de fréquences. Bon, dans mon laboratoire, en routine, nous détectons précisément une bactérie commune qui est le colibacille, Escherichia coli. Et nous différencions parfaitement, nous arrivons à le différencier d'un staphylocoque, d'un streptocoque, enfin de toute autre bactérie. Nous pouvons détecter les anticorps du sida, par exemple, et nous l'avons pas fait parce que nous n'avons pas le système, mais nous pouvons certainement détecter les antigènes aussi. C'est pas miraculeux du tout. En fait, lorsque l'on fait un test actuellement, un test classique, et qu'on met un antigène, par exemple l'antigène du virus du sida, en présence de son anticorps pour le détecter, et l'anticorps réagit parce que il ne réagit pas à un autre antigène, si vous lui présentez le virus de la rougeole, il ne se passera rien. Vous lui présentez le virus du sida, comme c'est un anticorps anti-sida, et ben il reconnaît le virus du sida, voilà. Mais lorsque ces deux entités moléculaires se reconnaissent, elles n'ont aucun moyen de communiquer autre que d'échanger des fréquences. Et il se passe fort probablement, là nous n'avons pas de certitude expérimentale, mais c'est la seule façon dont on peut envisager les choses, un phénomène de corrélation qui fait qu'actuellement les auditeurs branchés sur 95.2, ils prennent ici et maintenant et ils prennent pas France Inter, quoi. La même chose.
Donc chaque virus, chaque entité biologique a une fréquence qui lui est propre et qui peut être donc détectée, reconnue par ce moyen.
Bah ça, on le sait depuis très longtemps.
Bien. Et lorsque dans un liquide, on présente non pas la molécule, mais son signal, sa fréquence, on arrive à faire croire à un anticorps qu'elle est effectivement physiquement présente alors qu'elle n'y est pas.
Absolument, un anticorps ou un système récepteur. Mais lorsque vous êtes en train d'écouter un disque, un CD ou un disque, pourquoi on dit CD d'ailleurs?
Compact disque.
Oui, mais enfin, en français, c'est disque compact.
D'accord.
Alors, on devrait dire DC. Alors, DC, c'est un peu difficile. Il y a comme ça des subtilités qui fait qu'on se laisse, comme dit... Ah, je sais plus qui a dit utiliser cette expression en premier, mais enfin, on se laisse vassaliser, quoi. Il faut faire très attention à ça. Enfin bon.
Donc lorsqu'on écoute un disque compact.
Lorsqu'on écoute un disque compact, oui. Eh bien, votre oreille, elle est. Vous lui racontez des histoires, votre oreille. Elle se fait avoir. Parce qu'elle, elle croit que le chanteur est dans la pièce. Elle sait pas, elle fait pas la différence. C'est votre cerveau qui sait que le chanteur est pas dans la pièce. Vous le regardez, vous voyez bien que Pavarotti n'est pas dans la pièce, quoi. Il n'est pas non plus dans le disque. Hein. Si vous cassez un disque de Pavarotti en deux, vous ne trouverez pas Pavarotti dans le disque, ça je vous le garantis. Les Nobel français croient que Pavarotti est dans le disque, puisqu'ils disent qu'on ne peut pas avoir une activité de molécule sans molécule. On peut avoir une copie d'activité de molécule, bien sûr. Comme on a une copie de la voix de Pavarotti, c'est pas très difficile à comprendre. Enfin bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont un peu aveuglés par une certaine idéologie et qui finissent par ne plus se servir de leur cerveau. À partir de là, effectivement, on peut débarquer... actuellement, par exemple, supposez qu'on détecte une épidémie de quelque chose, et prenons une situation difficile dans un village reculé en Afrique, au bout d'une piste mal commode où il faut 2 jours de voiture pour arriver au premier aérodrome. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on réunit les gens, hein, et puis on leur fait des prises de sang, on met ça dans des containers, ou plutôt dans des récipients, réfrigérés, et puis donc on transporte tout ça à l'aéroport, et puis on met ça dans un avion, Et puis, bon, si l'aéroport est assez grand, ça va. Sinon, on va à un deuxième aéroport, on met ça dans un avion, et puis on envoie ça à Paris, à Zurich, à Atlanta, pour faire l'analyse. Dans le futur, et nous, nous le faisons actuellement, enfin, ça, c'est pas quelque chose de... C'est pas de la science-fiction. C'est-à-dire que nous nous envoyons des activités de bactéries en Amérique, on nous le renvoie par email, on l'envoie par email, on nous le renvoie par email.
Comme un message numérique.
Bah, c'est un message numérique. Lorsque vous enregistrez votre voix ou une chanson, vous avez finalement un dossier qui est en général .wav, WAV, et ben là, on obtient un dossier echerichiacoli.wav.
C'est la même chose. Mais alors comment le captez-vous? Vous plongez une antenne dans un récipient?
Non, on met le récipient au contact d'une bobine électromagnétique. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais le principe, c'est ça. Et comme il y a des milliards de molécules elles sont extrêmement concentrées, eh bien, chaque molécule, évidemment, émet un signal faible, mais l'ensemble émet un signal suffisant pour être capté. Puis ensuite, on l'amplifie considérablement, parce que, évidemment, la beauté de l'électronique et du numérique, c'est la possibilité d'amplifier considérablement le signal. Mmh. Alors, on enregistre tout. Bien sûr, non seulement cette molécule, mais toutes les autres qui peuvent être à côté, ou le bruit qui peut exister dans la pièce, dans les bandes de fréquence.
Et après, on filtre.
Non, pas du tout, on s'en fiche, on laisse le système filtrer. C'est-à-dire lorsque vous injectez un mélange complexe de, par exemple, on injecte un antisérum ou un mélange d'antigènes, par exemple, si vous soyez allergique au pollen, on va être allergique au pollen. Alors on prend déjà un mélange de pollen, on va en prendre 12 ou 15. Bon, vous êtes allergique à un. Et puis, on peut très bien mélanger ce mélange de pollen à de la poussière, du poil de chat, tout ce que vous voulez en allergie. Puis, on peut vous injecter ça sous la peau. Mais si vous êtes allergique uniquement au pollen, la partie pollen de ce que vous avez injecté va réagir avec les anticorps anti-pollen que vous avez sous la peau. Et vous allez avoir une papule d'urticaire. Donc, le fait qu'il y ait tout autour un amoncellement de molécules différentes ne change pas. Ben, l'enregistrement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de fréquences qu'on balance. Mais le système ne réagit qu'à un spectre de fréquences donné et se moque complètement de ce qu'il y a tout autour. Parce que l'on utilise un système biologique pour détecter. De la même façon, d'ailleurs, si on mettait des tas de fréquences non audibles par votre oreille, d'ailleurs on peut en mettre, on peut mettre des tas de fréquences aux alentours de 20 kHz sur l'enregistrement, votre oreille ne l'entend pas, et par conséquent, ça vous empêchera pas d'entendre le chanteur, même s'il y a derrière plein d'autres fréquences, si votre oreille n'est pas sensible, ça vous gênera pas. Donc on est exactement dans la même situation. Mais pour reprendre donc l'exemple du village en Afrique, eh bien, dans l'état actuel des choses, on prélèvera une goutte de sang qu'on mettra dans le détecteur.
Et dans le récipient, entouré d'une bobine.
Entouré d'une bobine, reliée à une carte son et un ordinateur. Un portable, nous enregistrons avec un ordinateur portable, ça marche très bien. Et puis, voilà, vous avez un dossier que vous pouvez envoyer à l'autre bout du monde dans la seconde.
Donc on va enregistrer la partition unique de cet agent qui lui sera propre de manière universelle.
Bah, vous allez enregistrer, supposez que vous mettiez une goutte de sang, vous allez enregistrer toutes les molécules qui se trouvent dans le sang. Mmh. C'est comme si vous enregistriez la 9e symphonie, si vous voulez. Mais à l'autre bout, vous avez un système qui est capable d'entendre que quelques notes du violon dans telle partie de la symphonie. Bon.
Oui, c'est ce que j'entendais par filtrage. Oui.
Oui, mais le filtrage est fait par le système actuellement. Plus tard, on saura peut-être décortiquer tout ça et garder uniquement le bon message. Mais dans l'état actuel des choses, nous ne savons pas analyser ces fréquences. Donc, le système, c'est le système biologique en aval qui, encore une fois, si vous voulez tester du colibacille, eh ben, vous mettez en aval un système de détection qui va détecter le colibacille. Et si vous voulez détecter du streptocoque, même si dans votre enregistrement il y a un mélange de streptocoque et de colibacille, le système colibacille ne va pas détecter le streptocoque ne va pas détecter le colibacille. Bon, c'est un système de réception. Enfin, on peut prendre l'exemple d'une clé et d'une serrure. Vous pouvez avoir 50 clés dans la main. S'il n'y en a qu'une qui correspond à la serrure, c'est seulement cette clé qui va ouvrir la porte. Voilà. Donc à ce moment-là, la détection devient simple, puisqu'on envoie à l'autre bout de la Terre, et puis dans l'heure qui suit, on peut savoir. Autre avantage tout à fait considérable, c'est que tous ces dossiers qui sont très petits, quelques kilo-octets, peuvent être enregistrés et puis gravés sur un CD ou sur un DVD, si vous voulez, et puis 30 ans plus tard, si dans le même village vous avez une épidémie de quelque chose, vous pouvez revenir à l'enregistrement et puis dire, tiens, est-ce qu'il y a 30 ans, le virus existait déjà? Et vous saurez, là, on aurait bien aimé avoir maintenant les premiers enregistrements dans le monde entier pour savoir où le virus du sida est apparu, et à quel moment et de quel virus il a dérivé, etc. etc. Enfin, bon, on peut avoir des idées par la biologie classique, mais là, ça serait beaucoup plus facile.
Donc, ce signal est acheminé vers un laboratoire situé, par exemple, à Chicago. Je me souviens d'une expérience que vous nous aviez décrite en 1995, qui oui. concerne un laboratoire de Chicago, précisément.
Oui, oui. On va la refaire, cette expérience, d'ailleurs.
Et donc, à la réception du signal, pardon, peut-être par un processus électromagnétique inversé, on peut faire chanter cette partition, cette fréquence, dans un liquide vierge.
Oui, je prends un système électromagnétique inversé, c'est le même système que vous utilisez quand vous appuyez sur votre platine qui est sur l'écran d'ordinateur et que vous lui demandez d'aller jouer le disque d'Edith Piaf que vous avez enregistré ou que vous avez téléchargé. Donc vous rejouez simplement le dossier numérique et vous obtenez de la musique.
Et ça peut être prouvé par la présence dans ce liquide, ce réceptacle, d'un anticorps qui va réagir alors qu'il n'y a rien.
Ça peut être prouvé par le fait que lorsque l'on applique soit directement le signal à un organe sensible, par exemple si vous avez, on utilisait parce que maintenant la physiologie, il n'y en a plus beaucoup qui font la physiologie, on fait plus que de la génétique en biologie. Mais vous avez dans un bain un organe sensible, moi j'ai utilisé beaucoup des cœurs isolés de cobayes, et bien le cœur isolé, c'est sensible à un certain nombre de substances, de très nombreuses, et bien on pouvait mettre une bobine autour du bain et envoyer le signal dans la bobine, et le cœur isolé réagissait comme s'il avait été en présence de la molécule. On s'amusait d'ailleurs au labo à deviner la molécule qu'on envoyait en aveugle, et on pouvait très bien savoir si on envoyait de la caféine, ça contractait, la nicotine, ça contractait, ou des produits vasodilatateurs, comme l'acétylcholine, par exemple, qui est un produit vasodilatateur, mais enfin, il y en a beaucoup d'autres. Donc, on pouvait très bien, de cette façon, deviner. Simplement, en envoyant le signal qui baignait le cœur isolé, lequel contient évidemment de l'eau, les cellules contiennent de l'eau, on passe probablement par l'intermédiaire de l'eau, qui est à l'intérieur et autour de cet organe. Mais il reste que là, on n'a pas besoin d'avoir un intermédiaire eau qu'on doit injecter dans le cœur.
Ça veut dire en somme que on peut impressionner quelqu'un par l'image et non par l'objet. Comme si je dis à une personne impressionnable qu'un loup vient d'entrer dans la pièce, sans qu'il y ait un loup, elle aura la même frayeur.
Ah oui, mais enfin, on n'est pas obligé de prendre des comparaisons pareilles. Moi, par exemple, je serais extrêmement impressionné si Rita Hayworth rentrait dans cette pièce, je suppose.
De l'imaginer d'ailleurs, votre bâton, votre cœur vient de s'accélérer légèrement, rien qu'à l'évocation.
Ah bon, oui, peut-être, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, c'est sûr que une photo de Rita Hayworth, pour prendre Rita Hayworth, je ne sais même pas si nos auditeurs savent maintenant qui était la pauvre Rita Hayworth, qui, entre parenthèses, est morte d'une maladie d'Alzheimer.
Gloria.
Voilà, donc, encore plus l'image animée sur un écran, ouais. Mais si le problème s'était posé, j'aurais eu du mal à faire un tango avec Rita Hayworth. C'est quand même pas, c'est une copie hein, que nous faisons. C'est pas la vraie molécule. Actuellement, on n'est pas encore aussi puissant que la véritable molécule. Peut-être qu'on sera un jour, mais pour le moment, nous ne savons pas bien manipuler ce système, pas suffisamment, et nous n'arrivons pas à une puissance. Mais enfin, ça marche très très bien comme c'est quoi.
Ça, c'est le premier élément. Alors, on retient ça en mémoire et ça va prendre une certaine cohérence parce que le phénomène est à la fois lumineux, simple, limpide, mais Toutefois, je ne sais pas toujours par quel bout le prendre, tellement c'est vaste. Alors, on va aborder un deuxième élément, et c'est à la réunion des deux éléments qu'on comprendra mieux votre travail, j'espère. Mm-hmm. Disons que je jette un cachet d'aspirine dans ma baignoire, bien rempli. Mm-hmm. Je prélève un litre de cette eau, et je jette ce litre dans une autre baignoire. Mmh. Et je reproduis ce phénomène plusieurs dizaines de fois.
Oui.
Il n'y aura plus trace d'aspirine à la fin.
Ouais.
Et néanmoins, la mémoire de l'eau attestera que cette eau aura été visitée par un agent aspirine.
Oui. Bah, vous savez qu'actuellement, il y a une façon beaucoup plus simple de le faire. C'est-à-dire, une fois qu'on a l'enregistrement aspirine, je l'ai dit, j'ai pas fait l'expérience avec l'aspirine, mais enfin, j'ai fait l'expérience avec des médicaments autres, par exemple des bêta-bloquants, où ça marche très très bien. Vous avez des médicaments qu'on donne aux cardiaques pour ralentir le cœur, etc. Et donc, le mieux, c'est encore actuellement, si on veut démontrer la mémoire de l'eau, qui fonctionne tous les jours dans mon laboratoire, 30 fois par jour, lorsqu'on marche à plein régime, eh bien, c'est d'avoir l'enregistrement de l'ordinateur qui est transmis pendant 10 minutes à un tube d'eau. Alors bon, le tube d'eau en question est, avant de recevoir l'information, est complètement naïf. Il ne fait rien, on l'injecte, et puis c'est de l'eau, là vraiment c'est de l'eau. Alors bon, je reçois encore un mail tous les mois me disant, mais comment l'eau que vous utilisez a toute la mémoire de ce qu'elle a vu, etc. Bon, on a déjà répondu 50 fois à ça, qu'il y a plein de systèmes qui effacent la mémoire, et dont certains sont des systèmes naturels. Mais cette eau-là, donc, l'eau distillée en ampoule qu'on peut acheter à la pharmacie ne fait rien. Et après être passée pendant 10 minutes dans cette bobine, elle va donner des résultats qui correspondent à la fonction de la molécule qui a été enregistrée. Par exemple, si on enregistre de l'héparine, qui est un anticoagulant, on va empêcher, par cette eau, par ce mélange avec cette eau, qui est de l'eau pure, on va empêcher, enfin pure, de l'eau, mais qui a simplement reçu cette information électronique, de la même façon qu'un disque, qu'un CD, c'est un morceau de plastique. Et il n'est pas différent, un CD qui n'est pas imprimé d'un autre. À l'œil nu, vous ne pouvez rien voir, ce sont tous les deux des morceaux de plastique, et si vous les faites fondre, ben vous vous retrouverez avec le même tas de plastique d'un côté comme de l'autre. La seule différence, c'est que l'autre a une information spécifique qui lui a été gravée par un système que l'homme domine bien, puisqu'il l'a inventé. Sur l'eau, nous ne savons pas ce qui se passe. Donc, mais il reste quand même que cette eau a reçu cette information. Et on peut donc faire ce test-là au bout de 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures. Et si on protège l'eau, une semaine. Et pendant une semaine, l'eau sera comme si c'était de l'héparine. Et c'est banal, ça se trouve sur le site dont on parlera, et actuellement toute cette expérience est faite par un robot complètement automatique qui travaille en aveugle. Nous ne savons pas ce que le robot passe comme signal, et je me demande parfois si lui-même il sait d'ailleurs.
Oui, ce site internet, je vous invite tous à le visiter si vous disposez d'un ordinateur. Le visiter pendant que vous entendez ici même Jacques Benveniste, c'est digibio, en un seul mot, digibio.com. Ça vous inspirera des questions, et au moins vous arriverez par téléphone, intervenant tout à l'heure, davantage au fait de la question. Il y a une partie anglaise un peu plus développée, mais il y a surtout une partie française.
Oui, il y a un texte qui s'appelle « Comprendre la biologie numérique », qui est un texte qui est fait pour des gens qui ne sont pas des spécialistes de biologie, notamment pour les financiers, qui dont certains ont bien voulu parfois nous soutenir. Et donc, ce texte est compréhensible, je crois, par la grande majorité des auditeurs.
Alors, on va tenter une chronologie. En 1984, vous étiez occupé dans l'une de vos spécialités, l'allergie, et vous avez quasiment involontairement fondé, établi des fondements méthodiques, disons, de l'homéopathie, laquelle avait presque 200 ans déjà à l'époque, et vous avez été le premier à montrer que les hautes dissolutions laissaient néanmoins une trace qu'on a appelée la mémoire. Comment ça a été accepté par la communauté internationale, si ce n'est par la publication dans la plus sérieuse des revues au monde, la revue Nature, qui ensuite s'est reniée sous la pression de...
Oui, enfin, je ne crois pas que nature se soit reniée. C'est une histoire assez complexe. On l'a déjà raconté pas mal, mais on l'a résumé. Bon, d'abord, moi, j'ai jamais cherché à travailler sur l'homéopathie. Il faut que ce soit bien clair. Hein. Moi, je suis ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique, et ma spécialité, c'était, pendant mon internat, l'endocrinologie, et pendant mon clinica, la réanimation des malades cancéreux à l'Institut Gustave Roussy. Alors, vous voyez, j'étais très, 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 très loin. Par ailleurs, je suis un esprit extrêmement rationaliste. Enfin, je ne veux pas utiliser le mot rationaliste, mais disons, je suis un adepte de la raison, et j'en admets qu'avec très grande réticence, tout phénomène qui n'est pas du monde que je comprends. Cela dit, je suis tout prêt à examiner les informations qu'on me donne et qui peuvent me faire changer d'avis. Mais il reste que je suis tout à fait... bon, alors l'homéopathie, je vous dis franchement que pendant mes études de médecine, j'y avais jamais été exposé, je savais à peine ce que c'était. Donc j'ai pas cherché à travailler sur l'homéopathie, c'est parce que une technicienne de mon laboratoire est venue me voir un jour et m'a dit « voilà, bah, je dilue et ça a continué à agir », que par hasard, il y avait un stagiaire dans mon laboratoire qui faisait de la recherche de faits classiques, qui me dit « je suis médecin homéopathe ». Et j'ai demandé, ça se soigne, c'est grave. Enfin, j'ai plaisanté, quoi. Il m'a expliqué ce que c'était, et ça ressemble. Il me dit, ce truc-là, ça ressemble à mon petit, puisqu'on dilue, on dilue, on dilue, il n'y a plus rien, ça continue à avoir un effet. Bon, cela dit, il faut bien admettre que l'homéopathie qui a, semble-t-il, des succès à son actif, a encore beaucoup de chemin à faire pour démontrer, d'une façon rigoureuse, les effets cliniques et, ou comme la médecine classique d'ailleurs, il y a beaucoup de, on sait très bien que la plupart des médicaments qui sont dans le Vidal sont en fait des placebos, mais qui, comme placebo, rendent de grands services. Il n'y a pas là-dessus de compétition entre les, disons que la médecine classique est, a une base parfois un peu plus scientifique qui fait accepter tout le reste. Voilà. Donc, à partir de là, effectivement, j'ai continué à avoir ces résultats, on les a perfectionnés dans d'autres systèmes que ceux de début. Et puis le moment venu, quand on avait vraiment une masse de résultats, ben j'ai fait mon boulot, c'est ce que tout chercheur fait, quand il a suffisamment de résultats, ben il envoie des articles.
Vous avez publié.
Et comme j'avais déjà publié, moi, 4 articles dans Nature dans ma vie, et qu'il me connaissait bien, dont un article avait eu beaucoup de mal à passer parce qu'il n'était pas exactement dans le dogme, en 77, si je me souviens bien, eh bien, ils me connaissaient, donc ils ont dit « Tiens, Benveniste, nous avons un truc comme ça ». Ils n'ont pas pu dire « C'est un fou furieux qui nous a... » Mais après ça, il y a eu une manœuvre qui dure encore et qui restera, je pense, dans l'histoire, comme une des plus grandes mystifications de l'histoire des sciences. Hein, c'est absolument clair. Car c'est seulement parce que la biologie française est dans un état de vassalisation totale vis-à-vis de l'anglo-saxonne, que ce qui s'est passé dans mon laboratoire a pu se passer, avec l'approbation des plus hautes autorités de l'État. Je veux dire que le ministre de la Recherche de l'époque était parfaitement au courant qu'un journaliste, un magicien et un chasseur de têtes étaient dans un laboratoire de l'État français pour faire une enquête en dehors de toute légalité, et sans qu'aucune précaution ait été prise pour que la véracité de cette enquête puisse se faire. Imaginez une seconde que, sous l'impulsion de Boeing, 3 zigotos comme ça débarquent dans un atelier de l'aérospatial pour vérifier comment les ailes de l'Airbus sont fixées au fuselage. Enfin, vous voyez, c'est à peu près la même chose. Mais là, comme la biologie française est à peu près dans le même état vis-à-vis de l'anglaise et l'américaine que les trains anglais et américains sont par rapport au TGV, vous voyez, c'est à peu près la même chose, on suit systématiquement ce que font les autres, ben, personne n'a osé bouger parce que c'était le directeur de Nature, quoi. Alors, c'est comme ça que c'est passé. Donc ils sont débarqués, il y a eu 4 expériences qui ont été faites, 3 qui ont marché remarquablement, et une 4e qui a été faite dans des conditions épouvantables, et moi j'ai été placé devant le choix, soit les foutre à la porte, parce que j'aurais dû les foutre à la porte, mais évidemment, si j'avais mis à la porte, la semaine d'après, dans Nature, on aurait mis Benveniste
refuse la
vérification, donc j'étais coincé, j'avais personne pour m'aider à tenir tête à ces gens-là, ils m'ont tous laissé tomber, ils étaient tous sous la table, hein. Le directeur de l'INSERM, le ministre, l'Académie des sciences, etc. Alors pourquoi tout ça? Eh ben, pour une seule chose, c'est parce que tous ces gens, et encore maintenant, vous savez, il n'y a pas très longtemps, dans des revues médicales, etc., je suis attaqué, alors que moi je ne demande rien à personne, et on tire dessus à boulet rouge, où il y a des dans le livre totalement bidon que Charpak vient de sortir avec ce type là qui repose sur une imposture formidable que personne n'a mise à jour, qui consiste à, admettons que moi j'ai des talents de peintre par exemple, alors je vais peindre à Van Gogh. Et je vais prendre une copie de Van Gogh, puis je vais peindre à Van Gogh. Alors les gens vont dire, ah, tiens, c'est peut-être à Van Gogh. Je dis, ah ben non, c'est pas à Van Gogh, c'est moi qui l'ai peint, donc Van Gogh n'existe pas. Mmh. Alors, c'est là-dessus qu'il se base. On peut refaire l'expérience par un magicien, donc c'est que l'expérience qui a été faite n'existe pas. Alors c'est possible que parfois elle n'existe pas, mais
il fallait que vous décrédibilisez.
L'argument en soi ne tient pas. Donc moi c'est eu ces gens-là que j'ai eu autour de moi. C'est une internationale, hein. C'est une internationale dite de, ça s'appelle les skeptics aux États-Unis. C'est un groupe qui est pratiquement sur le plan de la pensée qu'on peut considérer comme fascisant, qui n'admettent absolument rien de ce qui n'est pas déjà connu. Ils ont complètement stérilisé à l'heure actuelle la recherche en général, et on peut en donner des exemples très faciles si on veut chercher. Parce que ces gens qui confondent la raison avec le rationalisme, comme les gens, certains confondent la nation avec le nationalisme, c'est pas la même chose. Enfin bon, revenons donc à la chose, et ça, tout ça, c'est l'homéopathie. C'est-à-dire l'homéopathie est devant ces gens-là un chiffon rouge, absolument, ils entrent en transe. Ils doivent pas être très sûrs de leur science, à mon avis, parce que moi, si vous voulez, si on me dit demain que les fantômes ça existe, et qu'on m'apporte la preuve, bah ça va pas bouleverser ma vie, quoi. Bon, bah très bien, alors admettons, les fantômes ça existe, voilà. Bon, ça va pas m'empêcher de croire que en dehors des fantômes, le monde réel existe aussi. Mais on a l'impression que si on démontre que l'homéopathie a une base réelle, physique, c'est un petit peu comme si vous voulez, on y est, je ne me compare pas à des gens comme ça, mais simplement pour un exemple, on y est Newton parce que les footballeurs utilisent les lois de Newton. Vous comprenez? Alors, ils tapent sur un ballon, le ballon monte et ils savent qu'il va redescendre. Donc, ça doit obéir aux lois de la gravitation universelle. Alors, on va dire, ah, mais monsieur Newton, vous favorisez le football qui est un sport violent et regardez les gens qui se tuent ou se massacrent dans les stades, puis c'est vulgaire et dégoûtant. Donc, monsieur Newton, votre théorie de la gravitation universelle n'existe pas. C'est à peu près aussi intelligent que ça, ces gens-là, ce qu'ils racontent. Mais c'est l'homéopathie. Alors, ils sont obsédés par l'homéopathie. Et moi, tout le temps, on me dit, Benveniste, chercheur en homéopathie, je suis pas chercheur en homéopathie, moi je suis chercheur en immunologie, j'ai utilisé un système immunologique qui a montré qu'il marchait alors même qu'il n'y avait plus de molécules. Qu'est-ce que j'y peux, c'est comme ça, et puis tout le monde...
Si ça sert l'homéopathie, tant mieux pour elle, mais c'était pas le but de la recherche, effectivement.
Alors, bon, là-dessus, c'est vrai que les homéopathes, pendant un très court instant, m'ont soutenu, et puis au bout de quelques mois, dès qu'ils ont vu qu'il y avait des turbulences, ils ont tous disparu. Les grands fabricants de produits homéopathiques, y en a un qui m'a soutenu un petit peu, et puis le principal, je n'aurai pas de nom, il est sous la table depuis et il tremble de peur. Et cependant, il y a eu des choses intéressantes, c'est que sans que j'y participe du tout, il y a eu, vous le savez peut-être, il y a eu plusieurs années, 4 laboratoires européens qui ont repris une vieille technique à moi, la première technique que j'avais envoyée à Nature, mais enfin qui montre l'effet indiscutablement des hautes dilutions.
Vous avez le souvenir d'un labo en Australie,
en
Angleterre, en Israël également,
Attendez, ça, c'est 3 laboratoires, parce que lorsque j'ai envoyé mon papier à Nature, ils m'ont dit, on veut bien publier, mais il faut que ça se reproduise d'abord. C'est totalement contre la loi.
Ah bon, pourquoi?
Parce que, imaginez que si, dans la masse énorme de résultats scientifiques qui sont publiés chaque année, on demandait que chaque résultat scientifique soit reproduit dans un autre laboratoire, je veux dire, la science est arrêtée, complètement. Mm-hmm.
Ça paraît légitime toutefois de...
Non, ce qui est légitime...
De vérifier avant de publier.
Ah non, pas du tout. Ah non, c'est totalement illégitime. Ce qui est légitime, c'est qu'une fois que c'est publié, d'autres laboratoires reprennent la technique et finissent par la reproduire. Mm. Parfois, très longtemps après d'ailleurs. Et puis il y a l'expérience, vous savez, les expériences de physique où on met en évidence un élément sur un anneau de collision, elles ont été faites une fois, hein. Bon, comme c'est conforme à la théorie, on accepte que ces éléments existent. Mais la loi, c'est que en recherche scientifique, le chercheur est responsable de ce qu'il écrit, de ce qu'il dit. C'est pas la revue qui est responsable, c'est le chercheur. Et qu'à partir du moment où on ne trouve pas de faille méthodologique dans son travail, eh bien, il est publié. Et on lui fait confiance. Et c'est sans risque. Évidemment, sinon il n'y a plus de risque. Si... Et vous imaginez bien que moi, si quelqu'un vient me voir et me dit « Bon, mais mon vieux, vous allez arrêter votre travail de laboratoire et pendant 6 mois, vous allez reproduire le travail de quelqu'un d'autre », je le fais pas. Pourquoi voulez-vous que je le fasse? Parce que de toute façon, ça va rien me rapporter, puisque c'est l'autre qui va avoir la gloire. Et moi, je vais arrêter mon travail. Donc, personne ne fait des choses pareilles. C'est tout à fait contre les habitudes.
Donc, en ce qui concerne vos travaux, néanmoins...
Il m'a dit, il faut que ça soit reproduit. Mm-hmm. Alors, c'est très, très, très dangereux, parce que ça veut dire que quand un résultat n'a pas beaucoup d'importance... Bon, prenez par exemple la personne qui va décrire le 38e gène de l'obésité, par exemple, parce que on décrit comme ça des gènes comme ça, et plus on en cherche, plus on en trouve. Alors, ben, il va envoyer un papier à Nature, et on va l'accepter immédiatement, parce que c'est plausible, c'est dans l'air du temps qu'il y ait des gènes de l'obésité. Ça n'a aucun intérêt, tout le monde s'en fout, c'est pas de la recherche, c'est de la technologie pure, mais ça fait rien, il sera publié. Bon, ok. Alors donc, ça veut dire que le système fonctionne maintenant comme un filtre à idées neuves. Si une idée est neuve et bouleversante, ce qui est la définition même de la recherche, bon, eh bien, on refuse. Et on dira, ben non, non. John Maddox, le directeur de Nature, m'a dit, personnellement, m'a dit, aujourd'hui, Nature ne publierait pas Max Planck, la théorie des quantas. Car c'est une théorie... C'est purement théorique, il n'y a aucune définition expérimentale. Et vous connaissez la blague, Dieu, la Bible ne pourrait pas être publiée dans une revue scientifique parce que c'est pas en anglais, et puis ça n'a jamais été reproduit. Quoi. Bon. À l'époque, ils ont dans ces conditions, et 3 laboratoires, un en Israël, un en Italie et un au Canada, on reproduit mes résultats. Ils n'ont jamais été investigués, ils n'ont jamais été inquiétés, on leur a jamais rien demandé. C'est assez extraordinaire.
Alors pourquoi fallait-il vous casser à tout prix?
À cause de l'homéopathie. Mmh. Moi j'étais à une émission de télévision anglaise, After Dark.
Oui.
Sur la 4, et j'ai eu un type qui s'appelle, je sais plus comment, John Lewis, enfin bon, un nom comme ça, qui est à la fois médecin et homme de théâtre, connu en Angleterre, et qui m'a dit: même si vous avez raison, nous voulons que vous avez tort. Nous voulons que vous ayez tort. Il me l'a dit directement. Parce que si vous avez raison, alors on va voir arriver les sorcières sur leur balai et tout l'obscurantisme. Pour eux, l'homéopathie, c'est le diable. Alors que c'est probablement une technique comme une autre. Et que si on découvre un jour que l'eau est capable de... par des théories, enfin selon les théories que certaines ont été publiées, mais qui sont plus ou moins vraies, on n'en sait rien, ou vraisemblables, on ne sait pas très bien, c'est purement théorique pour le moment, on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne, je ne vois pas en quoi ça bouleverse le monde. Enfin, je veux dire, je crois qu'il y a 56 constantes, ou 36, je ne me souviens plus, mais enfin, un nombre important de constantes de l'eau qui sont anormales. L'eau est un liquide d'abord qui ne peut pas exister au départ.
C'est
un mélange de deux gaz liquide à température ordinaire, c'est absurde. Bon, déjà. Ça se dilate en se refroidissant, pour donner une idée simple. Alors que tous les corps se dilatent, tout le monde le sait, quand on les chauffe.
C'est un solvant.
Et bon, c'est par ailleurs un solvant extrêmement puissant. C'est un des solvants les plus puissants qui existent, etc., etc. C'est capable de dissocier une molécule de sel en quelques fractions de seconde, alors que si on cherche à dissocier le chlore de sodium, il faut une énergie absolument monstrueuse. Bon, il y a plein de trucs comme ça.
Un produit fabuleux.
Je suis pas physicien, mais bon. Alors, il y a aussi donc une confusion qui est très fréquente chez les biologistes, c'est que comme l'eau est un liquide commun, banal, on le voit partout, on le boit, etc. Alors, ils considèrent que c'est simple. Et il y a beaucoup de biologistes qui m'ont dit, comment un liquide aussi simple que l'eau, ce qui est encore une fois, montre... vous savez, je ne veux pas avoir l'air arrogant, mais la démarche scientifique est très récente dans l'histoire de l'humanité. Hein. C'est 2 siècles. Hein. C'est-à-dire que jusqu'à avant, il y a eu quand même des grands scientifiques avant, mais la démarche expérimentale telle qu'elle est définie par Claude Bernard, c'est 1,5 siècle. C'est très 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 récent. Jusqu'alors, les hommes se basaient sur des croyances. Et encore maintenant, j'ai le plus grand mal quand je discute avec certains de mes amis à leur faire comprendre que une recherche scientifique, c'est pas quelque chose d'effroyable, compliqué, réservé à... Quand on allume, on pousse sur un bouton électrique, et que la lampe s'allume, on fait une expérience scientifique, hein, et on a une cause, on a un effet, on le mesure. Et puis, si on veut faire une étude statistique, on n'a qu'à appuyer 100 fois sur le bouton, et 99 fois, la lampe va s'allumer. Puis une fois, ben, on aura appuyé sur le mauvais bouton, où la lampe sera sautée, où il y aura... l'électricité de France sera en grève, enfin, on sait pas quoi, mais... donc ça, c'est un résultat scientifique.
Et donc vous étiez au bord du Nobel, pas de chance, ça pouvait tendre à prouver le fonctionnement de l'homéopathie traditionnelle.
Et non, là, c'est pas vrai, vous dites que vous étiez au bord du Nobel.
Parce que c'est énorme, cette mémoire de l'eau. Même si ça n'était pas complètement expliqué, vous posiez un immense point d'interrogation quant au comment.
Oui, enfin bon, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui m'intéresse, moi, beaucoup plus dans cette histoire...
C'est la radiofréquence.
Bon, d'une part, c'est la radiofréquence, mais c'est surtout de comprendre pourquoi le système scientifique fonctionne comme ça, pourquoi fonctionne-t-il comme une église. C'est ça qui est quand même très intéressant. Et vous savez, lorsque je dis la recherche scientifique est en panne, alors j'en dis, Benveniste, c'est exagère, etc. Mais moi, je fais un test extrêmement simple. Citez-moi aujourd'hui les équivalents d'Einstein, Max Planck, Niels Bohr, Heisenberg, Dirac, De Broglie, je peux citer 20 noms, qui entre 1897 et 1937, pour moi, Fermi, Joliot-Curie, Madame Curie, plein, les équivalents actuels, il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'en 1937, la physique théorique s'est arrêtée. Et on peut retracer ça au projet Manhattan, la bombe atomique. Enfin, bon, à ce moment-là, les gouvernements ont pris la recherche en main, si vous voulez, parce que c'est comme ça que c'était fait sérieusement. La liberté de recherche a disparu. Les grands organismes produisent rien. Enfin, je veux dire, c'est notoire, même aux États-Unis. Les grands résultats, c'est des petites universités, c'est pas le NIH. Enfin, en France, l'INSERM n'a jamais eu un prix Nobel. C'est quand même assez hallucinant. L'Institut Pasteur a pas eu un Nobel depuis 40 ans. Quand même assez étonnant. Et alors, quand on voit l'arrogance de ces gens qui prétendent donner aux autres des leçons de recherche scientifique, c'est pas à mourir de rire. Donc, c'est absolument clair qu'il y a eu un... C'est ça qui est intéressant. Alors maintenant, évidemment, le fait d'être capable de mettre une molécule sur l'activité d'une molécule sur un ordinateur, c'est aussi très 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 intéressant. Mais c'est très simple. Ça n'est devenu un sujet de controverse et compliqué et un sujet d'engueulade que par la bêtise énorme, foncière, verticale. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui était à l'Institut Pasteur dans les années 80 m'a raconté l'accueil par un haut dignitaire de l'Institut Pasteur, Nobel et tout ce qu'on voudra. Des gens qui ont stérilisé la recherche française par leur arrogance et leur rationalisme en biologie, complètement. Enfin bon, et il a eu, vis-à-vis de Montagnier, qui avait découvert un truc interdit, c'était interdit en France, le rétrovirus, c'était interdit en France. Parce que la rivière ne remonte pas à la source, c'est un raisonnement purement dogmatique, donc on peut pas passer de l'ARN à l'ADN. Bon. Pas remonter. Parce que évidemment, le risque c'était que si on remonte de l'ARN à l'ADN, on peut aussi remonter de la protéine à l'ARN. Alors là, c'est Darwin qui s'effondre, parce que ça veut dire que les caractères acquis deviennent héréditaires. Donc, mais l'ARN à l'ADN, ça a été montré par la suite, et deux Américains ont eu le prix Nobel, c'est la découverte de l'enzyme qui est capable de faire ça et qui permet au virus ARN, comme celui du SIDA, de s'inscrire dans le patrimoine génétique de la cellule. Bon. Eh bien, le type s'est fait éjecter du bureau du type exactement dans les mêmes termes que moi, je me suis fait éjecter en 88, 15 jours avant l'article de Nature, et où je suis rentré dans le bureau, j'ai dit, monsieur, voilà, je suis un scientifique classique, je suis directeur de recherche à l'INSERM, je dirige une des plus grosses unités de l'INSERM à l'époque, très productive, j'ai eu 3 articles dans Nature et 20 dans le journal Fumologie, enfin je me suis présenté comme quelqu'un, n'est-ce pas? Et j'ai même fait une découverte qui, semble-t-il, se trouve maintenant dans les textbooks, dans les livres de bon, donc je suis pas à n'importe qui.
Et 8 pages dans le monde.
Oui, enfin bon, c'est un accord, mais surtout, j'ai un scientifique classique, quoi, bon. Et ben, je trouve ça. Mm-hmm. Qu'est-ce que je peux faire? Aidez-moi. Je mets à la porte. et vous voyez, c'est ça. Et alors, moi, j'ai pas compris. Pourquoi il me met à la porte? Et après, j'ai compris que c'était l'homéopathie. Mm-hmm. Et Maddox, a donc le directeur de Nature, a mis au point un plan, tout à fait, qui a été de publier l'article, parce que, évidemment, si Maddox avait fait un éditorial en disant « Benveniste m'a envoyé un article, je l'ai refusé parce que c'est impossible », on aurait dit « Maddox, il... » Tandis que là, il a publié le papier, donc il a eu l'élégance de le faire. Puis après, il a envoyé un squad de bidons dans mon laboratoire, avec l'approbation des autorités françaises. Eh bien, à ce moment-là, il a pu... le pilori, c'est ça. Hein. Le pilori, c'est-à-dire qu'on montre quelqu'un à la foule. Et si on dit à la foule, vous savez, il y a quelqu'un qui a fait une mauvaise action, mais ça marche pas aussi bien que si on le met sur le pilori et qu'on le montre à la foule. Eh bien, c'est exactement le système qui a été utilisé. Alors, on raconte que Maddox, que la première femme de Maddox est morte d'un cancer et qu'un médecin homéopathe s'en est pas occupé et qu'il a une dent personnelle contre l'homéopathie. Je ne sais pas si c'est... Je n'ai pas eu l'occasion de lui poser la question, moi, directement, et c'était pas vraiment la question qui m'intéressait le plus. Et puis après, il y a eu toute une série de faux absolument extraordinaires. Il y a un faux qui a été publié par Nature. Et les gens qui vont sur mon site peuvent trouver un site, à un moment donné, quand je me mets à discuter les questions, sinon ils peuvent m'écrire sur le site et je leur indiquerai. Et il y a des scientifiques qui, il y a un an, depuis un an, j'ai pas suivi la controverse, qui ont analysé cet article publié par Nature, qui dit dans le titre « On ne peut pas obtenir des faits par les hautes dilutions ». Mais mes résultats se trouvent dans l'article. Et ils les voient. Et ils disent... ils ont tout fait pour les cacher, parce que... Bon, passer sur les détails. Ils disent à un moment donné, oui, effectivement, voilà, il y a un groupe là qui est anormal, et on ne comprend pas très bien, ça doit être nos statistiques qui sont mauvaises. Et le commentaire d'un des scientifiques qui fait l'étude tout à fait à fond, l'exégèse de cet article, dit « C'est la première fois de ma vie que je vois un auteur qui écrit dans un article, son propre article, que sa propre technique est mauvaise. » Et ce sont des statisticiens en plus, les gens qui ont fait ça. Donc ils disent « Nos statistiques sont pas bonnes. » Autrement dit, ils ont vu le résultat. Et ils l'ont planqué. Alors plus récemment encore, donc il y a eu ces quatre laboratoires européens qui ont... Et il y a un an, le journal anglais Guardian a interviewé une femme qui est à Belfast, qui est professeure, et qui dit « Moi, j'ai entrepris cette recherche pour montrer que l'homéopathie ne marche pas. » Et j'ai trouvé les mêmes résultats que Benveniste. Alors, comme j'avais fait ça par sa technique à l'œil, j'ai pas fait confiance, qui est idiot d'ailleurs, parce que la statistique, ça sert à ça, quel que soit l'instrument de mesure. Si statistique, vous pouvez faire jouer pile ou face, la statistique vous donnera des informations sur les résultats que vous sortez. Mais enfin bon, elle fait refaire ça par un système automatisé avec une machine très compliquée, enfin, en cytométrie de flux, elle trouve les mêmes résultats. Et elle le publie.
En 2001, tout récent.
Oui, 2001. Ah oui, en 91, il y a eu encore sur l'Académie des sciences, mais enfin bon. Mais si vous voulez, c'est tout à fait intéressant de savoir que moi, pendant 10 ans, tout le monde m'a dit, quand ça sera reproduit, on te croira. Et qu'il y a donc 3 laboratoires qui ont publié avec moi et signé avec moi en 88 qui ont reproduit sans moi. 4 laboratoires maintenant, où alors là, j'ignorais même que l'expérience avait lieu, dont un laboratoire l'a fait 2 fois. Là, on peut considérer que ça fait 5 laboratoires, 5 et 3, 8. Ça fait 8 laboratoires qui ont reproduit mes résultats.
Mais ça ne leur suffit pas.
Ah ben, moi j'ai écrit à M. Charpak, j'ai écrit à M. Jacob, j'ai écrit au ministre de la Recherche, j'ai écrit au directeur de l'INSERM. J'ai dit, ben voilà messieurs, vous m'avez dit que lorsque ça serait reproduit, vous l'admettrez le résultat et on pourra enfin travailler, parce que moi je demande que ça, je ne demande pas qu'on me fasse on enlève la statue de Clémenceau sur les Champs-Élysées, qu'on en passe par la mienne. Ça m'intéresse pas du tout. Donc, vous m'aviez dit que, on croira quand ça sera reproduit. Ben voilà, c'est reproduit. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Vous avez oublié le timbre pour la réponse, sûrement. Ils ne vous ont pas répondu.
Ah, ouais, voilà mon erreur. J'ai oublié, là. J'ai oublié le timbre pour la réponse. Oui, ça doit être ça.
Le budget de la recherche était.
Oui.
Assez restreint, oui.
Oui. Et alors, récemment, le Congrès américain a eu une audience et mon nom a été cité avec mention de la biologie numérique. Et je suis soumis à des sollicitations très très pressantes de scientifiques américains dont je sais très bien, je le sais, c'est clair, qui sont liés à la défense. Et moi je fais le mort parce que j'ai pas trop envie que les choses se passent comme ça. Bon, cela dit, ils ont quand même acheté une de nos machines et ils ont reproduit nos résultats.
Alors, ce machine, ça paraît entendu pour vous, mais pour nos auditeurs, il faut expliquer que c'est un automate que vous avez créé et qui a un coût de l'ordre de 300 000 francs. Et vous voulez en proposer à l'étranger?
C'est ça. On en a déjà vendu un aux Américains et on est allé le faire marcher pour eux. Et ils ont bien vu que dans des conditions d'aveugle strict, ça fonctionnait. Mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que c'est une biologie électromagnétique. Donc les interférences électromagnétiques, je peux pas rentrer dans les détails ici, mais les interférences électromagnétiques jouent considérablement et c'est évident que nous ne les maîtrisons pas. C'est une recherche qui devrait, quand on voit qu'il y a 3000 chercheurs qui sont sur une molécule pendant 10 ans et qui vont la développer, et puis au bout de 10 ans on s'aperçoit que elle fait ci et ça, on la retire du marché. Nous on n'est pas 3000, on est 3,5, 4,5. Et dans de grandes difficultés, donc c'est tout à fait ridicule, comme, et en particulier on manque complètement de compétences sur le plan, enfin pas de compétences d'ailleurs, parce que j'ai avec moi un jeune homme qui m'a rejoint il y a quelques années, qui est un centralien, Didier Guillonnet, qui est un type tout à fait remarquable, mais bon, les machines ça coûte cher, et on n'a pas de quoi les acheter, donc on sait ce qu'il faudrait faire, mais on ne l'a pas.
Donc vous avez une soixantaine d'années, vous avez atteint l'âge de la retraite officielle, disons.
J'ai pas une soixantaine d'années, j'ai 67 ans.
67.
Oui.
Donc vous avez atteint l'âge officiel de la retraite.
Oui, absolument. Je suis en retraite depuis le 1er septembre.
Et donc le bloc 2 rejoint le bloc 1. Maintenant, on a, grâce à ce flashback sur la mémoire de l'eau, on avait commencé par les fréquences, les signaux, les molécules. Après, c'est retour en arrière. Maintenant, on a un aperçu l'ensemble de vos travaux sur les 20-30 dernières années. Après tout, l'INSERM n'avait qu'un temps, et puis c'était une impasse. Vous aviez été placardisé, rangé sur le parking des bâtiments. Vous avez quoi construit des bâtiments provisoires, coupé les crédits, peu importe. Maintenant, vous avez enfin votre autonomie. Vous retrouvez peut-être votre plus grande liberté de parole et remplacer l'association de soutien par une société.
Oui, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé, oui.
Vos recherches maintenant.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, notamment au moment où Didier Guillonnet m'a rejoint, moi je vivais briquet de broc, de dons par-ci par-là, et on s'est bien rendu compte qu'on n'y arriverait pas comme ça, et on a donc il a décidé, avec d'autres, de créer une société, Digibio, d'en faire une société anonyme, avec des parts. Et jusque il y a 2 ans, on a trouvé pas mal d'investisseurs, dont un français qui a joué le rôle de ce qu'on appelle business angel, quoi, l'aide au démarrage d'une petite société. Et puis d'autres sont venus, investisseurs anglo-saxons, etc. Bon, depuis 2 ans, c'est beaucoup plus difficile, comme on l'imagine. Et les investisseurs ne veulent pas prendre de risques. Quant au capital risqueur, ils ont beaucoup de capital, mais peu de tendance à prendre des risques. Donc on a un petit peu de problème en ce moment, et on est en train d'essayer de trouver un petit peu d'argent pour faire tourner cette petite boutique. Et puis l'INSERM, bon, à l'époque, moi j'avais construit ce bâtiment pour fabriquer, parce que mon unité avait 50 personnes, et on éclatait avant où on était. Et du coup, comme j'étais inemployable, quel directeur d'unité voulait prendre quelqu'un comme moi dans son unité? Personne. Donc, il attendait tranquillement que je prenne ma retraite, quoi. Alors, j'ai joué un mauvais tour parce que j'ai eu deux enfants un petit peu tardifs, les 3 très précoces et 2. Et donc, comme j'ai fait 2 enfants qui étaient pas majeurs, j'avais droit à 2 années de plus, donc 65 plus 2, ça fait 67, et je viens maintenant prendre ma retraite. Mais le directeur de l'INSERM, qui est le nouveau directeur, qui est un type assez ouvert et intelligent, n'est pas très pressé de me voir déguerpir, donc on va continuer comme ça pendant un certain temps, et si on trouve de l'argent, je pense que dans l'année ou dans les 2 années qui viennent, on va pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire une reproduction de plus, mais cette fois-ci sur une grande échelle, avec des laboratoires de très haut niveau, de façon à faire franchir ce barrage, évidemment des anglo-saxons, parce que si les Français n'accepteront ces résultats, comme ils n'ont encore une fois très peu d'autonomie de pensée en matière de biologie actuellement, ils n'accepteront que si les anglo-saxons disent oui, on est d'accord, ça marche.
Très bien, nous sommes avec Jacques Benveniste depuis une heure à peu près. Il est peut-être temps quand même de faire une courte pause musicale. On se retrouve avec ce brillant chercheur qui nous fera, pour les retardataires, un petit résumé. On continue, on poursuit, et vos interventions seront bienvenues dans un moment lorsque nous libérons le standard. En attendant, vous nous écoutez également sur icietmaintenant.com. Radio Ici et Maintenant. Ici et Maintenant 95.2. C'est la fréquence, c'est une négation que de fréquence pratiquement dans cette émission avec le docteur Jacques Benveniste qui pourra dialoguer avec vous dans un petit moment. Mais tout d'abord, si on essayait de se résumer. Alors, la mémoire de l'eau 84 par accident. Pas de chance pour vous, ça valide en quelque sorte l'homéopathie, ce qui vous placardise au sein de l'INSERM, et puis on tente de vous décrédibiliser par tous les moyens les plus abominables. Vous envoyez un illusionniste masqué dans votre propre labo. Cette publication pourtant s'annonçait bien dans Nature. Les expériences confirmées par d'autres laboratoires étrangers, et puis un désert jusqu'à fonder, passer de l'association Science Innovante à une société anonyme pour continuer à vous battre. Et au fil des années, eh bien, les circonstances doivent, tôt ou tard, immanquablement vous donner raison, puisque vous en êtes maintenant au bord de la théorisation du phénomène. Vous identifiez chaque principe par une fréquence, une longueur d'onde, susceptible d'être captée par un ordinateur sur un disque dur, gravé sur un disque compact, voire envoyé à distance à un autre laboratoire pour analyse à de très grandes distances. Donc vous captez le signal, la fréquence, la mélodie d'une molécule, et puis vous pouvez la faire jouer dans un récipient à l'autre extrémité et donner l'impression qu'elle s'y trouve. C'est un résumé, une tentative de résumé.
Oui, c'est tout à fait ça. La seule chose que je corrigerai légèrement, c'est quand vous avez dit une fréquence. Prenons un exemple simple, les auditeurs actuellement sont sur 95,2. Ça ne suffit pas à ce qu'ils entendent quelque chose. Et à la limite, si on arrête de parler maintenant, il y aura un silence, il n'y aura pas de modulation, et ils vont rien entendre.
Un bruit de fond.
Bon, oui, enfin, s'ils poussent leur ampli au maximum, ils entendront peut-être la porteuse, je ne sais pas, mais c'est tout. Donc, une molécule, c'est pas une fréquence. Ça, c'est une idée très répandue dans les médecines dites
alternatives. La base de signature de virus peut être mise à jour.
L'idée que, tel virus, telle fréquence, telle bactérie, telle fréquence, ça n'a jamais pu être démontré par des critères même les plus simples sur le plan scientifique, parce que c'est pas une fréquence, c'est un spectre de fréquence, un spectre fréquentiel. Alors quelle est la variation de fréquence? Est-ce que ça passe quel champ ça couvre une molécule? Comment est-ce que ça module? On n'en sait rien. Mais je vous avais utilisé le mot champ, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que sur 95,2 moi je parle maintenant, alors c'est Monsieur Benveniste qui parle, très bien, les gens qui connaissent ma voix peuvent la reconnaître, et puis tout à l'heure vous pouvez passer à un chanteur, mais ça sera toujours sur 95,2, et ça sera deux choses complètement différentes.
La porteuse et le message.
Voilà, la porteuse et la modulation de la porteuse qui est le véritable message. C'est plus compliqué que simplement, ça serait trop simple, s'il suffisait de faire une fréquence donnée et boum, on a une activité moléculaire, ce serait formidable. Mais c'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus compliqué, quoi.
En essayant de résumer vos travaux aujourd'hui, en préparation de cette émission, auprès de quelqu'un, j'ai essayé cette image d'une feuille blanche de papier gaufré sur lequel je frappe avec le chaton d'une bague. Donc le papier restera toujours blanc, sauf qu'il portera une empreinte.
Oui.
Donc l'eau, cette fabuleuse substance quasiment inconnue, très méconnue, a la capacité de retenir un message vibratoire.
Oui, sauf que, encore une fois, votre comparaison est trop physique. S'il s'agissait d'une molécule isolée, on peut imaginer que des agrégats de molécules d'eau, H2O, se disposant dans une certaine forme, puissent se servir de moule, enfin, etc. Bon, mais ça ne tient pas dès qu'on examine la chose. Je veux dire, c'est comme une onde. Si vous êtes dans une pièce complètement isolée de champs électromagnétiques, la composition de l'atmosphère, de l'air, de la façon dont la lumière pénètre dans la pièce, les constantes physiques de la pièce seront exactement les mêmes que s'il y a une onde qui traverse. Bon, prenons un exemple plus simple. Vous avez une bande magnétique et elle est vierge, vous venez de l'acheter, il n'y a rien dedans. Donc vous la faites passer sur un magnétophone, il n'y a aucune musique qui en sort. Et puis vous prenez la même bande magnétique et vous enregistrez une symphonie, un concerto ou un chanteur ou ce que vous voudrez. Si vous faites l'analyse chimique de cette bande, les deux bandes seront exactement identiques, puisque dans un cas, il y a simplement une polarisation des petites particules de fer.
C'est une disposition différente des particules.
Disposition différente des particules de fer. Donc, l'eau n'a pas d'empreinte. Il y a un phénomène physique qui fait que... Alors, l'autre chose qui plaide contre, c'est qu'on peut enregistrer sur de l'eau une molécule donnée. Par exemple, une petite molécule, l'histamine, l'acide choline, un poids moléculaire de 30, 50, si vous voulez. Bon. On peut aussi enregistrer un anticorps. Alors, le poids moléculaire d'un anticorps, c'est 150 000. C'est, si vous voulez, un Boeing par rapport à un vélo, quoi. Et puis aussi, on peut enregistrer un sérum total, un plasma. Alors, un plasma, ça contient des milliers de composants. Il y a des grammes et des grammes de protéines, de lipides, de tout ce qu'on voudra. Et pourtant, le système qui va être, il va reconnaître l'activité qu'on a enregistrée sur ce plasma, qui peut être un plasma qui contient par exemple un anticorps donné, va reconnaître parfaitement l'anticorps. Autrement dit, on enregistre la 9e symphonie, et à un moment donné, le système entend le triangle qui fait ding 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 au deuxième mouvement, au troisième mouvement de la 9e symphonie. Et donc l'eau a une capacité d'enregistrement parfaitement illimitée. Et ça peut pas se faire d'une façon physique, par réarrangement des molécules. C'est quelque chose de complètement différent. C'est une propriété. Alors, il y a des physiciens italiens qui ont décrit des interactions électromagnétiques dites quantiques à longue distance qui permet de décrire des domaines cohérents dans l'eau où les molécules se disposeraient d'une telle façon que les fréquences spontanées des molécules d'eau se comporteraient comme un laser. Et dans ces conditions, on peut imaginer que ça puisse transporter le son des molécules, enfin ce qui ressemble à des fréquences sonores, comme un laser peut le faire dans votre lecteur de CD. Mais c'est trop simple, et probablement la réalité physique de cela est beaucoup plus complexe et demandera beaucoup d'efforts pour le comprendre. Mais la réalité du phénomène est absolument indiscutable. Et si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je ne croirai ces résultats comme d'autres, mais enfin les résultats de Benveniste que lorsqu'on aura l'explication », vous pouvez instantanément lui tourner le dos, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous raconte une histoire.
Quelqu'un qui a une mauvaise foi.
C'est un idéologue. C'est le fait que l'on n'ait jamais su comment fonctionnait le soleil pendant des dizaines de millions d'années n'a jamais empêché les êtres pensants ou non pensants de chauffer avec le soleil ou les arbres de faire de la synthèse chlorophyllienne. Et c'est depuis 1925 qu'on sait comment le soleil fonctionne. Ça n'a pas empêché en 1910 de prendre des bains de soleil, etc. Donc, la plupart des phénomènes actuellement que l'on étudie, notamment en biologie, on n'en connaît absolument pas le mécanisme. On ne sait pas du tout comment fonctionne une cellule. Et c'est que très récemment qu'on a découvert comment fonctionnait une partie des activités de l'aspirine. Ça n'a jamais empêché personne d'utiliser de l'aspirine et de savoir que lorsqu'on a mal aux dents, l'aspirine, c'est bien utile, quoi.
Voilà. Alors, comment fonctionne le tomate que vous mettez sur le marché?
Alors bon, on peut pas dire qu'on le met sur le marché, mais disons qu'on met à la disposition des laboratoires de recherche qui veulent reproduire nos expériences cet automate. C'est un automate tout à fait banal en biologie. On l'a acheté d'ailleurs, on en a acheté la base, puis on l'a modifié. Ce qui nous paraît intéressant dans l'automate, c'est de permettre pour la première fois d'éloigner l'opérateur. Alors d'abord, on éloigne l'opérateur avec toute la suspicion qui entoure nos expériences, puisque je vous rappelle que dans 3 numéros du Monde, j'ai été traité 8 fois par 2 prix Nobel de fraudeurs, ce qui évidemment les déshonore définitivement. Mais bon, disons que actuellement, il y a un tel état d'esprit qui règne dans cette recherche, qui est devenue presque judiciarisée à l'anglo-saxonne, que dès que quelqu'un a un résultat un peu aberrant, on le soupçonne immédiatement de fraude. L'avantage, c'est que là, personne n'approche du système.
Sauf pour charger les éprouvettes.
On met les réactifs au départ, et puis l'ordinateur passe 4, 6, 8 échantillons, déclenche le passage par le robot, l'ordinateur code à l'aveugle, si bien que nous ne savons pas quels sont les tubes qui sont en train d'être analysés. Je vais faire une plaisanterie, je dirais que le robot ne sait pas non plus. Et le système est fait de telle façon que si on interrompt le code, si on veut rentrer dans le code avant que l'expérience soit finie, ça s'arrête, quoi. On peut pas rentrer dans le code. Et le code est donné au hasard par la machine. Donc on prend toutes les précautions nécessaires, même pour nous d'ailleurs, pour éviter que des influences extérieures puissent se manifester sur le robot. Alors ça a eu l'avantage de montrer que qu'on pouvait faire cette expérience sans intervention humaine, et en plus d'éloigner l'opérateur, parce que si vous prenez un transistor avec son antenne, vous savez parfaitement bien que lorsque vous allez vous rapprocher de l'antenne, vous allez perturber la réception.
C'est une interférence, oui.
Une chose, tout le monde peut savoir ça. Ou approcher même un transistor d'un écran de télévision ou d'un écran d'ordinateur, et vous verrez que la réception sera perturbée.
Jusqu'à déformer l'image, par exemple, oui.
Oui, absolument. Nous avons des éléments qui nous permettent de penser que dans cette biologie électromagnétique, certains opérateurs perturbent l'expérience. En plus ou en moins d'ailleurs. Or là, avec le robot, nous pouvons nous affranchir de cela. Et c'est à la fois plus facile, mais aussi plus difficile, parce que parfois le rôle de l'opérateur peut être... on voit mieux l'expérience quand l'opérateur est à côté, quoi. Alors c'est pas des interactions psychiques ou choses comme ça, c'est simplement le fait que nous savons que soit nous servons d'antenne, soit nous émettons des champs électromagnétiques, c'est tout à fait possible, puisque on les capte d'ailleurs, il y a des machines qui captent les champs électromagnétiques du cerveau, qui sont utilisés en médecine, donc c'est une chose connue. Et pourquoi n'y aurait-il pas des gens plus puissants que d'autres dans ce domaine? Donc le robot nous permet surtout ça nous permet de... Et d'ailleurs les auditeurs peuvent voir le robot fonctionner sur le site, on le voit, hein. Si on tape digibio.com /, comment dire en anglais, vidéo, on a trois, on peut télécharger trois fichiers de grande taille pour ceux qui ont une connexion rapide, de plus petite taille pour les autres.
Ça fonctionne sur la partie anglaise du site, oui.
Ça fonctionne... Si on tape digibio.com vidéo, on tombe directement sur le système. Et on voit un résultat très probant d'inhibition complète d'une coagulation de plasma par de l'héparine virtuelle. Je pense que dans les 15-20 ans qui viennent, lorsqu'on aura besoin de soigner quelqu'un qui a une coagulation d'un vaisseau quelque part anormal, une phlébite par exemple, on enverra l'héparine à l'endroit où on a besoin de l'envoyer, et non pas comme maintenant dans l'ensemble du corps où ça crée des problèmes. C'est évidemment la thérapeutique de demain, mais nous n'en sommes pas là.
Bien, Jacques Benveniste, que peuvent faire ceux qui n'ont pas croient en vous, mais croient en votre honnêteté, savent que vous ne valez pas le dixième d'un Majax ou d'un Ranqui en tant qu'illusionniste, mais que vous êtes un chercheur sincère et profond? Comment peuvent-ils aujourd'hui vous aider, autrefois en adhérant à l'association, mais maintenant, comment peuvent-ils vous rejoindre, vous soutenir, vous manifester un soutien?
Écoutez, s'il y a des auditeurs qui sont en position de jouer les sponsors, on met bien des centaines de millions dans des bateaux pour la Coupe de l'Amérique. Il me paraît plus intéressant, moi, de mettre de l'argent dans une recherche qui, de toute façon, est intéressante et risque de déboucher sur des choses importantes si on y arrive. Je crois pas qu'il doit y avoir beaucoup d'auditeurs comme ceux-là qui sont en position de le faire. Mais il paraît que j'ai pas le droit de dire qu'on peut souscrire des actions de Digibio, ça s'appelle un appel public à l'épargne, donc je ne le dirai pas.
Non, on l'a pas dit.
Et on l'a pas dit. Mais enfin, bon, s'il y a des gens qui veulent nous aider actuellement, ce dont on a besoin, c'est de payer les salaires et de pouvoir continuer cette recherche, puisque on est capable en France de mettre 3 milliards dans le projet génome humain qui, tout le monde le sait maintenant, débouchera nulle part. Moi, je le savais depuis très très longtemps, depuis plus de 10 ans. Certains généticiens américains, comme Richard Lewontin de Harvard, le dit également depuis 10 ans, pour des raisons fondamentales, ce sera intéressant de connaître le génome, mais c'est pas ça qui apportera un moyen thérapeutique quelconque. On connaît le gène du virus du sida depuis 10 ans, de la mucoviscidose depuis je sais pas combien de temps, et n'empêche que les malheureux gosses ont toujours des tas de problèmes et que pour le moment, ça n'a pas débouché.
Vous voulez dire que la cartographie est une perte de temps?
Oh, ben c'est une chose à peu près aussi intelligente que de dire, voilà, on vient de me donner une machine, je sais pas comment elle fonctionne, ça s'appelle un ordinateur. J'ai jamais entendu parler de ce machin, donc ce que je vais faire, je vais prendre chaque pièce de l'ordinateur, chaque résistance, chaque transistor, chaque petit bout de plastique, et je vais tout démonter, mettre tout sur une table, et quand je saurai absolument tout, eh ben, je comprendrai comment ça marche. C'est une stupidité absolument verticale. Personne n'a jamais décrit comment on passe de la connaissance d'un gène au contrôle. Enfin, la meilleure preuve, c'est que maintenant, on revient à la protéomique, je sais pas comment ils appellent ça, qui est tout simplement la biochimie des protéines améliorées, parce que c'est bien sur le produit du gène qu'on peut agir en bloquant telle ou telle chose par ce que fait la pharmacologie depuis 5000 ans. D'abord par des procédés purement artisanaux, puis maintenant par des procédés chimiques.
Donc pour vous, la voie de recherche, c'est pas la nomenclature des composés.
Mais la biologie, enfin pourquoi il n'y a pas de... Enfin, j'ai fait un article dans Le Monde en 96 qui disait que depuis 30 ans, il n'y a aucun résultat de biologie fondamentale qui a été introduit en thérapeutique. Et que les quatre grands groupes de pathologies majeures que sont les maladies, le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies infectieuses et parasitaires et les maladies dégénératives n'ont pas évolué d'un iota depuis 50 ans. Rien. Alors, il y a eu d'énormes progrès, attention. Encore en cardiologie, il y a eu d'énormes progrès, par exemple. En neurologie, pratiquement zéro. Rhumatologie, pratiquement zéro. Mais il y a des progrès qui ont été faits sont empiriques ou technologiques. Par exemple, on est capable de passer des tuyaux dans les veines, dans les artères, et de comprendre beaucoup de choses sur le plan cardiologique. Mais il n'y a pas eu de progrès fondamental. On ne sait pas mieux maintenant comment fonctionne une cellule, et encore moins comment se cancérise une cellule. Et on est incapable. C'est une médecine que nous avons développée qui est une médecine de la pièce de rechange. Même la thérapie génique, c'est qui ne marche pas. Mais enfin, il y a eu plus de 500 essais, et jusqu'à maintenant, aucun n'a marché. Enfin, un a marché dans des conditions bien spéciales à Necker. On est très heureux pour les gamins qui ont réussi à guérir. Mais enfin, c'est des conditions qui ne peuvent pas se reproduire dans le grand sens. Et encore moins dans déjà, les maladies génétiques, on n'est pas sûr qu'on va y arriver, mais dans les maladies comme le cancer ou l'asthme, choses comme ça. Ça, c'est hors de question que l'on puisse se livrer à des manipulations aussi. Enfin, c'est bricolé, quoi. Il y a eu plein d'articles dans Le Monde, notamment récemment, et les gens qui veulent avoir ces articles, je les ai chez moi, je peux leur envoyer. Ils n'ont qu'à le demander sur le site, qui vont par des généticiens tout à fait reconnus et qui disent ça marche pas et ça marchera probablement pas avant 30 ans. Alors qui peut dire comment on va marcher? Enfin, tout ça pour revenir au point principal, pour dire qu'on est capable de mettre 3 milliards là-dedans, on est capable de mettre je sais pas combien de milliards de dollars dans une station orbitale dont personne, absolument personne ne sait et n'a jamais défini à quoi elle pouvait servir. Station qui est en construction à l'heure actuelle, pense que le mieux qu'elle puisse servir, j'ai entendu Patrick Baudry récemment, Patrick Baudry s'appelle l'astronaute, dire cela, donc il sait de quoi il parle, ça peut peut-être servir au mieux au tourisme, c'est-à-dire que des gens qui payent 10 millions, 20 millions de dollars pourront aller faire un tour dans la station, mais tous les fantasmagories d'usines en apesanteur où on pourrait faire des protéines pures ou croître des cristaux, tout ça c'est des blagues absolues, comme est une blague absolue et malheureusement pour les malheureux gosses qui depuis 15 ans sont traînés devant les caméras, que le fait qu'on va pouvoir changer un gène par un goût de baguette magique et puis tout va se mettre à fonctionner comme il faut, c'est absurde. Ce qui est grave, c'est pas tellement ça, c'est le fait que pendant ce temps-là, on ne fait pas de la recherche classique. Alors pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, ça ne marche pas parce que la biologie n'est pas moléculaire, n'est pas directement dû à l'action des molécules physiques. Évidemment, les signaux sont d'origine moléculaire, mais les molécules sont là pour envoyer des signaux. Et le fait de connaître les molécules ne permet pas, d'où l'échec d'ailleurs de cette fameuse pharmacologie qui devait faire des médicaments sur le modèle des molécules. Il y en a eu 2 ou 3 qui ont été faits comme ça, mais ce qu'on a appelé le drug design, c'est-à-dire le fait d'être capable de construire une molécule qui va inhiber spécifiquement une autre, de la construire de toutes pièces en comprenant la structure de la première, est dans l'ensemble un échec absolu, puisqu'on est revenu maintenant à des systèmes de criblage extrêmement rapides, mieux perfectionnés, mais qui sont quand même des systèmes de criblage. Et la production de nouvelles molécules est extrêmement faible. En 2001 a été une année blanche. Il n'y a pas eu une seule nouvelle classe de molécules qui a été produite en 2001. Donc, c'est clair que le fait de vouloir isoler chaque molécule est un travail sans fin et qui n'a pas progressé. C'est comme si on voulait comprendre comment fonctionne une forêt en répertoriant et en dessinant les feuilles de chaque arbre, si vous voulez. C'est absurde comme système. Alors que bien évidemment, si on s'intéresse non plus aux molécules, mais aux messages qu'elles émettent, alors là, c'est toute l'électromagnétique moderne et toute l'informatique moderne qui entre en jeu et qui permet la pharmacologie du futur. Ça va pas être de continuer à faire ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire de prendre une molécule, d'enlever un phosphore, de mettre un soufre, d'enlever un soufre, de mettre un chlore, etc. Ça se jouera sur un clavier, c'est-à-dire qu'on rajoutera sur un spectre de fréquences donné, on va enlever des fréquences ici, on va en ajouter là. Bon, moi je l'ai fait déjà d'une façon complètement empirique et sans l'avoir voulu d'ailleurs, et on a très bien vu que en appliquant un champ magnétique à un signal moléculaire, on arrivait à le modifier de façon à ce qu'il devienne inhibiteur. Mais après, j'ai arrêté de travailler là-dessus parce que c'était complètement empirique. Donc, si vous voulez, on se trouve à l'heure actuelle en biologie dans une erreur fondamentale qui est la même que l'astronomie du temps de Ptolémée, de croire que les molécules interagissent les unes avec les autres physiquement comme les astres interagissent avec des engrenages. Et lorsque Newton d'ailleurs est apparu, il s'est fait engueuler horriblement parce qu'il postulait non plus une action directe d'astre à astre, la Lune qui tourne autour de la Terre avec des engrenages. J'utilise le terme engrenage, mais c'est plus compliqué que ça dans l'astronomie de Ptolémée, mais enfin c'est à peu près c'est physique, quoi. Et lui disait, mais non, pas du tout, c'est à distance, il y a simplement un effet par un phénomène mystérieux, un champ gravitationnel, qui est toujours pas très bien compris d'ailleurs, parce qu'on la gravité, on sait pas très bien quelle force agit lorsqu'on se fait tomber une pierre sur le bout du pied. Mais enfin bon, c'est le même débat. Donc le jour où les biologistes auront compris ça, il faut plus s'intéresser à la structure des molécules. On se fout de la structure des molécules. C'est exactement comme si vous me disiez quelle est la structure du larynx, de Pavarotti ou de la calasse. Ben, mais complètement égal. On m'intéresse qu'est-ce qui en sort. Et donc le jour où ils auront compris ça, la biologie va se mettre à s'accélérer à toute vitesse parce que on aura la possibilité d'enregistrer, d'analyser, de faire des corrélations, ce qu'on ne peut pas faire maintenant. Et surtout, de trouver dans un matériel d'origine cellulaire, dans une soupe moléculaire, de trouver des molécules qu'on ne connaît pas. Car à l'heure actuelle, quand vous faites une analyse, vous prenez une cellule quelconque, un lymphocyte par exemple, vous le faites réagir dans un milieu, et vous analysez ce qui en sort, et vous ne pouvez trouver que ce que vous connaissez déjà, que vous savez mesurer. Donc, on ajoute des connaissances, puis après, c'est extrêmement lent. Alors, on décrit une interleukine sur la lymphocyte, 2, 3, 4, 5, 25 maintenant, ou 30, je ne sais pas combien, une protéine kinase, 2 protéines kinases, 50 protéines kinases, 100 protéines kinases. Mais au bout d'un certain temps, on ne peut plus faire de corrélation entre ça. Alors, s'il y en a une qui bouge, une autre qui descend, la troisième qui est égale, au-delà de 3 ou 4, on n'y arrive pas. Et de toute façon, pour reprendre l'exemple des lymphocytes, lorsqu'on analysera cela non plus par analyse chimique, molécule par molécule, mais demandant à l'ordinateur d'analyser le spectre de fréquence qui est contenu dans le liquide, eh ben, il va vous dire, écoutez, vous croyez que vous avez 25 molécules là-dedans, mais moi, je compte 300 spectres de fréquence différents.
Et alors, vous voulez que je les analyse? Oui, d'accord. Alors, ils veulent sortir. Ben voilà, il y en a 298. Voilà ce que c'est. Il y en a une qui est l'enzyme qui colore en rouge les coquelicots. Vous ne doutiez pas qu'elle était dans les lymphocytes de humain. Ben oui, ben, elle se trouve là. Voilà. Et puis, il y en a deux. Ben, je ne sais pas ce que c'est. L'ordinateur, ben, on ne sait pas. Ben, voilà, c'est un spectre de fréquence que je n'ai pas dans ma mémoire. Et c'est, ben, ça va être, ben, c'est proche. Ben, tenez, oui, ça ressemble, sur la partie là, ça ressemble à, alors là, ben, je vais vous dire n'importe quoi, à l'enzyme qui déclenche la mue d'un serpent en Australie, voilà, par exemple. Bon. Et ben oui, vos lymphocytes, ils ont ça. Et si on déclenche cette enzyme, et ben pouf, le lymphocyte va mourir. Et là, on a un système qui est non, sans limite, quoi. On n'est plus en train de se dire qu'on va, enfin, c'est la différence entre envoyer une lettre par Pony Express de New York à Chicago et puis l'email, quoi. Vous voyez un petit peu. Et alors, ce qui m'étonne, moi, c'est que quand moi je dis ça aux gens, au lieu des gens me disent, bah tiens, bah, pourquoi pas, après tout, oui, on sait très bien que les molécules, ça vibre, on le sait depuis 50 ans, ça s'appelle la spectroscopie moléculaire, hein. On caractérise de l'alcool ou de l'acide cyanhydrique à 3 milliards d'années-lumière par les rayons spécifiques, donc on le sait. Alors Ben Willis dit que c'est pas seulement des vibrations comme ça qu'elles s'amusent à bouger parce que ça amuse les molécules de danser la salsa, non, c'est parce que c'est leur langage de communication. Ça corrésonne, bah oui, la corrésonance en acoustique on connaît, oui, c'est assez logique. Donc si on met deux molécules qui corrésonnent, ben il est sûr qu'elles vont s'influencer l'une l'autre et qu'elles peuvent passer de l'information. Ouais, tout ça c'est logique. Bah, il est peut-être pas si fou que ça. On va mettre 0,001% de crédit qu'on met dans le génome humain qui manifestement aboutit à rien. Et ben on va mettre ça là-dedans. Ben non. Alors ils sortent de là quand on leur dit, ils disent, bah voyez. C'est la preuve que ce mec est fou, quoi. Alors c'est quand même assez intéressant, parce que ça veut dire quoi? Et puis alors il faut lui enlever son poste, il y avait des zigotos qui téléphonaient à Mitterrand une fois par mois pour dire quand est-ce qu'on révoque cette honte de la recherche française, etc. Alors ça veut dire quelque chose de très très intéressant, et on peut terminer là-dessus cette partie, qui va très loin. Et qui explique les échecs actuels là et le fait que la recherche fait du surplace derrière les cocoricos technologiques, hein, du genre on a trouvé le gène de ci et le gène de ça. Eh bien, maintenant, l'erreur est devenue crime en science. Parce que moi, qu'est-ce qu'on me reproche? Qu'est-ce qu'on me dit? Tu te trompes. Tu racontes des conneries. C'est pas possible ton truc. Personne ne se hasarde à dire, le moins du monde, surtout depuis que maintenant on est à 8 laboratoires qui ont reproduit, que par hasard, tout le monde, ces centaines de personnes fraudent tout ensemble. Hein. Bon, personne n'en parle, quand même. Il faut être aussi borné que les prix Nobel que j'ai cités tout à l'heure, et aussi ayant aussi peu de sens de l'honneur pour pouvoir taxer un de leurs collègues de fraude, et ensuite foutre le camp à toute vitesse en refusant de rendre compte de ce qu'ils disent. Mais en dehors de cela, ces gens sont d'ailleurs, je veux dire, parfaitement méprisables. Je méprise personne, mais ces gens-là, je les méprise absolument. Profiter de sa position pour salir un collègue sans apporter le moindre début de commencement, je ne dis pas de preuve, mais même d'éléments. Et ce qu'il y a de plus lâche, enfin de plus écœurant, etc. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils ont réussi à dire l'erreur. Alors, imaginez le parallèle dans le football, par exemple. Alors, Zidane entre sur le terrain. Puis alors il descend avec le ballon et puis pouf, il manque un but. Ah mince, Zidane a manqué un but. Bon, alors là, et puis crac, il manque un deuxième but. Et puis un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Il manque, il faut l'éjecter du terrain ce mec, quoi. C'est un mauvais footballeur. Évidemment, il va faire 15, 20, 30 essais dans le match et il va marquer 3 buts. Mais n'empêche qu'il en a raté 27. Autrement dit, le bilan est plutôt catastrophique. C'est exactement ce raisonnement-là qu'on en est. Vous vous trompez, mon vieux, vous serez condamné, on va vous enlever vos... etc. Ben, sauf si on fait partie du bon groupe, où là, on peut passer sa vie à ne rien publier, on se retrouve à l'Académie des sciences. Ça n'a aucun problème. Mais quand on n'est pas dans le bon...
Ça veut dire qu'en science, on veut du reproductible à 100%, et on n'est pas étonné quand on atteint 95%.
En France, en science, et particulièrement en France, où les gens sont particulièrement dogmatiques, on a fini par croire que toutes les expériences, même celles qu'ils commencent, doivent fonctionner comme la science établie. Alors ça, c'est mortel. Parce que si vous regardez bien les choses, si vous regardez bien les choses, vous débarquez dans un laboratoire qui, depuis quelques jours, a réussi à faire marcher une expérience. Et vous arrivez comme un juge. Vous dites, bon, ben, montre-moi votre expérience. Marche pas. Ben alors, monsieur, vous dites que ça marche. Ben oui, ben, ça marchait hier, et puis aujourd'hui, ça marche pas. Et alors, vous racontez des histoires. Non, 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 je vous assure que je l'ai vu. Bon. Puis vous revenez la semaine d'après, à l'intervalle, le type vous dit, ben, j'ai réussi à le faire marcher. Vous arrivez, pas, manque de peau, ça marche pas. C'est comme ça. Il n'y a pas une expérience scientifique, notamment en biologie, avec un truc, qui est maîtrisée du premier coup. Il faut des mois, des années.
Ça peut dépendre aussi du produit fourni, celui-ci ne sera pas réactif.
Éventuellement, mais ça dépend de plein de choses que les gens ne contrôlent pas, parce que, vous savez, quand vous mettez une aiguille dans une veine, vous avez déjà 20, 30 variables. Alors, vous n'allez pas toutes les explorer, parce que sinon vous passez votre temps à laver le savon et vous n'arrivez jamais à rien. Bon, alors si on vous dit que vous avez pris une aiguille en zinc, est-ce qu'il serait passé si elle était en aluminium ? Si j'en sais rien. Ah bon, vous ne contrôlez pas tout votre... Vous comprenez ? La science, c'est comme dans l'histoire de l'affaire Dreyfus, la question ne sera pas posée, quoi. Bon, si vous posez toutes les questions, vous passez votre temps à poser les questions, à répondre aux questions, à jamais faire l'expérience. Il y a beaucoup, moi je connais des scientifiques qui sont comme ça. Donc c'est un consensus, on essaye de mimer les choses. Et si vous arrivez avec un esprit purement d'investigation de type judiciaire, vous allez paralyser la science. Alors c'est vrai qu'au début, on pourrait très bien dire que le type qui dit « Tiens, j'ai vu quelque chose, mais je le vois plus aujourd'hui, mais je crois bien l'avoir vu quand même, ça vaut peut-être le coup que j'aille voir ». Et vous dites ça marche pas votre truc, donc vous êtes considéré comme un fraudeur. Au début, on fraude tous un peu. On bien sûr qu'on prend des résultats positifs et qu'on néglige les négatifs, parce que
on arrondit à la virgule supérieure.
Ben non, c'est pas ça. Non. Enfin, le mot fraude est trop fort, mais je veux dire, c'est comme les premiers avions. Le type vient vous voir et dit, tu sais, j'ai réussi à décoller de 5 mètres sur 50 mètres. Viens voir. Bon, alors vous arrivez, et puis ce jour-là, le vent souffle de travers, le moteur, il est à la moitié de sa puissance, où le type se prend les pieds dans les pédales, et puis il s'écrabouille, et il décolle pas. Il dit, ça marche pas ton truc, quoi. Sharpa, qui avait assisté aux essais d'Antoinette de Blériot, on n'aurait plus d'aviation. Alors ça avait été à tous les coups. Bon, c'est ce genre d'esprit fort, un peu abrupte, péremptoire, et qui veut dire, mais enfin monsieur, qu'est-ce que c'est que ça? C'est absolument clair que ce sont des gens qui sont pas prêts à faire une découverte scientifique.
Aucun, on n'aurait pas compris, il avait été cité il y a 40 minutes, mais là, on vient de voir passer à nouveau, oui.
Qui ça?
Le Sharpa.
Ben oui, non, mais pas, c'est le prototype de l'esprit rationnel qui va stériliser et qui va tirer sur tout ce qui bouge et qui ne comprend pas. Et en cherche, la définition même de la recherche, c'est justement ça. C'est de mettre à jour des choses qui sont en contradiction avec la chose précédente. Moi, on m'a dit, mais ce que tu dis est en contradiction avec ce qu'on sait des molécules. Ben oui, mais si c'est mon boulot de trouver des trucs, si je trouve des trucs qui sont pas en contradiction, c'est pas de la recherche. C'est faire de la recherche entre Palais Royal et l'Opéra, comme on est, c'est pour un très grand explorateur. Donc c'est tout devenu fou là dans le système.
D'ailleurs, vous prenez des risques, vous acceptez de les prendre. C'était déjà le cas en 95 dans l'émission précédente. Vous disiez, après tout, si quelqu'un est disposé à marcher sur le feu à côté de chez moi, je veux bien les voir, tandis que beaucoup d'autres, ceux qu'on vient d'évoquer, n'iront même pas en disant c'est impossible, c'est réputé impossible, par conséquent pourquoi me déplacerais-je? Vous acceptez de vous prêter à des expérimentations de tout ça sans a priori, voilà un homme de science, un bon sens.
Oui, enfin je sais pas si je suis un homme de science, mais moi je veux dire... J'ai rien à prouver, j'ai fait mon travail, j'ai découvert des choses, je sais pas si c'est important, intéressant, et je me sens pas le droit du tout de recevoir une portée de petits chats que j'avais pas voulu et décider de les noyer parce que ces petits chats-là ils correspondent pas au standard des petits chats. Mais je veux dire, c'est absolument clair que cette attitude... Si on ajoute à ça une énorme superstructure, des instituts considérables, des crédits gouvernementaux, des revues internationales, des systèmes de juges avec des référis, c'est-à-dire des arbitres qui vont décider oui on prend ou on prend pas, on comprend très bien que la science n'y résiste pas, hein, tout ça, elle est complètement étouffée, et Dieu sait que je suis pas le seul dans mon cas. Et ça ne veut pas dire que tous les gens qui racontent n'importe quoi ont raison. Mais moi, je dis qu'il faut écouter les gens qui racontent n'importe quoi si on veut avoir une chance de trouver quelque chose qui ne soit pas la stricte routine est triste que l'on voit actuellement.
J'ai une question ici plus spécifique. Est-ce qu'on peut penser que vous avez utilisé des longueurs d'onde très courtes qui sont censées être en résonance avec l'eau des cellules?
Vous savez, quand quelqu'un me dit « Est-ce que vous pensez ?», je réponds toujours « Je suis chercheur, donc je ne pense pas. »
Non, est-ce que vous avez essayé alors plutôt des longueurs d'onde de préférence?
Non, nous avons travaillé avec ce que nous avions sous la main, c'est-à-dire une carte son d'ordinateur qui enregistre entre 20 Hz et 20 kHz. Alors, est-ce que ça corresponde avec l'eau elle-même? J'en sais rien. L'eau émet une infinité de fréquences.
Vous n'avez pas pu balayer toute la gamme?
Absolument pas, on n'a pas les moyens. Alors, on sait qu'on agit sur l'eau elle-même. En dehors de ça, il y a des situations un peu compliquées à décrire où nous pensons qu'il se pourrait bien que n'importe quelle eau ne fasse pas le boulot et que...
N'importe quelle eau?
Ben voilà, pour prendre une comparaison qui n'est qu'une comparaison, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, si vous achetez une disquette d'ordinateur et que vous la mettez dans votre ordinateur, elle ne va pas fonctionner. Il faut la formater d'abord. Alors, moi, je suis pas un formateur.
Vous désignez c'est le nombre de pistes et de blocs et de secteurs, oui.
Moi, je sais pas vraiment ce que ça veut dire formater, mais vous le savez apparemment. Mais tout ce que je sais, c'est que j'appuie sur le bouton et l'ordinateur me dit voulez-vous formater? Je réponds oui, je formate. Et là, ça marche. Eh bien, il n'est pas impossible que l'eau soit pareil. Mais bon, c'est sûrement pas des secteurs, des trucs, des machins, c'est autre chose. Mais nous nous rendons compte que effectivement, il y a des circonstances dans lesquelles. Et là, je peux vraiment pas rentrer dans les détails parce que c'est encore plus embêtant que la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau, ça finirait par devenir quelque chose de banal et que tout le monde pourrait accepter. Mais alors ça, c'est beaucoup plus difficile à avaler et du coup, je risque vraiment de me retrouver sur un bûcher. Je tiens pas tellement. Enfin, sauf peut-être en hiver, pendant un moment court, on se trouve bien. Mais après, c'est comme le supplice du pal, quoi. Ça commence bien, mais ensuite, on a des problèmes. Bon. Eh bien, disons que oui, il n'est pas impossible qu'on ait besoin de formater l'eau et qu'à un moment donné, quelque chose corresponde avec l'eau. Ou certaines des activités, j'aime pas le mot vibratoire, mais parce qu'il est trop galvaudé, mais disons des fréquences de l'eau, et il y en a énormément. Il y a des sites qui donnent des informations exhaustives sur l'eau. Enfin, il y a un site anglais absolument extraordinaire, de la South Bank University, SBU quelque chose .com ou .UK, je sais pas, où il y a un volume sur l'eau. Enfin, c'est absolument monstrueux ce que ces gens-là ont pu. Et là, on se rend compte que le problème des fréquences de l'eau, c'est un problème d'une complexité absolument énorme. C'est pas moi qui pourrais m'attaquer à ça.
Est-ce que vous avez identifié des gammes plus pertinentes que d'autres, des longueurs d'onde plus efficaces, si on peut dire?
Bon, nous dirons que c'est pas quelque chose qu'on a fait systématiquement, mais qu'on a l'impression, quand je dis que c'est de 20 à 20 kHz, c'est plutôt dans les fréquences, la partie la plus basse de ces fréquences que ça semble fonctionner.
Et vous êtes familier de cette image des sous-marins, de la communication entre sous-marins?
Oui.
Vous pouvez revenir sur cette image de la communication entre sous-marins?
Ce qu'on sait, c'est que les hautes fréquences ne passent pas bien dans l'eau et que ce sont les basses fréquences quand on veut communiquer avec un sous-marin et encore par une grande profondeur. Mais enfin, je pense que ça arrive à 40 mètres, un truc comme ça. On communique dans les basses fréquences, dans les kilohertz. Je pourrais pas dire exactement dans quelle bande, mais ça doit être, c'est l'ordre de 10 kHz ou peut-être moins même.
Alors, est-ce qu'il y a des fréquences qui impriment mieux, qui grave mieux le message?
Ah, ça je sais pas. Nous jouons toute la gamme de une bande son, une carte son d'ordinateur, ça coupe à 20 Hz et à 44 et puis avec bon qu'il faut diviser par deux pour des raisons théoriques. Et donc
c'est étonnant que ce soit coïncident avec la bande audio humaine.
Ah, ça c'est pas étonnant, c'est très intéressant. Alors attendez, ça ne veut pas dire que si on ne se trouvait pas dans les mégahertz, on n'aurait pas aussi la possibilité de trouver une activité. Nous savons que dans cette bande-là, on a une activité représentative de la molécule. Mais peut-être que...
Bah, c'est une chance, parce que c'est la bande qu'un ordinateur est capable de graver.
Voilà, alors ça c'est une chance extraordinaire, et c'est bien tombé pour moi. Mm. Mais moi je l'ai fait entrer dans les pieds, parce que bon, j'ai appris dans tous les bouquins que les molécules, ça vibre très très haut dans les terahertz, dans l'infrarouge. Mm. Et donc quand il y a un copain informaticien qui m'a dit ben, puisque tu dis que c'est électromagnétique, on va faire un ampli, on va transformer ça, j'ai traîné pendant 6 mois, j'ai dit mais écoute, arrête, tu peux pas faire un ampli qui transporte de terahertz. Mais ouais, ben essayons. Puis, enfin, c'est giga, après je crois que c'est tera, après c'est péta hertz, et puis après je l'ai plus en tête. Enfin, c'est très très haut, c'est au-delà, bien au-delà des gigahertz et des micro-ondes. J'ai un petit truc sur moi, mais enfin bon, je vais pas embêter les auditeurs avec ça. Enfin, disons des très très hautes fréquences. Bon, on a pas d'ampli, ou alors s'il y a des gens qui ont des amplis comme ça, ça va coûter pas mal d'argent, on n'a pas les moyens de les obtenir. Donc nous, on travaille entre 20 Hertz et 20 kilos. Et on sait qu'on reproduit très honnêtement, on inhibe très joliment la coagulation du plasma par une héparine qui est diffusée dans cette bande-là. Alors, peut-être que si on avait... on connaissait mieux le signal de l'héparine, on travaillerait entre 9 kilos et 11 kilos. Mais pour le moment, on le fait pas. C'est pas notre problème.
Bien. Là, j'ai résumé avant l'intervention des auditeurs. En tout début d'émission, vous nous avez expliqué que vous avez donc mis au point un système qui permet de capter le signal vibratoire, la fréquence d'une substance, grâce donc à un récipient placé dans un champ électromagnétique, un détecteur, un concentrateur, si on peut dire.
C'est un tube que l'on place sur quelque chose qui... Bah, disons que ça ressemble à un micro, sauf qu'il n'y a pas de membrane, quoi. C'est une bobine électromagnétique.
De stocker ce message, de le véhiculer via Internet, puis de le faire jouer dans un autre récipient, lequel va donner l'impression que la substance s'y trouve, alors qu'il ne se trouve que son message.
Voilà, exactement, comme on le fait avec la voix. Par téléphone.
Ça, c'est
rien d'autre par téléphone. On fait vibrer une membrane d'un côté. Il y a une impulsion électrique qui passe par le fil, et à l'autre bout, il y a une autre membrane qui vibre dans l'autre sens, et qui fait bouger les molécules d'air, et on retrouve la voix.
Alors, que pensez-vous de cette information selon laquelle des dispositifs permettent d'intégrer dans une paroi, des dispositifs anti-bruit, on intègre dans une paroi un émetteur en opposition de phase afin de supprimer l'essentiel de ce bruit? Est-ce qu'il est possible donc d'émettre dans un bassin, d'émettre une fréquence en opposition de phase avec le corps indésirable?
Oui, c'est ce que je croyais aussi, et lorsque j'en ai parlé à, encore une fois, à mon collaborateur Didier Guillonnet, il m'a dit que c'était pas du tout comme ça que ça se passait. Alors j'avoue franchement que je sais pas très bien pourquoi, parce que moi, l'acoustique et l'électronique, je sais bidouiller un ordinateur, mais je sais pas rentrer dans les... Et donc, selon lui, c'est pas possible. Enfin bon, il y a des tas de firmes, pas de par le monde, qui sont spécialisées dans ce système d'atténuateur de bruit. Il y en a même sur les avions maintenant, où effectivement le bruit est réinjecté sous sa forme en position de phase. Il semble que pour ce qui concerne un spectre de fréquence, c'est pas aussi simple.
Peut-on rêver de passer un malade dans un champ fréquentiel bien choisi, disons le menu de choix de fréquence auquel il sera soumis a été bien cadré, afin de le guérir des fréquences parasites qui se traduisent chez lui en maladie, dans une médecine, disons, à venir?
Écoutez, ce qui se fera, je crois, le plus vite, mais enfin à échéance de 10, 15, 20 ans quand même, c'est de commencer à faire de la détection par des systèmes extrêmement sensibles, et à condition que l'on ait progressé dans l'analyse du signal, c'est-à-dire que on n'ait plus besoin d'un système biologique en aval pour vous dire c'est telle ou telle molécule, mais que l'ordinateur lui-même aura en mémoire le spectre fréquentiel de la molécule, une banque, et ça, il va le sortir en temps réel. Donc à ce moment-là, on pourra commencer à capter les fréquences de tel ou tel organe, puis un jour probablement du corps entier. Et l'ordinateur dira, bon ben voilà, je détecte toutes les fréquences qui existent sur un organisme. Notamment, il faudra des ordinateurs infiniment plus puissants que les nôtres, mais bon, on sait que ça double tous les 18 mois, paraît-il, la puissance des ordinateurs. Donc là-dessus, on finira bien par arriver à cette puissance. Et puis, il dira, ah bah tiens, voilà, dans le sein gauche, je trouve une molécule, une série de fréquences qui ne me paraissent pas correspondre à ce qu'on trouve dans un sein normal, ou dans un poumon, ou dans un foie. Et c'est pas impossible que ça arrive relativement vite, ça.
Pour les diagnostics, donc.
Pour le diagnostic. Alors, l'application, moi, j'ai déjà fait quelques essais d'inhibition de coagulation avec de l'héparine virtuelle chez trois lapins. Mais j'ai pas les moyens de faire cette recherche. Et j'ai vu des effets. J'ai vu des effets. Maintenant, vous savez, à partir du moment où vous dites, quand vous êtes bien installé dans la science officielle, les membres de l'Académie des sciences, vous pouvez dire, j'ai traité 5 malades et puis j'ai vu un effet, comme on l'a dit il y a quelques années sur des malades cancéreux et la thérapie génique, sans que personne ne se mette à crier. Donc moi, je vais pas faire la même chose et dire que parce que j'ai eu 3 résultats sur un lapin, sur des lapins, je sais comment utiliser.
C'est une piste.
Mais c'est un début, et il me semble bien que ça va fonctionner. Évidemment, pour moi, dans mon labo, tout le monde sait, il y a un motto bien précis qui est one result, no result, two result, no result. Et là, on peut dire que three result, no result. Hein, c'est pas parce qu'on a 3 résultats qu'on peut dire quelque chose. Mm-hmm. Mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. On l'a fait fonctionner sur des organes isolés. Un jour, on pourra effectivement... Vous savez, ça fait 5000 ans que la thérapeutique fait une chose absurde. Parce que depuis que Hippocrate a commencé, ou je sais pas qui, ou peut-être même avant lui, des guérisseurs utilisant des plantes, à modifier le corps humain malade en lui faisant absorber un produit extérieur destiné à corriger sa maladie, que ça soit efficace ou pas, c'est un autre problème, mais enfin c'est ça le but, et ça fait 5000 ans qu'on fait la même chose absurde. C'est-à-dire que, bon, prenons un exemple simple, vous avez mal aux dents, et vous prenez un comprimé d'aspirine. Alors, le comprimé d'aspirine, quand vous l'avalez, il est très près de l'endroit où il doit aller. Mais il n'y va pas. Mm-hmm. Alors,
il prend un circuit long.
Il prend un circuit long. Il va pas à travers l'estomac, il fait un petit trou dans l'estomac au passage. Et puis ensuite, il diffuse dans tout l'organisme. Alors, il bloque, l'aspirine, ça bloque une enzyme bien précise qui s'appelle la cyclooxygénase. Alors, il bloque toutes vos cyclooxygénases. Donc vos plaquettes n'agressent plus, si vous blessez, vous saignez pas mal. Une femme enceinte, elle peut pas accoucher parce que ça va bloquer les prostaglandines, etc., etc. Bon, mais bon, dans l'ensemble, c'est un médicament assez sûr, l'aspirine, ça donne relativement peu d'accidents. Et n'empêche qu'au bout d'une demi-heure, il va y avoir su, le tonneau va être rempli, et puis ça va monter. Et à ce moment-là, le millième ou le millionième, je ne sais pas exactement, mais vous allez prendre 1 gramme d'aspirine qui est énorme pour que un microgramme arrive au niveau de la dent et vous soulage votre douleur. Absurde.
Je crois qu'on évolue maintenant vers des médicaments qui savent détecter leur cible.
Oui, mais vous pouvez en acheter en pharmacie, ces médicaments-là.
Ils sont au stade expérimental.
Oui, ça fait 20 ans que j'ai entendu ça, moi, que c'était au stade expérimental.
Je comprends, Jacques Benveniste, que vous fassiez peur parce que finalement, votre... une découverte, en plus de valider incidemment l'homéopathie, pour moi elle s'apparente à la pensée magique, où c'est plutôt le nom que le produit qui puisse être efficace, autrement dit le verbe, la vibration, plutôt que le produit lui-même.
Oui, on a dit ça de tous les gens qui ont commencé à utiliser les fréquences. Quand le représentant d'Edison est venu à l'Académie des sciences en France dans les années 1880, je crois, enfin à peu près. Eh ben, il y a un zigoto.
Edison, c'est l'ampoule, oui.
Edison, c'est l'ampoule, oui, et puis d'autres choses, plein d'autres choses. Je crois que le gramophone, c'était Graham Bell. Eh bien...
1880, l'Académie des sciences.
Oui, il y a un zigoto qui lui a sauté à la gorge, physiquement, il s'appelait Bouillot. Il y a un médecin très connu de Brousset, qui, je crois, il était à Brousset, il a découvert le rhumatisme articulaire aigu, qui est la maladie de Bouillot.
Et la bouillotte pour la guérir.
Oui, non. B-O-U-2-L-A-U-D. Et il vient sauter, il m'a dit, monsieur, vous n'abuserez pas cette noble assemblée avec vos tours de ventriloque.
Ah oui.
Bah oui, ce que vous voulez, ça fait aucun sens que la voix, regardez ce que c'est que la voix. il faut un cerveau, il faut des cordes vocales, il faut un larynx, donc il faut une langue, il faut la bouche, enfin moduler tout ça. Essayez de parler avec un caillou dans la bouche, vous verrez déjà que vous avez des problèmes. Et tout ça, vous mettez ça sur de la cire? Non, mais vous foutez du même. Vous donnez un téléphone à Léonard de Vinci, qui était, semble-t-il, pas le dernier des imbéciles. Surtout le premier. Et ben, si vous lui expliquez pas le principe, vous lui dites, vous voyez, vous parlez dans ce machin-là, et puis vous êtes à Amboise, c'était Amboise, hein, et on vous entend à Florence. Il va vous envoyer la machine à travers la figure, Léonard de Vinci. Et il faut lui expliquer le principe. Eh ben, Léonard de Vinci, je vais faire plaisir à Charpak, je vais lui dire qu'il ressemble tout à fait à Léonard de Vinci, quoi. Il comprend pas le principe, donc il fout tout en l'air.
Mais vous, un Galilée?
Ou à De Gaulle? Non, moi, je suis pas un Galilée, je suis un expérimentateur.
Ou à De Gaulle pour sa vision des blindés. C'est ce qu'on évoquait en
95. Ah oui, depuis, j'ai lu pas mal de livres sur De Gaulle, et je dois admettre que De Gaulle avant la guerre, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
On va ouvrir les standards. On va permettre à nos auditeurs, enfin, diront certains, de participer. Donc, nous allons recevoir Dominique pour commencer, mais juste avant, un rappel du site internet du docteur Jacques Benveniste, c'est digibio.com, digibio.com. Bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez?
Oui, on vous entend.
Oui, bonsoir. Alors la question que je voulais poser, en fait il y en a même deux, mais c'est le même genre. Est-ce que monsieur Benveniste, d'ailleurs que je félicite de ses travaux et d'avoir eu le courage de continuer malgré les charpacs que je déteste, à connaissance des travaux d'un japonais qui a fait sur les molécules d'eau, et justement la question du journaliste de tout à l'heure sur le nom qui informerait et qui ferait en fait qui aurait une action sur la molécule de l'eau, en fait ce japonais a photographié des molécules avec une information différente et ça donne des structures moléculaires différentes. Il a fait un bouquin qui a été publié.
Je connais bien.
J'ai des références quelque part, mais je ne les ai pas sous les yeux, donc je ne peux pas vous donner ni le titre ni l'auteur.
Oui, il s'appelle Emoto. Je le connais bien, je l'ai même rencontré récemment. Alors, si vous voulez, là, vous me placez dans une position difficile parce que moi, je suis très attaqué.
Mais on vous soutient.
Enfin, il y a des gens qui me soutiennent, mais enfin, je veux dire, par la science. Par ma propre maison, qui est la recherche scientifique. Et si je commence à dire un tel n'est pas bien, je me conduis... Enfin, les gens peuvent croire que je me conduis comme les gens. Bon, alors, je dis pas qu'Emoto n'est pas bien. Emoto a fait des superbes photographies. C'est vraiment... son livre est un livre d'art, on peut l'acheter comme ça.
Oui.
Mais je ne crois pas vraiment du tout que, pour le moment, ça ait une valeur scientifique quelconque. Il faut bien comprendre que Emoto écrit sur un verre I love you et l'eau
oui.
est belle.
Oui.
Et puis exactement. Il écrit fuck you et l'eau elle est pas belle du tout. Alors c'est quand même très anthropomorphe. Par exemple, il joue du Mozart et l'eau est belle, et du rock et elle est pas belle. Alors,
Oui, mais ça, il y a eu d'autres expériences sur les plantes.
Oui, il y a eu des expériences sur les plantes.
C'est un rapport avec la vibration, en fait.
Oui, c'est vrai. Cela dit, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se passent de bouche à oreille, et quand on cherche véritablement le résultat vrai, fait dans des conditions expérimentales solides, parfois on ne les trouve pas. Hein. Donc.
Et les travaux de Jean-Claude Pérez?
Ah ben attendez, Jean-Claude Pérez, c'est complètement différent. Non, ça, Jean-Claude Pérez, c'est tout à fait scientifique, c'est tout à fait mathématique. Je suis pas sûr que je comprends très bien ce qu'il fait d'ailleurs, parce que si vous avez parlé avec Jean-Claude Pérez, c'est difficile de l'arrêter de parler quand il a commencé, encore pire que moi, et ensuite de comprendre. C'est un mathématicien pur, et il fait des travaux notamment sur les prévisions, sur l'évolution de l'ADN, qui sont tout à fait fascinants.
Là, il n'est pas non plus accepté.
Oui, c'est le rapport entre la structure de l'ADN et puis certaines suites mathématiques.
Certaines suites
de Fibonacci.
Voilà, de Fibonacci qui est la suite de qu'on trouve dans certains.
Et pour
coquillages.
Moi, c'est un rapport évident avec le travail des motos. Enfin, je sais pas, ça me paraît pas du tout. Ouais.
Bah, écoutez, je vois pas. Ce que je sais, c'est que nulle part dans le livre des motos, sa méthodologie était précisée. Et par ailleurs, lorsque je le lui ai demandé, disons que j'ai eu l'impression qu'il y avait un choix des clichés et que c'était qu'aucune expérience n'était faite en aveugle et par conséquent, cela dit, ça ne veut même pas dire que ce qu'il dit est faux, parce qu'il est possible que ça soit vrai en plus. Oui. Hein. Y a des gens qui ont trouvé des choses intéressantes, la méthodologie n'était pas merveilleuse. Dans toutes les activités humaines, c'est pareil. Il y a des gens qui ont essayé de faire voler des avions, et puis comme ils ne savaient pas très bien, ils se sont cassés la figure. Ça ne veut pas dire pour ça que les avions ne marchaient pas. Il faut toujours avoir un esprit critique dans les deux sens. Mais pour le moment, moi, je ne peux pas considérer que les motos apportent quelque chose.
Alors,
de solide.
Je vous ai posé cette question par rapport à ce livre sur des molécules d'eau, en fait, parce que moi, je suis intéressée, en fait, fondamentalement par les travaux de Roland Plocher.
Oui.
Qui a mis au point l'antenne Plocher et qui lui a permis de revitaliser des lacs.
Oui.
Et en fait, ça repose sur le principe de la... Je pense c'est assez compliqué à expliquer, mais c'est la transmission d'informations par un support, sur un support, et
oui,
ça
oui.
permet de la réactivation de l'oxygène.
Oui, j'ai lu ça, j'avoue
c'est
que je l'ai lu il y a longtemps, j'ai un petit peu oublié.
Oui.
Mais disons qu'il y a beaucoup de procédés
c'est qui... C'est pas cartésien du tout, et les Français ne supportent pas, ça existe quasiment pas en France.
Non,
alors
non.
En Autriche et en Suisse, il y a des lacs entiers qui ont été... qui sont revenus à la vie, quoi.
Oui, ça ne m'étonne pas, et c'est tout à fait imaginable que l'on puisse passer par l'eau, et que, enfin, moi je sais que l'eau est capable de... Moi, dans le temps, j'ai fait des expériences très précises en montrant qu'après avoir exposé de l'eau à un simple aimant permanent, l'eau agissait sur un cœur de cobaye de façon différente que si elle n'avait pas été exposée à un aimant. Donc on sait que l'eau est capable d'enregistrer, de véhiculer des informations. Et pourquoi pas, à chaque fois, il faut toujours examiner les sources, et c'est un peu comme des journalistes qui font une enquête. Moi, ce qui me frappe aussi très énormément, c'est de voir que, vous savez, depuis que j'ai publié ces papiers, les gens me prennent pour un spécialiste de l'eau, ce qui est absurde. C'est comme si on prenait un chanteur comme un spécialiste de la bande magnétique. Lui, il s'en sert comme une bande magnétique, c'est tout. Moi, c'est la même chose. Je me sers de l'eau comme une bande magnétique, mais c'est pas pour ça que je suis devenu un physicien du solide. C'est très, très complexe. Mmh. Moi j'ai eu des tas de propositions, des gens qui sont venus me voir en me proposant telle ou telle activité miracle, et quand je regardais leurs documents, maintenant je vais sur leur site, je m'aperçois qu'il y a toujours souvent un papier recherche, et on tombe donc sur les résultats scientifiques, et parfois la page est vide, où le lien ne se fait pas, et où il n'y a pas d'information réelle. Donc là,
ils diffusent pas le procédé en tant que...
Non, le procédé, on s'en fiche à la limite. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont les...
Ils expliquent où ils sont. Moi, j'ai acheté leur bouquin. Il y a les exemples des lacs. Enfin, il y a des gens qui font des recherches en université en Allemagne.
Dans le
vide, quoi.
Non, mais ce qui se passe, c'est qu'en France, il y a un mot qui est banni actuellement, notamment en biologie, c'est le mot électromagnétique. Vous avez le droit de dire que les molécules ont des charges, donc de dire qu'il y a des charges électrostatiques, ça pose aucun problème, tout le monde est d'accord, c'est dans tous les bouquins. Mais si vous parlez électromagnétique, alors là, on vous tombe dessus et on vous cite tout de suite Mesmer, etc.
Ah oui.
Lorsque j'ai fait mon article dans Le Monde en 96, bon, j'ai eu des tas d'insultes de bas étage, on va parler, mais un type comme Axel Kahn, qui, lorsqu'il n'est pas trop prosélyte pour la génétique, est un homme, de toute façon, un homme respectable, mais scientifiquement, m'a répondu d'une façon normale, habituelle, mais à la fin, il m'a quand même traité de Mesmer, si vous voulez, parce que je prononçais le mot électromagnétique. Et alors que dans tous les pays en Russie, il y a des recherches remarquables sur le sujet, en Chine bien sûr, Lantin vient de faire un livre, enfin il a sur les ondes qui tuent. Oui, il donne beaucoup d'informations et on voit à quel point les Français sont en France. Pas question qu'il y ait une équipe. Je crois qu'il y a une équipe qui travaille sur ces.
Mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez que Mattei, qui a fait partie de la commission d'études, la commission d'enquête sur les la malfaisance des antennes relais, va remettre la loi qui a été votée par le gouvernement soi-disant socialiste. Parce que lui, je pense qu'il est un peu plus scientifique dans le sens correct du terme, et qu'ils savent très bien que les antennes relais à moins de 3 mètres des habitations et des êtres vivants, c'est hyper nocif. Et mais je pense que c'est aussi grâce au bouquin de Jean-Pierre Lantin, quoi.
Oui, c'est tout à fait possible.
Ouais. Heureusement qu'il était là, celui-là aussi.
Oui.
Mais c'est vrai. Enfin, moi, je suis vachement contente que vous parliez. Ça m'a. Je pensais à vous depuis un bout de temps. J'écoute rarement si tard, mais c'est vraiment bien, quoi. J'espère que l'émission sera rediffusée. Ok. Plus de questions à poser.
Bon, Dominique, branchez-vous sur le site et vous avez d'autres questions courtes, avec une réponse courte, on sera un plaisir de. De poursuivre l'échange.
Merci et bonne soirée.
Merci Dominique.
Au revoir.
Nous accueillons Ono.
Bonsoir l'équipe et bonsoir Monsieur Benveniste.
Bonsoir.
Il est vrai que j'ai assisté il y a quelques années à un colloque de physiciens. Il y avait une fermeture. Il y avait une fermeture chez ces gens-là. C'était vraiment d'un physique de crouton. Bon, j'ai pas de connaissances en physique, mais là j'ai parcouru sans acheter le livre de Charpak, mais c'est une honte, quoi. C'est une honte pour un prix Nobel d'écrire un livre aussi peu structuré, quoi, aussi peu
crédible. Il me semble que ce n'est pas lui qui l'a écrit d'ailleurs, c'est surtout Brock. C'est un remake d'une republication de l'écrit précédent de Brock et Charpak a cautionné, quoi.
Oui.
Mais il faut prendre ces gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire sont des idéologues, sont des militants, et bon, voilà, ça n'a rien de, ça n'a absolument rien de scientifique.
Quoi, je suis fier d'avoir lu dans la librairie, mais de pas l'avoir acheté, quoi. Et sur la détection des maladies, vos recherches, ressemble à celle de Joël Steinmeier. Je ne sais pas si vous connaissez.
Steinmeier,
un physicien.
Oui, je le connais bien, oui.
Qui a travaillé avec De Broglie.
Oui.
J'ai assisté pendant un an à son séminaire. Et il envisageait, mais peut-être pas pour tout de suite, de détecter la fréquence des virus. Et ensuite, avec le son, son séminaire, c'était la musique des particules. Et avec le son, d'essayer de détruire la fréquence des virus, quoi.
J'avoue que moi, Steinmeier est un grand mathématicien, à très haut niveau, et j'ai un petit peu de mal à... Et il s'exprime un petit peu comme dans les bandes dessinées, voilà. D'Astérix, vous savez, quand il est en Égypte, les Égyptiens, dans les bulles, il y a des hiéroglyphes, quoi. Et quand les physiciens parlent, ils parlent souvent avec des équations qui leur sortent de la bouche.
J'avoue que j'ai rien compris.
Moi, j'ai du mal à comprendre ce que fait Steinmeier. Enfin bon, il arrive par ses ondes d'échelle à déterminer le son correspondant à certaines molécules. Il a fait des expériences. Avec des systèmes complètement différents. C'est dans la lignée, effectivement. C'est à rapprocher de ce que nous faisons.
Oui.
Cela dit, j'ai jamais pu faire d'expérience avec Steinmeier. Ça, c'est sûr que c'est difficile.
Ouais, c'est très compliqué, ces équations. Évidemment, j'ai rien compris. Mais...
Voilà.
Ce que je voulais dire, moi, j'ai eu des expériences chez les Krishna, par exemple. D'ailleurs, j'avais interrogé Joël Steinmeier si le sucre pouvait avoir une mémoire, quoi.
Et s'il y a de l'eau avec, oui.
oui, s'il y a de l'eau, voilà. Et je me souviens, dans mes recherches spirituelles chez Krishna, on faisait des rituels sur les murtis. C'est-à-dire, ce sont des statues de Krishna ou des divinités hindoues, quoi. Et je me souviens qu'après avoir bu ce liquide et avoir pris une nourriture aussi qui avait été, entre guillemets, magnétisée avec un psychisme et tout un référent de la galaxie des Krishna, quoi. Et là, j'avais senti vraiment des effets comme si j'avais pris une drogue.
C'est gentil, je me permets d'interrompre Jacques Benveniste avant même qu'il te réponde pour essayer de recadrer. C'est gentil, les Krishna, mais on essaye d'être dans un niveau scientifique.
Oui. Non, mais là, je parle d'une expérience que j'ai vécue.
L'expérience personnelle, n'est-ce pas, Jacques Benveniste, c'est
j'ai un point de vue très légèrement différent. Moi, je veux dire que si on dit que on fait trois signes de croix à l'endroit et trois signes de croix à l'envers et qu'on guérit le cancer, a priori, sauf si les gens sont des escrocs financiers, je crois ce qu'on me dit. C'est-à-dire, oui, bon, d'accord. Mais alors maintenant, on va le démontrer. Alors dans ce que vous venez de décrire, il y a toute une série de manœuvres qui ont eu lieu, quelles qu'elles soient, 1, 2, 3, 4, 5, et ma question est extrêmement simple, est-ce qu'on a fait exactement la même chose, en vous disant que vous alliez avoir le même effet, mais en vous donnant des produits ou en faisant des actes qui ressemblent mais qui ne le sont pas.
Et
à partir de là, moi je considère que ça fait partie de ce qu'on dit, mais ça n'est pas pour cela que ça existe réellement en tant qu'effet. Voilà.
Il y a une méconnaissance en ce qui concerne certaines analyses sur ce sujet-là.
Oui, alors c'est bien. Si les gens se sentent bien et qu'ils font tort à personne,
en continuant dans cette voie, je comprends que tu donnes raison à un Sharpak borné, c'est moi qui l'ajoute, parce que effectivement, s'il entend cette émission, il peut être cohérent et éveillé par certaines remarques pertinentes de Jacques Benveniste et se dire de bonne foi, une fois, je peux effectivement m'y pencher plus sérieusement. Mais là, en entendant une intervention aussi personnelle, c'est à décourager, quoi. L'aventure intérieure personnelle, c'est une chose.
Non, il ne faut pas se laisser décourager si facilement. Bon, c'est pas l'aventure est une chose, mais il y a des interventions qui peut-être ont un effet psychologique ou physiologique. La seule chose qu'on demande, c'est qu'elles soient démontrées. Mais en l'occurrence, ce que vous dites, ça fait partie effectivement de l'expérience personnelle. Alors en plus, bon, moi je dois vous dire, cela dit, chacun est libre son attitude. Mais j'ai un recul devant les philosophies extrêmes orientales parce que à l'œuvre, je trouve pas que ça donne des résultats dans ces pays qui sont assez extraordinaires. Mais enfin bon, ça c'est un point de vue personnel.
On comprend pas la problématique.
D'accord.
Bon, je vous remercie pour votre mission, monsieur.
Au revoir. Nous accueillons Don Quichotte sur le standard. Pendant ce temps, le 01 45 75 44 deux fois. Et libre, 01 45 75 44 deux fois. Don Quichotte, bonsoir.
Bonsoir, messieurs. Monsieur Benveniste, j'ai d'abord une petite question préliminaire et ensuite une comparaison, ou une tentative de comparaison. Question préliminaire, ne peut-on rapprocher votre cas de celui de monsieur Beljanski?
À savoir, pour les auditeurs?
Je parlerai de persécution, entre guillemets, d'incompréhension, ou alors penser que l'un comme l'autre sont des sortes de Don Quichotte, si j'ose dire.
Écoutez, moi j'ai rencontré Beljanski, ce que je sais c'est que Beljanski, à l'Institut Pasteur, en tant que chercheur classique, a fait une découverte qui est probablement celle de la reverse transcriptase, c'est-à-dire de cette fameuse enzyme qui permet au virus du sida de s'inscrire dans l'ADN. Et que ça s'est mal passé parce que cette brèche au dogme qui faisait que l'information ne peut aller dans un sens... je connais pas tous les détails. Mais Beljanski est effectivement, comme moi, un chercheur classique qui a été mis à la porte de l'Institut Pasteur pour des raisons de dogmatisme scientifique, ça c'est vrai. Après, moi je ne prendrai pas parti sur les remèdes Beljanski. C'est vrai qu'il n'a pas eu la possibilité de faire des expérimentations. Beljanski a choisi une voie extrêmement difficile, puisque
il est tout de suite passé à des thérapeutiques. C'est comme si moi je vendais mon appareil en disant vous n'avez pas besoin de prendre des bêta-bloquants, vous n'avez qu'à prendre un verre d'eau dedans. Peut-être que ça marcherait, mais disons que on peut pas aller aussi vite. Donc il a eu des problèmes. Après ça, on s'est conduit avec lui d'une façon absolument scandaleuse, honteuse, et on continue d'ailleurs à le faire, parce que il semble pas que ce que faisait Beljanski portait tort aux gens. Soit dit, je suis incapable de juger, je connais pas le dossier. Bon, enfin, bon, disons que pour pas faire des un cas personnel, il y a actuellement une attitude d'intolérance à toute idée nouvelle. Je peux vous citer un homme comme Jean-Pierre Petit qui a eu le malheur de s'intéresser à un moment donné à ce qui aux ovnis, qui pourtant sont des sujets d'étude de tous les gouvernements dans le monde, et qui immédiatement a été rejeté par la communauté scientifique, même lorsqu'il fait des travaux d'astrophysique de très très haut niveau. Eh bien, il est considéré comme quelqu'un définitivement marqué au fer rouge, parce qu'un jour, il a écrit un livre où il disait, ben voilà, j'ai reçu des lettres bizarres, il y a des gens qui disent que ça provient d'extraterrestres. Sans y croire vraiment, mais bon, en posant la question. Mais non, on ne peut même pas poser la question, et du coup, on est immédiatement éliminé. Voilà, je trouve que la science, l'institution scientifique se tire une balle dans le pied à chaque fois, parce que il y a beaucoup de choses qui sont fausses et qui se révéleront fausses, c'est le jeu normal de la science, mais il vaut mieux passer au crible 90 choses fausses pour en trouver une qui ne l'est pas, que de tout foutre en l'air au risque de perdre des avancées importantes. Voilà ce que je peux dire.
Dites-moi, je ne regrette pas du tout d'avoir posé cette question préliminaire, parce qu'elle amène ma tentative de comparaison. Si j'ai bien compris, vous avez dit, et en substance, que la recherche pédalait dans la choucroute. Et j'ai pensé qu'il en était de même pour la langue française. Et pour la langue française, bon ben, on l'a bloquée, on l'a coincée, il y a, je crois, un siècle et demi, notamment en ce qui concerne la féminisation des noms. Puis d'un seul coup, on n'a plus rien féminisé. Alors qu'à une époque, ben, il était normal que les instituteurs existent, et ben, ensuite que les institutrices existent, on s'est pas posé de problème. Un mot plus compliqué comme instigateur a donné instigatrice, corrupteur, corruptrice, et puis maintenant, d'un seul coup, il n'y a plus de féminisation. Alors on dit toujours madame le directeur des ressources humaines, madame le directeur de cabinet, madame le recteur, et donc on a l'impression qu'on a été bloqué depuis un siècle et demi, et donc, comme j'essayais de le dire pour ne pas reprendre vos termes à vous, on a l'impression que ça pédale dans la choucroute, aussi bien du côté de la science, de la recherche scientifique, que du côté de la langue française.
Oui, oui, vous avez peut-être raison. Alors, on pourrait aussi dire que quand on crée des académies, on fige les choses, et que l'Académie française a contribué à figer, et l'Académie des sciences, du temps où en France, elle était une institution internationalement reconnue, elle ne l'est plus maintenant. Avec les académiciens qui seront encore académiciens, mais effectivement, peut-être. Cela dit, si on veut faire une diversion, et je vais apparaître comme peu politiquement correct, moi ce qui me frappe dans cette histoire féminisation, c'est qu'on demande de féminiser beaucoup de mots, comme directeur, directrice, ministre, la ministre, etc., mais il y a toute une série de mots qu'on ne demande pas de féminiser. Par exemple, on ne demande pas de féminiser les pêcheuses en haute mer, ni les mineuses, ni les démineuses, ni les couvreuses, ni les élagueuses. Enfin, disons que les métiers dits masculins, en général dangereux et pénibles, là, je vois pas de revendication. Mais ça, c'est pour me moquer un peu gentiment de nos consoeurs, quoi. Voilà.
Je terminerai sur une boutade. Je me mets à la place d'un proviseur ou d'un principal qui dirait j'ai renvoyé l'ascenseur. En parlant de sa collaboratrice.
D'accord.
Voilà. Je vous remercie, monsieur, et je continue à écouter.
Merci.
Merci, Don Quichotte. En attendant, l'intervenant suivant, 01 45 75 44 44 ou 01 45 75 45 deux fois. Nous avons deux remarques sur le chatroom, le salon, l'invité du jour sur ici-et-maintenant.com. La première réaction d'un auditeur nous disant « En France, on accepte l'idée des ions, mais pas des molécules électromagnétiques, avez-vous dit. Pourriez-vous développer, Jacques Benveniste ?»
On accepte l'idée des ions,
Qu'est-ce que ça veut dire, les ions? Les ions existent.
Mais pas des molécules électromagnétiques.
Il y a des problèmes.
C'est ce que vous auriez dit il y a quelque temps. C'est une phrase qui a été comme ça, sortie de son contexte. Et...
Oui, les ions, c'est de la chimie électronique, c'est selon le nombre d'atomes qui se trouvent sur les différentes couronnes. Voilà, pour simplifier, et puis je suis pas chimiste. Les ions, c'est plutôt, enfin, si je devais les caractériser, ce serait plutôt dans la catégorie de ce qu'on accepte en France, c'est-à-dire des charges électrostatiques, qui se trouvent sur les différentes les atomes et les molécules. Ce que l'on n'accepte pas, c'est que les molécules puissent émettre un champ électromagnétique à distance, puissent se comporter comme des émetteurs. Qu'ils soient porteuses de charge, oui, mais que ces champs électromagnétiques puissent véhiculer une information, c'est quelque chose qui, pour une raison que j'ignore d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, puisque la TSF fait ça depuis un certain temps, dirons-nous, effectivement, on l'accepte pas. Et je ne peux pas vous dire pourquoi. Il faudrait poser la question. Le problème, c'est que moi, je n'ai jamais eu, depuis 15 ans, la moindre discussion et la moindre critique scientifique avec ces scientifiques. Jamais aucun d'entre eux. Et je peux vous dire que j'ai rencontré Charpak à de nombreuses reprises. J'ai rencontré deux jeunes qui m'ont parfois fait des suggestions un peu simplettes parce qu'ils comprenaient pas le système dans lequel je travaillais et qu'ils ne se donnaient pas la peine de le comprendre parce que c'était un homme très intelligent. Mais à aucun moment je n'ai eu la moindre discussion et donc je ne peux pas vous dire pourquoi ils refusent cette idée. Mais dans l'ensemble, la recherche sur les champs électromagnétiques est extrêmement développée. Il y a une société qui est spécialisée dans cette thématique, qui fait des congrès internationaux régulièrement, et je peux vous dire que les Français sont beaucoup moins bien représentés que les Polonais, les Albanais, ou évidemment les Chinois. Le thème de recherche en France n'est pas accepté, voilà, c'est comme ça. Mais vous savez, comme je l'ai dit, la France n'est... Les Français n'aiment pas les idées neuves, les Français sont excellents pour développer, ils n'ont pas inventé les trains, ils font les meilleurs trains du monde, ils n'ont pas inventé les avions à réaction, ils font probablement les meilleurs avions du monde à l'heure actuelle, ils n'ont pas inventé les fusées, et je pense qu'en France, on a du mal à accepter, parce que on a des gens qui reçoivent une éducation très décartienne, je dirais pas cartésienne, et qui croient que si l'on ne peut pas faire un raisonnement a priori sur les faits qu'on vous présente, eh bien, ces faits n'existent pas. Understand, I do not, therefore it is not, comme disent les anglo-saxons. Je ne comprends pas, donc ça n'existe pas. Voilà. Maintenant, je peux pas aller plus loin. Je ne sais pas pourquoi, effectivement, les mots électromagnétiques et notamment bannis de, alors pas des gens qui font de l'électromagnétisme au sens physique, hein. Il y en a. J'en ai rencontré même des très bien, mais, associer les molécules biologiques à un effet électromagnétique est considéré comme de la sorcellerie, voilà, une fois pour toutes.
Mais la molécule doit avoir une capacité émettrice, ça suppose donc une énergie et un dispositif émetteur. Comment vous expliquez ça?
Ah ben ça c'est très intéressant. Ce que je peux vous dire, c'est que nous on a des expériences fascinantes là-dedans. C'est lorsque l'on met des molécules dans une cage de Faraday et qu'on capte leur message, eh ben on capte rien. Enfin, c'est pas une cage de Faraday, c'est un système d'isolement électromagnétique très complexe et qui couvre l'ensemble des champs. Mais dans ces conditions, on capte rien. Et si on ajoute une série de fréquences, par exemple un bruit blanc, les molécules émettent un signal. En fait, les molécules biologiques semblent actionnées par un environnement électromagnétique. Et il n'est pas impossible que ce soit les champs électromagnétiques provenant du système solaire qui aient permis aux premières molécules, lorsqu'elles ont été formées, de se mettre à vibrer exactement comme une corde de piano vibre sous l'effet d'un marteau, quoi, si vous voulez. On peut donc dire, on peut extrapoler et dire que dans sa fonction de formation de la vie, Dieu, pour ceux qui y croient, est un champ électromagnétique, voilà.
Mais dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de l'appeler Dieu ni d'avoir à y croire, puisque la vie même est un champ électromagnétique.
Absolument, mais je l'ai dit d'une telle façon que ceux qui y croient peuvent le prendre comme ça, et ceux qui, comme moi, n'y croient pas, peuvent considérer qu'effectivement, le mot est inutile, voire parfois même dangereux.
Oui, inutile et dangereux, puisque l'électromagnétisme...
Non, il est dangereux parce qu'on tue beaucoup au nom de Dieu, c'est ce que je veux dire.
Enfin, c'est un sujet. Beaucoup moins au nom du champ électromagnétique.
Bon, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore de contrat sur ma tête. Donc, voilà.
Est-ce que vous avez connu, nous demande un auditeur toujours sur le chatroom de ici-et-maintenant.com, est-ce que vous avez connu, approché Jacques Ravatin et ses travaux, les ondes de forme, la radionique? Et plus précisément, il évoque des travaux similaires avec les transformations d'informations sur CD-ROM.
Transmission de l'information sur CD-ROM, c'est ce qui est écrit là. Mm-hmm. Non, je connais pas Jacques Ravatin, ou alors j'ai pas de grande mémoire des noms, et peut-être que je l'ai rencontré, je m'en souviens plus. J'ai été approché par des gens qui travaillent sur la radionique, et qui... Alors la radionique, c'est encore beaucoup plus révolutionnaire et difficile à comprendre que la mémoire de l'eau avec ses actions à distance. Ben, disons que j'ai pas d'opinion sur le sujet, j'ai pas travaillé dessus, et je pourrais pas dire quelque chose d'intelligent, même de quelque chose tout court. Donc, je crois qu'on peut travailler sur la radionique et savoir si oui ou non, parce que ça peut se travailler, à mon avis, d'une façon expérimentale. Moi, j'ai avancé assez vite parce que je travaille dans un système expérimental. Quand vous travaillez sur des populations humaines, il vous faut 10 ans pour vous faire une opinion sur l'effet de quelque chose. Est-ce que lorsque vous avez un système expérimental au laboratoire, en quelques jours, on peut avancer très vite? Et je pense qu'on doit pouvoir travailler sur la radionique, mais c'est pas mon truc, quoi. C'est pas mon sujet, donc je peux pas dire des choses dessus.
Bien. Je rappelle le numéro du standard, 01 45 75 44 44, ou 45 45. Nous sommes avec le docteur Jacques Benveniste, tout prêt à répondre à vos questions, y compris les questions par écrit, dans le salon L'Invité du Jour, c'est le nom du salon, sur ici-et-maintenant.com. Nous accueillons Christophe sur Ici et Maintenant.
Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Benveniste.
Bonsoir.
Je suis complètement béotien en la matière, j'ai rien lu de ce que vous avez fait, enfin je connais grosso modo, pour moi je vous associe à la mémoire de l'eau. Je me posais une question toute bête, est-ce que par la mémoire de l'eau, on pourrait reconstituer des civilisations disparues, genre Atlantide, est-ce que l'eau pourrait donner des signaux dans un téléregistre?
Ah, c'est un rêve assez... je me souviens que j'avais fait un texte pour une jaquette d'un CD d'une boîte qui faisait de la musique de différentes origines ethniques, qui s'appelle Origins, je crois, Origines. Et j'avais écrit, peut-être qu'un jour on pourra, si de l'eau est restée bien protégée dans dans l'épaisseur de quelques roches, on pourra réécouter la voix de Vercingétorix, ou plus intéressant, Diane de Poitiers. Bon, c'était une boutade. C'était simplement pour dire que l'eau est effectivement capable d'enregistrer des fréquences dans la bande audio, mais bon... il faudrait qu'on puisse imaginer quelque chose qui ressemble à un champ électromagnétique naturel qui serait modulé par quelques procédés. Tout cela est... Donc, si je vous disais que... oui, c'est possible... imaginez que la réaction des scientifiques en disant on vous a dit qu'il était fou. Pourtant, il y a quelques années, toujours Charpak, décidément on fait un bien bon sort dans cette émission, avait proposé, semble-t-il sérieusement, qu'on pouvait imaginer que des paroles étaient restées gravées sur des vases qui étaient tournés par les potiers, parce que pendant que ça tournait, ça ressemblait à un disque, quoi. Et dans le sillon en question, on pouvait retrouver des vibrations.
Métal contre terre cuite.
Oui, c'est ça, métal contre terre cuite.
Donc, il y aurait différentes qualités d'eau, plus ou moins chargées de mémoire, selon leur état de conservation ou les lieux où elles ont été...
Non, moi je crois que ça me paraît très, 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 très...
peu probable, et ça fait partie de la part de poésie que tout un chacun, et pourquoi pas les chercheurs, peuvent s'autoriser. Moi, j'ai même proposé que, finalement, il fallait bien qu'à un moment donné, quelque chose fasse vibrer les premières molécules, et pourquoi pas le chant de l'eau sur les pierres. Vous savez, lorsque l'eau dans un torrent, dans une rivière, dégringole sur les pierres, ça fait des bruits, ça chante, et que ces vibrations dans la bande audio pouvaient interagir et corraisonner avec des molécules. Mais c'est du domaine de la poésie pure. Il faut s'amuser, il faut jouer avec les idées qu'on peut avoir. Maintenant, vous dire qu'on va trouver un enregistrement dans une pyramide d'Égypte et qu'on va y entendre la voix de tel pharaon. Bon, alors là, moi je suis pas prêt à franchir le pas. Franchement.
Au contraire, alors finalement, vous dites, l'eau c'est un seul corps. Par exemple, la mer, les océans, qui sont tous en corrélation. On pourrait découvrir, je sais pas, au Cap Horn, quelque chose qui se passe en Méditerranée par la mémoire de l'eau.
Non, voilà, justement pas, parce que une des bonnes façons d'inhiber, si vous avez dans un tube un effet biologique que vous avez introduit par l'intermédiaire d'un système informatique, électromagnétique, donc vous avez une activité que vous pouvez détecter, si vous voulez la supprimer, vous rajoutez du sel et vous agitez, et ça supprime instantanément. Il y a un phénomène je ne peux pas l'expliquer, de shunt, de court-circuit, de quenching, comme on dit en anglais, et qui fait que l'activité disparaît instantanément. Alors quand les gens me disent ah bah oui, mais on va avoir le caca des poissons du temps de Jésus-Christ qui va être inscrit dans la mémoire de l'eau, comme ça a été très élégamment écrit par des revues pseudo-scientifiques extrêmement rationalistes au mauvais sens du terme. Eh bien, non, parce qu'il y a plein de systèmes qui effacent ça. Le premier, c'est la chaleur, 70 degrés, ça efface tout. Et l'eau, quand elle descend dans la terre, elle est chauffée assez facilement. Et puis, probablement l'évaporation, mais ça, j'ai pas fait l'expérience. Et en tout cas, l'agitation dans un milieu salé. Alors,
d'où l'intérêt des sels de bain pour ne pas se baigner dans la même eau que Jules César, quoi.
Voilà, des sels de bain, oui, des sels de bain, absolument. Tout à fait raison. Et moi, je me suis toujours demandé à quoi servaient les vagues, parce que, n'est-ce pas, il faut être finaliste, et les vagues, c'est de l'énergie perdue. Alors, s'il y a un bon Dieu, il n'aurait pas dû permettre ça, qu'on perde autant d'énergie pour rien. Et ben, maintenant, je sais, les vagues, c'est fait pour effacer la mémoire de l'eau, voilà. Accessoirement, malheureusement, pour faire couler les bateaux, comme on l'a vu, on le voit dramatiquement en ce moment. Non, tout ça, c'est du domaine il est tard, on est en pleine nuit, on a le droit de laisser vagabonder l'imagination.
Bon, bah, écoutez, je vais m'arrêter là-dessus. D'accord. Je vous remercie beaucoup de vos réponses, en tout cas, et puis je vous souhaite une bonne continuation pour cette émission.
On va essayer, merci.
Merci, Christophe. Donc, 01 45 75 44 44 ou 45 45. En attendant vos appels, un auditeur sur le chatroom demande au docteur Jacques Benveniste quels sont les livres que l'on peut trouver. Supposer qu'on n'ait pas Internet et qu'on ne puisse pas consulter digibio.com, quels sont les bouquins que vous recommandez?
Eh bien, il y a un livre que j'ai écrit mais que vous ne pouvez pas trouver parce que je ne l'ai pas publié. Il est encore sous mon coude. Et j'attends que l'histoire arrive à son terme, quel qu'il soit, pour le sortir. Donc c'est pas là-dedans que vous trouverez les informations. Il y a le fameux livre de Michel Schiff, qui a été publié il y a plusieurs années chez Albin Michel.
Toujours disponible?
Un cas de censure en assurance, il doit y en avoir des exemplaires encore disponibles. Moi je crois même que j'en ai encore une petite dizaine, mais je crois qu'il y en a encore chez Albin Michel.
Schiff, SCHI2F.
SCHI2F, Albin Michel, un cas de censure dans la science, mais alors, il date de peut-être même non d'une dizaine d'années, peut-être un peu moins, mais enfin bon. Et il n'est pas up to date, comme on dit, il n'est pas vraiment pas les dernières informations. Mais il raconte bien toute l'histoire depuis le début.
Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver sur le plan livre. Il y a d'innombrables articles, et si vous tapez sur un site de recherche Mémoire de l'eau, Memory of Water, ou même mon nom, vous trouverez une documentation extrêmement importante, et vous pourrez avoir beaucoup d'informations.
Et lorsqu'on la trouve en anglais, parce qu'il y a beaucoup d'informations en anglais vous concernant,
oui.
On peut aussi demander au moteur de recherche de la traduire, ça sera assez approximatif,
oui.
Mais ça donnera une idée de votre rayonnement, en tout cas, votre rayonnement international.
Bah, c'est-à-dire que je ne peux pas faire le jeu de mots en français, mais en anglais, je suis famous et infamous, c'est-à-dire fameux et infâme. Mais bon, c'est très bien, ça veut dire que... Il est vrai que dans les pays anglo-saxons, il y a énormément de gens que ça intéresse. En Amérique latine, beaucoup, et en Russie aussi. Si je voulais, je pourrais passer mon temps à voyager et aller un peu partout faire des conférences, mais c'est pas vraiment, en ce moment, mon truc, quoi.
Et vous faites ça le comble dans les universités, par exemple?
Lorsque je suis invité, oui. J'étais invité à Stanford il y a 2 ans, j'étais invité à Cambridge, et il y avait effectivement beaucoup de monde. C'est pas pour ça que les gens sortent de là en disant il a raison, mais ça fait du... À l'heure actuelle, il y a un mouvement d'idées qui est plutôt en faveur de ces résultats. Ne serait-ce d'ailleurs que le simple fait que ça fait quand même maintenant 15 ans que personne n'a trouvé un argument scientifique contre. Ni un artefact, ni une erreur, ni rien du tout.
Qu'est-ce qu'on appellerait un artefact à part un artifice?
Ben, un artefact, ça serait, par exemple, supposer que je dise que l'eau a la mémoire de l'héparine, mais il y aurait eu de l'héparine dans un tube mal nettoyé, et ça serait en fait de la vraie héparine qui ferait le travail, vous voyez, bon. La fraude serait d'ajouter soi-même de l'héparine dans le tube, et ne pas le faire savoir. Mais l'artefact, c'est ça, c'est un piège expérimental qui fait qu'on croit qu'on voit un effet et qu'on ne le voit pas. En général, 1 an, 2 ans après un papier qui sort et qui révolutionne un peu les choses, on s'aperçoit qu'en fait, on avait pris pour tel résultat quelque chose qui n'en était pas. Hein. Voilà.
Bien, le standard sonne en permanence, mais apparemment, ce sont des auditeurs qui ont préféré laisser leur numéro masqué. Alors nous avons préféré ne pas prendre les interventions masquées, tout simplement. Donc, pour les courageux, 01 45 75 44 44 ou 45 45. Ne nous faites pas croire que la fréquentation téléphonique de Jacques Benveniste est infamante. Vous avez intérêt et avantage à le fréquenter. La possibilité vous est donnée ce soir par téléphone. Profitez-en, puis arrivez démasqué. C'est simple comme tout. Sur le site internet, qu'est-ce qu'on nous dit? Je découvre en même temps que vous, Tony nous dit, si on peut poser une question, je dirais ceci. Compte tenu de l'effet des signaux électromagnétiques sur les molécules, et pourquoi pas les cellules du corps, ne peut-on s'inquiéter des effets de certaines pollutions électromagnétiques et leur impact sur la santé, y voir une cause de certaines maladies?
Ben, disons que quand on se trouve dans la situation où l'on pose des questions sur l'existence de troubles pathologiques, qui sont des maladies, ben, il faut commencer par affirmer l'existence de ces troubles. Et donc dans l'état actuel des choses, il y a énormément d'études, d'enquêtes qui sont faites et qui donnent des résultats qui sont souvent contradictoires. Il y a des enquêtes qui tentent à pointer l'effet des champs électromagnétiques et d'autres qui pensent que ou qui décrivent une absence d'effet. Là encore, on ne sait pas tout et il y a des résultats qui sont actuellement occultés et qui permettent d'imaginer que c'est pas forcément les champs électromagnétiques classiques tels qu'on les connaît ou qu'on les actuellement les décrit qui pourraient agir. Voilà. Alors. Ce que je peux dire, c'est la chose suivante. Lorsqu'on lit un travail de recherche fondamentale, parce qu'il y en a beaucoup, notamment aux États-Unis, sur les effets des champs électriques ou électromagnétiques sur les cellules ou sur les molécules, très souvent les articles se terminent en disant « Ben voilà, nous avons constaté un effet des champs électromagnétiques ou des champs électriques sur les systèmes in vitro ». Mais on ne les comprend pas parce que la biologie n'est pas électromagnétique. Alors on ne sait pas pourquoi ça agit. Parce que la biologie, c'est fait de molécules qui se rentrent dedans les unes dans les autres, se donnent des coups de poing dans l'œil, donc des choses purement physiques. Nous, ce que nous pouvons dire, c'est que, effectivement, comme nous savons que les molécules échangent des signaux électromagnétiques, il est possible que des signaux électromagnétiques interfèrent. La base théorique existe. Mais c'est pas pour cela que vous allez attraper une leucémie en manipulant votre ordinateur. Voilà, il faut après ça faire des études épidémiologiques et montrer qu'il y a effectivement relation de cause à effet entre la manipulation de tel et tel système et telle ou telle maladie. On n'en est pas là pour le moment. C'est un travail difficile et puis qui nécessite des ressources importantes et bon, elles sont pas illimitées. Mais disons que nos travaux, enfin mes travaux en particulier, montrent qu'il y a une base possible. C'est-à-dire qu'effectivement, il existe des signaux qui circulent d'une molécule à l'autre, qui sont la base même du fonctionnement des systèmes biologiques et qui peuvent donc être sensibles. Tout comme vous pouvez effacer une bande magnétique, la voie sur une bande magnétique avec un aimant, tandis que si vous promener un aimant devant votre bouche, ben ça fera rien du tout, parce que là, c'est pas un champ électromagnétique, mais c'est une parole avec des vibrations dans l'air, et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur une bande magnétique. Donc, on peut effacer une bande magnétique, on peut pas effacer la parole. Donc, si la biologie se résume, si la biologie est électromagnétique, les champs électromagnétiques peuvent agir sur des phénomènes biologiques, mais ça ne veut pas dire que tous les champs électromagnétiques agissent sur tous les systèmes biologiques.
Voilà, Tony, la réponse à cette question sur le chatroom de ici-et-maintenant.com. Nous recevons Dominique.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, j'ai lu le petit, enfin, ce qui était marqué sur le net. Et je voudrais poser une question. Enfin, en écoutant, j'ai l'impression qu'on pourrait dire qu'à travers la mémoire de l'eau, il existe en fait une réalité psychique de la molécule en dehors de son de la perception physique qu'on peut en avoir.
C'est la même Dominique que tout à l'heure ?
Non, pas du tout.
Une autre Dominique.
Voilà.
Bon, c'est ce qu'on appelle la loi des séries. je ne comprends pas ce que vous dites. Alors, je peux pas vous répondre. Pourquoi, quel rapport il peut y avoir entre le fait d'appliquer des champs électromagnétiques entre 20 Hz et 20 kHz et la représentation psychique d'une molécule? Je ne comprends pas.
C'est-à-dire, quand il y a une molécule, c'est physique. C'est quand on absorbe le médicament.
Oui.
C'est, enfin, moi je dirais corporel, c'est peut-être pas le terme, mais c'est physique, c'est de la matière.
Oui.
Quand il n'y a pas de matière, c'est-à-dire que l'eau arrive à garder la mémoire sans la matière.
Oui.
C'est ce que j'appelle, moi, réalité psychique.
Et pourquoi ?
Parce que le corps n'y est plus, la matière n'est plus là.
Mais c'est pas pour ça que c'est psychique. Quand vous enregistrez votre... Enfin, en ce moment même, vous n'êtes pas dans la pièce et votre voix me parvient, c'est pas psychique, c'est électromagnétique. Pourquoi est-ce
D'accord, alors c'est électromagnétique, en fait.
Ben oui, le psychisme, ça existe, hein. Je ne dis pas l'existence du psychisme, mais je vois pas le rapport, ça c'est une copie. Nous faisons une copie électromagnétique de la molécule, exactement comme vous faites une copie de votre corps quand vous prenez une photo de votre visage. Quand vous faites une photo, et ça n'a rien de psychique, c'est une copie sur papier argentique ou maintenant sur support numérique, c'est tout, c'est une copie.
D'accord, donc moi je pensais que c'était une intelligence quelque part de la molécule qu'on arrivait à capter.
Non, la molécule, elle vibre parce que c'est comme si vous me disiez qu'une corde de piano a une intelligence quelconque, une corde de piano, selon sa longueur, vous cognez dessus et vous obtenez un son. Et puis voilà, donc c'est un. Et puis ce son, vous pouvez le mettre sur une bande magnétique, à ce moment il n'y a plus de corde de piano, il n'y a plus rien, il y a juste des polarisations de petites particules de fer, mais il sort exactement la même musique, enfin bon, presque exactement, et en tout cas vous pouvez la reconnaître.
Et donc là-dedans, il y a pas de place. En fait.
Pardon ?
Ce sont des signaux.
Ce sont des signaux électromagnétiques, ce sont des bandes de fréquences.
D'accord. Je vous remercie, ça m'a apporté un éclairage que j'avais pas parce que je l'ai interprété à ma façon, quoi.
Ben oui, c'est-à-dire qu'on a un peu tendance à mettre beaucoup de psychisme partout. Parfois, il y a des explications plus simples à l'heure actuelle. Nous sommes tous les enfants de Freud et disons que parfois, on en fait un peu trop, quoi.
Ben ouais, parce que quand on voit pas, on se dit, ça y est, c'est dans l'esprit, donc...
Ah, parfois, c'est vrai, mais pour ce qui concerne l'électromagnétisme, c'est un processus purement physique, parfaitement défini, avec des lois physiques et mathématiques, etc., etc., quoi.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir, Dominique. Et ce n'était pas la même. Donc, la troisième Dominique est bienvenue au 44-44.
Encore Dominique?
Ou 45-45, les autres également. Une remarque très poétique de Usher sur le chatroom. J'espère que vous allez apprécier. C'est souvent une question, c'est plutôt deux lignes de poésie. Si l'eau a de la mémoire, on devrait mettre ses larmes sous fiole, offrir celle-ci à la personne qui est à l'origine de notre chagrin.
Ah, ça, c'est très 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 joli. Je me demande même si je vais pas commercialiser le produit pour gagner de l'argent pour Digibio.
Les larmes étant salées.
Oui.
Le chagrin est effacé.
Le chagrin est effacé, oui. Alors, mais ça peut rester à condition de ne pas les agiter. Alors, donc, il faudra trouver le moyen de mettre des larmes dans un récipient sans agitation.
Alors, Zoé vêtue de ciel. La poésie est dans son nom, dans son pseudo lui-même. Question pour l'invité, le docteur Jacques Benveniste. Avez-vous entendu parler des travaux de Sylvie Simon sur la transmission de l'information des infos, de l'information des infos? Ça, je comprends moins bien. Expérience faite avec deux verres de sang de porc. L'un est infecté d'un virus, l'autre non. Dans ce verre-là, un anticorps s'est formé. On répète l'expérience avec un plexiglas entre les deux verres. Pas d'anticorps créé dans le deuxième verre. Qu'en pensez-vous? Sylvie Simon donne une explication. L'existence de biophotons. Jacques Benveniste.
Là, biophotons, c'est Fritz Pop. L'expérience en question, j'en ai pas entendu parler. J'ai entendu parler d'une expérience assez connue, faite par des Russes qui disaient qu'ils pouvaient transmettre une activité virale d'un tube à un autre. Moi, j'ai tendance à penser que, enfin, j'ai pas tendance à penser. D'ailleurs, j'ai vu le transfert dans mon laboratoire. On a vu parfois un transfert d'informations d'un tube à l'autre sans transfert de matière, ce qui est assez banal, parce que s'il s'agit de champs électromagnétiques, ça voyage, et donc ça peut voyager d'un tube à l'autre. Maintenant, l'expérience dont on me parle, je ne la connais pas, je ne sais pas où elle est rapportée, éventuellement publiée, je ne sais pas qui est cette personne, et je ne comprends pas comment... tube de sang peut fabriquer des anticorps. Mais je pense que la personne qui a interprété l'expérience elle-même n'est pas biologiste et ne l'a pas forcément parfaitement comprise.
L'un est infesté d'un virus, oui, l'autre non.
L'autre non, oui. Et des anticorps apparaissent dans celui qui n'est pas infecté. Alors, les anticorps ne peuvent pas apparaître dans du sang pur. Il faut qu'il y ait un système lymphoïde, des ganglions, une rate, des cellules B, des cellules T, enfin c'est un système extrêmement complexe avant de produire des anticorps, puis ça demande beaucoup de temps. Donc je ne pense pas que simplement en mettant du sang à côté d'un virus, le sang va se charger en anticorps, ou alors c'est qu'il avait d'anticorps avant et qu'on n'avait pas détecté.
Non mais que le phénomène se passe d'un récipient dans l'autre par un phénomène...
Ce qu'on pourrait imaginer, c'est que on trouve une activité électromagnétique de type viral dans l'autre récipient, oui. Pas le virus lui-même, parce que le virus lui-même c'est une particule, il passe pas à travers la paroi. Mais que l'autre sang ait fabriqué les anticorps, ça sûrement pas. L'expérience n'est pas valable, soit a été pas bien décrite par quelqu'un qui n'est pas spécialiste, et de toute façon, moi je n'ai pas ces références. Alors si quelqu'un a les références de cette expérience, elle m'intéresse, parce que moi je suis ouvert, comme je l'ai dit, à toute anomalie, ce qu'on appelle des anomalies, qui sont des choses intéressantes en science. Et ben les 7 personnes peuvent écrire sur mon site
digibio.com,
il y a de quoi correspondre et m'indiquer les références exactes, me donner les détails expérimentaux, et à ce moment-là je pourrais avoir une opinion.
Jacques Benveniste, vous connaissez sûrement cet exemple, cette image des girafes et des acacias.
Oui.
Ça vous évoque quelque chose?
Oui, ça m'évoque quelque chose, mais j'ai oublié. Rappelez-moi.
Non, les acacias secrètent un repoussoir parce que ils en ont assez de perdre l'écorce lorsqu'un troupeau de girafes vient à frotter son cou le long de son tronc. Je crois qu'un professeur avait emmené ses élèves battre des acacias à coups de bâton pour observer quelques kilomètres plus loin la sécrétion de cet agent repoussant. Ça vous évoque quelque chose comme transmission de l'information?
Oui, enfin, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle les phéromones, c'est-à-dire un produit chimique, un papillon femelle va sécréter, qui va être perçu par un papillon mâle à quelques kilomètres de ça. Il y a beaucoup de choses que l'on peut imaginer comme étant une transmission plutôt de type radioélectrique qu'une transmission physique. Un exemple qu'on cite également, ce sont les bancs de poissons. Il y a des bancs de poissons qui sont constitués de plusieurs milliers de poissons et qui naviguent d'une façon tout à fait parallèle, sans jamais se cogner.
Comme un seul corps.
Hein. Comme un seul corps, et qui surtout, lorsqu'ils se mettent à tourner, tournent pas comme un camion qui prend un virage, tous les poissons tournent en même temps. Quoi. Donc là, il y a forcément...
Les oiseaux.
Les oiseaux, bien sûr, quand ils volent en groupe. Bon, là on n'a pas besoin d'évoquer des histoires genre mémoire de l'eau, tout simplement des signaux, soit de type ultrason, ce qui est tout à fait possible, soit peut-être même des ondes de type radio qui peuvent être émises et qui peuvent contrôler ce genre de choses. Mais là, comme c'est pas ma spécialité, il est possible que je dise des bêtises et qu'il y a des gens qui connaissent ça mieux que moi. Donc, qu'il y ait des transmissions à distance par différents procédés dans différentes espèces animales ou végétales, ça ne fait absolument aucun doute.
Une intervenante également sur le chatroom vous demande, ne peut-on penser que le travail fait par la psychanalyse s'apparente à une information type « I love you » alors que la thérapie médicamenteuse agit par la chimie? L'électromagnétisme serait à l'exacte jonction, n'est-ce pas?
Oui. Alors, comme disait le général, vaste programme. Alors là, si je dois me prendre en plus partie dans la querelle sur la psychanalyse, je sens que là, du coup, je vais y laisser mes vieux os. Non, je ne crois pas qu'on puisse raisonner comme avec des analogies de ce type. Je pense rien sur ce sujet. Non, c'est une analogie. Bon, on peut toujours la faire, mais comme moi personnellement, je n'ai pas. Les travaux qui montrent que l'eau réagit à un message écrit sur le verre I love you m'ont pas convaincu. Alors, je peux dire que je suis pas convaincu par l'ensemble de la proposition. Voilà, on va s'en tirer comme ça.
Autre remarque, ou plutôt question. Une synchronisation des ondes cérébrales et auditives est-elle possible?
Ah, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Une synchronisation des ondes cérébrales et auditives. Non, les ondes cérébrales ont des fréquences propres, l'onde auditive. Si je peux comprendre la question, ça pourrait vouloir dire est-ce que ce que nous entendons a une influence sur le fonctionnement cérébral? Voilà. Alors là, ça c'est oui, bien sûr, c'est absolument évident. Je veux dire, on ne fait pas sortir les soldats des tranchées en leur jouant Dodo l'enfant d'eau et on n'endormira pas les enfants en leur jouant la Marseillaise à 80 décibels. Donc c'est clair que quand on écoute une musique lente et grave, on se sent immédiatement triste, et rapide et aiguë, on se sent joyeux. C'est sûr que l'autorité est liée dans notre esprit à une voix plutôt grave. Et si je peux me permettre de faire une remarque que j'ai faite indirectement au moment de la dernière élection présidentielle, la voix qui a manqué à Lionel Jospin, c'est la sienne essentiellement, car lorsque Jospin s'excite, il a une voix aiguë, il grimpe, et beaucoup de mes amis, notamment femmes, m'ont dit que jamais elle voterait pour quelqu'un qui a une voix de fossé. C'est quelque chose de très profond. Dans notre espèce, l'autorité, n'en déplaise, je ne vais pas faire un commentaire très féministe, mais l'autorité est liée au caractère grave de la voix, et alors que les voix aiguës évoquent plutôt des choses plus ludiques mais moins autoritaires.
J'entends que vous faites allusion à notre ministre des Armées.
Oui, mais le ministre des Armées pose moins de problèmes, au sens que c'est une femme et qu'on s'attend à ce qu'elle ait une voix de femme. Bon, mais il n'y a pas trop de problèmes. Cela dit, il y a des femmes qui ont des voix aiguës et qui ont énormément d'autorité et qui réussissent très bien dans leur métier. Il faut pas... C'est une remarque générale. Le grave est lié en général à quelque chose de sérieux. Et encore une fois, les marches militaires, c'est pas le petit vin blanc, quoi. Bon.
Alors, et une seule avait la voix de Rita Hayworth.
Voilà.
Une autre intervention nous montre évidemment que des auditeurs ne cessent de prendre le programme en cours de route. Ils s'interrogent, mais vous avez répondu à peine un quart d'heure, donc bienvenue à cet auditeur qui vient de se connecter sur 95.2. Il dit ceci, si l'eau enregistre le spectre électromagnétique des autres molécules, comment les fasse-t-elle? Sinon, dans chaque verre d'eau, il y aurait des milliards d'informations, n'est-ce pas?
Absolument. Alors de toute façon, c'est pas très, très grave s'il y a des milliards d'informations qui ne rencontrent pas le système biologique sensible, parce qu'il y a également des milliards de systèmes biologiques. Et ensuite, il y a beaucoup de systèmes d'effacement. Et je vous dis que le plus simple, c'est de chauffer l'eau à 70 degrés pendant une demi-heure, et toute l'activité qui est inscrite disparaît immédiatement. Des champs magnétiques, l'agitation simple. Si on prend un tube d'eau qui contient une information, si on l'agite pendant plusieurs heures, et bien l'information va disparaître. Les champs électromagnétiques ambiants également les effacent. C'est un peu comme une bande magnétique. Un champ magnétique inscrit une voix ou une musique, et un autre champ magnétique l'efface. Voilà.
C'est pourquoi il faut mettre du sel dans son potage et bien tourner.
Comme ça, on efface, comme avait écrit cette revue, les canards qui font caca dans le lac Léman, avec une grande élévation scientifique.
Ici et maintenant, 95.2. Sur le chatroom du site internet ici et maintenant.com, on nous demande si le docteur Jacques Benveniste connaît Nikola Tesla et ses travaux sur l'énergie libre.
Oui, enfin, on connaît Tesla, c'est un grand physicien et un grand découvreur. J'ai eu récemment dans mon laboratoire une machine qui s'inspire des travaux de Tesla avec une nomenclature qui ne me revient pas à l'instant. Elle n'a pas marché. Il n'y a pas eu de... La machine était censée produire plus d'énergie qu'elle n'en consommait, quoi. Et on n'a rien vu. Enfin, on a vu des choses, mais qui peuvent s'expliquer d'une façon extrêmement simple. Donc, au moins pour cela, les hérités de Tesla ne me paraissent pas très très sérieux, quoi. Ça s'appelle les ondes... je sais plus comment. J'ai plus ça en tête. Bon. Donc moi je ne suis pas physicien et je travaille pas du tout dans le même domaine, donc je ne dirai rien d'intelligent sur le sujet.
Vous avez dû remarquer, si vous naviguez beaucoup, que sur le net, il se propose quantité de machines justement qui seraient censées produire plus d'énergie qu'on ne leur en donne.
Oui.
Des solénoïdes, des appareils toriques.
Oui, absolument. Et puis aussi l'énergie du vide, le vacuum pump. Là, il y a beaucoup de sites là-dessus. C'est comme il est possible que parmi tous ces gens-là, il y en ait qui a de vraies bonnes idées. Il doit y avoir beaucoup qui prennent leur désir pour des réalités.
L'énergie du vide, toutefois, c'est une véritable découverte. Ça.
Oui.
Dans
oui.
un vide assez poussé, à part une énergie.
Oui, absolument. Mais bon, pour le moment, je ne sais pas si on va pouvoir un jour utiliser cette
énergie faut-il pour créer un tel vide,
pour la pomper. C'est sûr qu'il y a, enfin, à un moment donné, j'étais fait partie d'un groupe de discussion américain là-dessus. Et il y a des scientifiques très sérieux, très haut niveau, qui discutent très librement de ces problèmes. Mais encore une fois, on ne trouve pas de français là-dedans, quoi. C'est très spécifiquement anglo-américain et russe. Je n'ai pas d'opinion particulière là-dessus, je ne suis pas physicien et je ne dirais pas de choses intelligentes.
Alors, autre question de Cheers, que nous saluons, première intervention. Bonsoir, y a-t-il un espoir de pouvoir nettoyer les eaux non potables du tiers-monde par une émission EM électromagnétique?
J'ai fait pas mal d'essais, moi, pour essayer de tuer des bactéries avec les moyens dont je dispose à l'heure actuelle, et jusqu'à présent, je n'y suis pas arrivé. Donc c'est un des domaines où je considère avoir eu un échec. Cela dit, je sais très bien que je travaille avec des puissances qui sont un petit peu ridicules et que si on veut s'intéresser à ce problème, il faudrait grouper un certain nombre de scientifiques et trouver le bon système. On doit pouvoir trouver une molécule bactéricide qui puisse être numérisé et que l'on puisse et qu'il puisse agir par son signal. Je pense que ça doit être possible. Moi, j'ai réussi à arrêter les cœurs de cobayes avec des produits purement numériques. Donc, je pense qu'on doit pouvoir tuer une bactérie.
Des produits purement numériques, autrement dit de l'eau.
De l'eau qui a reçu une information provenant d'un ordinateur.
Laquelle est mélangée au plasma?
Laquelle est mélangée au perfusée, par exemple, à travers le cœur, et contient une information qui est toxique pour le cœur. Par exemple, une endotoxine bactérienne, justement, et on a eu des arrêts cardiaques très très spectaculaires.
Face à un groupe témoin
Face à un groupe témoin où, lorsqu'on passait un signal différent, on n'obtenait pas... voire même, lorsque le cœur provenant, non pas du même animal, mais d'un autre animal, était recueilli dans des conditions qui faisaient qu'il n'était pas sensible à l'endotoxine. Donc là, on pouvait en passer autant que l'on voulait, il se passait rien. Mais dès qu'on passait ce signal... endotoxine, le cœur avait des symptômes de souffrance et parfois même s'arrêtait. Donc on sait faire des dégâts avec ce genre de choses et on doit pouvoir trouver, mais pour le moment je ne l'ai pas trouvé et comme je n'obtiens pas de collaboration. Alors par contre, ce qu'on pourra faire très vite, c'est au moins faire de la détection, c'est-à-dire savoir que telle ou telle eau est contaminée par telle ou telle bactérie, parasite, tout ça, et tout ça à distance, sans avoir besoin d'un laboratoire coûteux et qui n'est pas à la portée des pays, notamment des pays du tiers-monde. Ça, oui, on doit pouvoir le faire assez vite.
Parce que un robinet émetteur dépolluant, c'est la clé d'une fortune fabuleuse. Tout le monde en a besoin.
Oui, bien sûr. On peut imaginer qu'on mettrait une bobine sur le circuit d'eau et que au passage, pour le moment, j'ai pas réussi à le faire.
Ça éviterait de devoir saler et agiter.
Voilà.
Ici et maintenant 95.2, on remarquait comme au fil des émissions, au fil des mois et de la pénétration de l'Internet en France, il est finalement très commode de poser une question simple, courte. Et voici que d'autres arrivent comme celle-ci. Comment un spectre électromagnétique d'une molécule peut-il avoir une action sur un organisme vivant, sur celle-ci, alors qu'il en est séparé?
S'il en est séparé, il peut pas avoir l'action, ça c'est évident. Je dirais dans les mêmes pour toutes les formes de rayonnement.
Mais vous en parliez en début d'émission en disant que le contact vaut mieux, mais toutefois sans un contact
étroit, oui, attention, il s'agit de millionièmes de millimètre. Lorsque nous bombardons un cœur avec une bobine et que un cœur isolé d'animal dans un système comme ça, ou un plasma en train de coaguler, on envoie des kilohertz qui traversent 40 mètres d'eau ou traversent les murs de béton. Enfin, Radio Luxembourg, on l'entend à l'intérieur des pièces. Pour Luxembourg ou n'importe laquelle autre. En grande zone. Donc, l'organe en question est baigné dans un champ électromagnétique. C'est la même chose que pour la lumière. Si vous êtes séparé de la lumière, c'est-à-dire dans une pièce obscure, vous ne voyez pas la lumière, mais si la porte est ouverte ou qu'il y a une vitre, la lumière pénètre et dans ces conditions, vous êtes vous-même baigné en lumière. Donc évidemment, il faut qu'il y ait un contact entre le récepteur et le champ électromagnétique. De la même façon qu'il faut qu'il y ait un contact entre le champ électromagnétique émis par la molécule et le récepteur. S'il n'y a pas contact, s'il n'y a pas présence, il n'y a pas d'effet.
Non, mais dès l'instant où il y a présence, comment se produit le passage de l'information, le signal?
Là, on en est réduit aux hypothèses, mais l'hypothèse la plus plausible, c'est comme s'il s'agit de deux signaux, qu'il y a une corrésonance entre les deux signaux.
Corrésonance, ça c'est votre réponse, c'est le mot.
Oui, c'est-à-dire, corrésonance, c'est le fait, un phénomène acoustique bien connu, qui fait que quatre soldats marchant au pas, avec une fréquence donnée, peuvent faire effondrer un pont, parce que ils ont trouvé la juste fréquence qui fait que le pont va se mettre à vibrer. De plus en plus, c'est que le pont va s'effondrer. Je crois que c'est arrivé dans la réalité, cette affaire. Ou des ponts qui se mettent à s'effondrer sous l'effet du vent, parce qu'il y a une fréquence du vent qui fait que... Donc là, c'est le principe de la radio. On ne prend une radio que lorsque Enfin, avant, il y avait les condensateurs variables. Maintenant, je sais pas, c'est généré électroniquement les
syntonisé.
Fréquences. Syntonisé, oui. Donc, on ne prend une radio ou une télévision que lorsque le système vibre à la même fréquence que la radio. Lorsque le poste de radio vibre à 95.2, il prend 95.2.
Est-ce que la maladie serait due à une cacophonie?
Bah, il n'est pas absolument impossible qu'un jour on découvre que des anomalies de, produisant un terme un peu idiot, mais enfin de fabrication, d'émission ou de réception des champs électromagnétiques puissent conduire à des ordres. C'est pas du tout impossible qu'on le constate dans le domaine des possibilités. Mais enfin bon.
Un instrument qui commence à jouer faux dans un orchestre.
Voilà, oui, par exemple, oui. Un message qui se fait mal parce que les molécules qu'il émet
ne parviennent plus à rentrer en corrélation.
Plus exactement la même disposition dans l'espace, donc ce qu'elles émettent n'a pas exactement le même spectre. Oui, peut-être. Pourquoi pas? C'est pas inimaginable.
Bien.
Mais c'est pas démontré.
C'est encore une piste.
Voilà.
Bien. Tiens, apparemment, est une de vos familiers qui dit merci Jacques pour cette réponse tout à l'heure. Tu m'auras peut-être reconnu. C'est Tiens qui disait, y a-t-il un espoir de pouvoir nettoyer les ondes non potables du tiers-monde par une émission électromagnétique? Apparemment, quelqu'un qui vous connaît.
Ah. Je me demande si cette personne-là n'habite pas en Bretagne.
Et nous écouterait par le net.
Et je l'aurais eu au téléphone il y a deux jours. Si c'est ça, elle peut confirmer.
Très bien.
Mais attendez, en Bretagne, elle peut pas prendre 95.2.
Si, bien sûr.
Ah oui.
Ah mais elle habiterait Tokyo, ce serait.
Sur le net.
Oui.
Ah bon, d'accord. Oui, non, bien sûr. Non, je pensais. Non,
vous êtes écouté hors de l'Île-de-France. L'autre côté de la planète.
Sur le net.
Un ami me disait, je travaille maintenant non plus à Paris mais à Munich. Je passais des vacances à Angkor et je vous écoutais dans ma chambre d'hôtel à Siem Reap.
Oui, mais non, ça bien sûr. Sur le net, on s'en sert comme ça. Mais je vois de qui. Si une personne s'intéresse au tiers monde, je vois de qui il s'agit. Oui.
Très bien. Je rappelle votre site internet, votre propre site internet où il y a d'ailleurs une expérimentation en vidéo. C'est digibio.com. Donc www.digibio.com, c'est également le moyen par lequel on peut communiquer avec vous, vous écrire. Un intervenant précédent, à propos des deux récipients de sang, de porc, etc., rassemble les éléments et va vous contacter par ce moyen, Jacques Benveniste. Donc voilà, le net renforce les contacts. Radio ici maintenant, 95.2, Didier Deplège et son invité Jacques Benveniste. Un message pour le docteur Benveniste de Tony sur le chatroom d'ici et maintenant.com. Tony nous dit, cette nouvelle théorie de l'interaction moléculaire par signaux électromagnétiques ne peut-elle pas éclairer d'un jour nouveau le phénomène du cancer, parenthèse, problème d'émission défectueuse par exemple, et suggérer des thérapeutiques basées sur la détection de ces signaux erronés?
Oui, mais pourquoi le cancer particulièrement? Si on détecte des signaux différents, ne disons pas erronés, mais différents, on dira que ce qui est hautement probable que les cellules cancéreuses émettent des signaux qui sont pas les mêmes que les cellules normales. Là, bon, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire ça. Maintenant, comme on ne comprend rien au processus de cancérisation et qu'on ne sait pas pourquoi une cellule devient cancéreuse, toutes les hypothèses sont possibles. On peut imaginer très très bien qu'une cellule soumise pendant des années à ou un type de cellule ou un organe à des stimulations électromagnétiques, comme le dit l'éditeur, erronées, puisse à un moment donné se mettre à bafouiller et qu'une séquence critique du contrôle de la croissance cellulaire se mette à mal fonctionner. Bon, ben, tout ça, c'est complètement hypothétique et vous savez, c'est comme avant de découvrir le bacille responsable de la tuberculose avait 45 causes. Mais quand on a découvert le bacille, on s'est rendu compte que toutes les causes étaient des causes favorisantes, la pousse du bacille ou le contact avec le bacille, c'est tout. Donc lorsqu'on trouvera, si on trouve une cause unique pour la cancérisation, il est possible qu'il y en ait plusieurs différentes, eh bien on verra bien si à l'origine il peut y avoir un dérèglement électromagnétique. Mais pour le moment, ça peut aussi être la conséquence du cancer. Donc il faut travailler beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on commence par admettre cette biologie, non pas, c'est pas une biologie différente, c'est un point de vue différent sur la biologie. Puisque la biologie, la vie, il n'y a qu'une forme de vie, il n'y en a pas 50. Donc, à partir du moment où on trouvera le moyen d'étudier ce phénomène de cancérisation, eh bien, on pourra essayer de comprendre et voir quel rôle jouent les variations du signal.
Mais il peut sembler qu'à court terme, on puisse établir une liste des produits qui ont davantage tendance à nous convenir que ceux qui nous seraient néfastes. Ça paraît à la portée de main,
Oui, on peut effectivement...
Encore ceux qui sont en résonance favorable, ceux qui pourraient être aggravés.
Oui, mais qu'est-ce qu'une résonance favorable? Il faudrait avoir une bonne expérience des spectres électromagnétiques de chaque type cellulaire, de chaque organe. C'est quand même un énorme boulot avant de décider que, je bois un verre de jus de carotte et puis le signal de mes cellules hépatiques commence à se dérégler. Vous voyez, on n'en est pas là, quoi. Bon, il faut bien comprendre, on en est à l'Antoinette de Blériot. On n'est pas au Boeing ou à l'Airbus qui traverse l'Atlantique en 7 heures avec 300 personnes à bord, quoi. Mais si on n'avait pas eu l'Antoinette de Blériot, il n'y aurait jamais eu l'Airbus.
Vous parlez de jus de carotte. Comment peut-on envisager, espérer, ou faut-il carrément renoncer à transformer un liquide en jus de carotte en lui passant les fonctions du jus de carotte d'origine?
On m'a posé la question pour le whisky ou pour le porto. On pourrait imaginer à un moment donné qu'on ait des systèmes suffisamment puissants pour qu'on fasse des ersatz. J'espère qu'on le fera jamais, parce que si on veut prendre du jus de carotte, on n'a qu'à prendre des carottes et puis en extraire le jus. C'est encore bien meilleur. Mais on peut imaginer effectivement qu'on puisse reproduire des odeurs. Les odeurs, c'est jamais qu'une molécule qui envoie son champ et qui corrésonne avec un système récepteur très sensible. On pourrait d'ores et déjà travailler sur le sujet si on trouvait les collaborations. Les phéromones, par exemple, aussi. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à synthétiser des choses plus complexes. C'est pas impossible. C'est vrai que quand on imagine les premiers ordinateurs, en 45, avec qui tenaient dans un immeuble avec un système de refroidissement, et qui était beaucoup moins puissant qu'un petit portable qu'on transporte maintenant en bout de bras. Les choses vont vite, quoi. Mais d'abord, il faut débloquer la communauté scientifique et montrer que c'est un résultat scientifique comme un autre. On n'en est pas encore tout à fait là.
Et quel est le rôle, l'importance du stress dans un changement vibratoire? Est-ce qu'il est profitable jusqu'à un certain point? Est-ce qu'on peut le voir dans une courbe? Et puis, carrément franchement nocif, passer un cap?
Vous anticipez, là, encore une fois, vous me posez une question qui présuppose que je peux analyser les signaux et les comparer les uns aux autres. Et dans l'état actuel des choses, je ne peux pas le faire. Donc je suis incapable de répondre à votre question. Mm-hmm. Incapable. D'autant qu'il y a stress et que... Mais ce sera très 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 intéressant, effectivement, d'avoir sur un écran un spectre fréquentiel correspondant à tel ou tel organe, et puis de créer un stress et de voir ce que devient ce spectre. Oui, effectivement, on n'en est pas là. On n'a pas les outils pour le faire.
Comme, je sais pas, l'adrénaline peut être profitable jusqu'à un certain point et tourner poison.
Mais votre question, ça revient à poser la question à Blériot. Est-ce que vous croyez qu'un jour on traversera l'Atlantique avec 400 personnes dans un avion en 7 heures? Et le malheureux, il vous aurait dit, bah écoutez, pour le moment, j'essaye tout seul de traverser le Pas-de-Calais. Alors, vous savez, votre question, moi, je peux pas répondre. Oui, c'est peut-être possible si on fait des avions de plus en plus gros avec des moteurs de plus en plus puissants. Pourquoi pas? Ben voilà, c'est ce que je vous dis. Si un jour on a du matériel plus puissant, pourquoi pas?
C'est parfait. C'est déjà très très ouvert d'en être pour ce soir un pourquoi pas plutôt qu'une porte systématiquement fermée comme quelques Nobel récents en font profession.
Non, pas récent, pas récent. Parce qu'en France, ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu, ou 35 ans qu'on n'a pas eu un prix Nobel en médecine. Alors,
c'est-à-dire, ce n'est pas possible parce que j'ai décidé que je n'avais pas le temps de m'y pencher, par exemple.
Voilà.
Alors, une autre intervention sur le chatroom. Il paraît que les champs magnétiques alternatifs de 50 Hz bloquent le phénomène de mémoire de l'eau. Est-ce vrai? Si oui, cela signifierait-il qu'ils bloquent aussi les phénomènes de co-résonance qui ont lieu dans notre corps, vu que nous sommes câblés EDF partout dans nos murs?
Oui.
Dans des champs de 50 Hz, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, ça revient à poser des questions du genre, si je prends un pain de dynamite et que je le mets sous ma maison va sauter en l'air, va exploser, est-ce que je peux faire sauter la terre? Il faut un petit peu plus de dynamite. Disons que lorsque nous avons fait ces expériences in vitro, nous appliquions un champ de 50 Hz, parce que c'est pratique, c'est fourni effectivement par maman EDF, mais avec une puissance tout à fait considérable, qui est l'équivalent de 300 à 400 gausses. On dit Oersted parce que c'est des champs oscillants, mais c'est des gausses. Donc un très fort aimant déjà. À aucun moment, aucun d'entre nous ne se trouve au contact de champs de ce type aussi puissant. Alors, sauf dans des conditions bien précises où les appareils sont au contact direct de la peau. Alors, on peut imaginer, ça fait des années que les compagnies d'électricité américaines recommandent de ne pas utiliser régulièrement des appareils où les champs sont au contact de la peau, par exemple un rasoir électrique, voire même une brosse électrique, brosse à dents électrique, etc. Mais tout cela n'est pas démontré. On n'a pas montré qu'un rasoir électrique ça crée des dégâts. C'est une précaution, mais on n'en sait rien. Donc disons que tous ces champs existent, sont des champs 50 Hz, mais sont très faibles, et que par conséquent, encore une fois. Si vous êtes à 5 mètres du lieu d'explosion d'un pan de dynamique, vous risquez de vous faire tuer. Si vous êtes à 50 mètres, ça sera déjà beaucoup mieux. Si vous êtes à 5 km, il se passera rien. Et c'est pourtant la même dynamite qui a explosé. Donc c'est une question de puissance par rapport à l'organisme. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas incriminer les champs de 50 Hz dans la survenue de maladies quelconques.
D'accord. Donc vivre au centre d'un petit studio cerné par une ligne électrique d'alimentation sur 50 Hz, c'est pas...
Non, l'exemple aussi, c'est le radar. Il y a des gens qui vivent à proximité des aéroports et qui, donc, il y a des radars qui tournent. Alors, les opérateurs radars ont des leucémies et des cancers. Ceux qui sont sans arrêt au contact, il y a des précautions très importantes qui sont prises maintenant parce qu'on a détecté dans le temps des... Bon, je suppose que maintenant, on a trouvé des systèmes pour les protéger. Mais eux, ils sont au contact de l'émetteur, quoi. Donc il y a une puissance tout à fait considérable. À distance, il y a plus rien. Donc, il se peut que dans certaines circonstances, et en particulier, il y a des gens qui travaillent sur des courants de très très faible intensité, notamment des courants de retour à proximité des voies de chemin de fer, et qui décrivent des problèmes qui peuvent être importants. Mais encore une fois, cela ne fait pas l'objet d'études suffisantes et on ne peut pas affirmer que dans l'état actuel des choses, c'est réel ou ce sont des possibilités qui ne se traduisent pas dans la réalité.
Ce qui pourrait nous amener aux ondes pulsées, que dites-vous d'un signal, est-ce que vous le trouvez plausible, un signal de 26 ou 27 Hz, aurait-il pour effet de favoriser l'alignement protéinique, par exemple?
J'en sais rien.
Non. Non, c'est aussi une question de message, de transmission de message.
qui chante sa petite mélodie. Non,
je déborde largement de ma sphère de compétence ou d'incompétence.
Pourtant, les ondes pulsées, vous connaissez
bien. Oui, bon, d'accord, les ondes pulsées, oui, mais je n'ai pas personnellement l'expérience de ce type de résultat. Donc, il faut demander ça à des spécialistes de ces problèmes.
Très bien. Alors, qu'avons-nous sur le chatroom ? Il faut rafraîchir cette page en permanence. Non, effectivement, rien de neuf, on en est au champ alternatif de 50 Hz. Voyons, côté standard téléphonique, 01 45 75 44 44.
Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, le 01 45 75 44 44 est libre. Et nous accueillons Marie-Christine. Marie-Christine, bonsoir.
Oui, bonsoir. Et merci d'avoir fait cette émission. Moi, effectivement, j'aurais une question à poser, mais je crois que ça a un peu à voir avec les sorcières sur leur balai. Mais en tout cas, j'ai déjà entendu sur Ici et Maintenant plusieurs personnes dire que elle guérissait des animaux, notamment en mettant simplement la main sur eux, et c'était souvent des gens qui avaient honte de ça parce que ils avaient peur d'être pris pour des bizarres ou des fous, etc. Est-ce qu'on peut considérer que ces gens qui peuvent guérir les, par exemple, des animaux, enfin qui ont cette espèce de don de guérison, pour autant qu'on puisse y croire, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des gens qui auraient une faculté particulière de percevoir les émissions électromagnétiques des cellules, etc., et qui seraient, un peu comme des gens qui sont doués pour le calcul mental et qui calculent les racines carrées de n'importe quel nombre très rapidement. Est-ce que ça pourrait être de cet ordre-là ? Est-ce qu'on peut interpréter ça comme ça ?
Oui, eh bien, il y a deux étapes à votre question. La première, c'est de savoir si ce qui est décrit, ces actions thérapeutiques, notamment par imposition des mains, c'est vrai, ça existe vraiment, ou si, comme le disent certaines personnes très rationnelles, ce ne sont que des supercheries. Encore une fois, je vous rappelle que moi je suis un médecin tout à fait classique, et je peux vous dire que j'ai été en contact avec des médecins aussi classiques que moi, qui avaient parfois des hautes responsabilités, et qui m'ont dit, bon, maintenant que j'ai pris ma retraite, je peux le dire, dans mon service, lorsque j'avais un problème, je faisais venir un guérisseur qui faisait ci et ça. J'étais en contact moi-même avec des gens qui, dans des situations très précises, que sont les zonas ou les brûlures, ont, semble-t-il, un effet qui ne peut pas être simplement rapporté à un effet placebo. J'ai été en contact récemment aux États-Unis avec quelqu'un qui fait l'objet d'études tout à fait officielles par des organismes importants. Et j'ai pu voir sur moi-même qu'il m'a décrit des petites pathologies que je ressentais et que, à aucun moment, je lui avais communiqué. Donc, il y a certainement des gens qui sont capables de percevoir, inconsciemment parfois, mais sans expliquer exactement ce qui se passe, des situations que la plupart d'entre nous ne pouvons pas percevoir. Et comme vous l'avez dit, c'est vrai, il y a des gens qui peuvent faire un calcul mental, il y en a d'autres qui ont des oreilles absolues, et alors que moi, par exemple, je me concerne, je suis incapable de distinguer une note d'une autre. Voilà, donc on peut admettre ça, c'est pas absolument impossible, et c'est pas impossible que ce soit lié à la perception de champs électromagnétiques de faible intensité qui sont émis par les uns et par les autres, et que peut-être dans le futur on se décidera à étudier d'une façon sérieuse ce genre de choses. C'est pas, ça ne me paraît pas farfelu, ça n'est pas démontré, mais c'est possible. Et ce que nous décrivons, c'est-à-dire le fait que l'organisme soit un véritable enchevêtrement de signaux, de milliards de signaux qui se déroulent en même temps et qui permettent d'assurer les liaisons entre les différentes molécules, on peut laisser penser que certaines personnes puissent, si vous voulez, ressentir des influences qui portent sur ces systèmes alors que d'autres ne peuvent pas. C'est pas à rejeter complètement, c'est à étudier sérieusement et à ne rejeter que si on a la preuve que ça n'existe pas, mais pour le moment on n'a une preuve ni dans un sens ni dans l'autre.
Et auquel cas les gens qui auraient ce don de guérison, en fait, ce seraient des gens qui auraient le don de faire passer à la personne qu'ils guérissent ou à l'être qu'ils guérissent la bonne vibration, enfin la vibration nécessaire pour guérir la maladie.
C'est possible. Alors cela dit, moi je suis tout à fait convaincu que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, il y a infiniment plus de gens qui soit s'illusionnent eux-mêmes de bonne foi, soit sont tout simplement des charlatans et racontent n'importe quoi. Et comme vous le savez, on donne n'importe quelle molécule placebo à quelqu'un et on a toujours 30 à 40% d'effet dans la plupart des malaises qui ne sont pas majeurs. Bon, on n'a pas ça dans l'infarctus aigu ni dans un cancer. Mais dans beaucoup de d'essais, on a un effet considérable de l'effet placebo. Et là, on se trouve avec ces histoires de guérisseurs, d'imposition des mains, tout ça, dans une situation très favorable pour avoir un effet placebo. Donc, probablement, ça existe aussi, ça joue un rôle. Mais à part cela, sur le plan du diagnostic, à deux occasions, et dans un cadre tout à fait officiel dans un pays étranger, j'ai pu voir qu'une personne était capable de se rendre compte, par exemple, de douleurs qui n'avaient pas été exprimées et que cette personne ressentait. Et quand je lui ai demandé, mais comment savez-vous que moi, j'ai, en l'occurrence, s'agissait d'un mal de tête banal et que mon ami qui avait un peu trop couru mal aux jambes, eh bien, il me dit, je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Voilà, c'est comme ça. Et c'était tout à fait exact. Donc, moi-même qui suis extrêmement rationnel et un tenant de la médecine tout à fait classique, que je suis obligé de reconnaître qu'il y a des tas de zones que nous ne comprenons pas encore, et ça se comprend qu'on ne comprenne pas, puisque je vous rappelle que la recherche scientifique, ça date de deux siècles. Imaginez la connaissance que nous aurons dans 20 siècles, et on verra bien que beaucoup de choses que nous croyons vraies seront fausses, et beaucoup de choses que nous croyons fausses seront vraies.
Oui.
Voilà.
Oui, la dernière partie de ma question, c'est est-ce qu'en fait on peut considérer ces guérisseurs dans le cas où ils existent, etc., comme des émetteurs en fait de vibrations bénéfiques ou de d'ondes bénéfiques, d'ondes électromagnétiques bénéfiques permettant de lutter contre les maladies.
Oui, enfin, cela dit, à partir du moment où je vous répondrai oui, il faut bien admettre que le mot bénéfique est de trop, parce que si on a un effet c'est ça qui me choque souvent dans les prétentions d'un nombre de gens, c'est que quoi qu'ils fassent, tout va toujours pour le mieux. Les gens qui vous vendent des appareils, qui font ci, qui font ça, ils n'ont que des effets bénéfiques. Tout va bien. Bon, ben, quand on a un effet biologique, on doit avoir un effet bénéfique, puis de temps en temps, on doit avoir un effet qui n'est pas bénéfique, parce que sinon, c'est pas possible que le système soit assez intelligent pour savoir qu'il doit s'arrêter à tel niveau qui fait qu'on va guérir et ne pas être aggravé. Ça paraît absurde. Bon, mais cela dit, bon, moi j'ai moi-même fait des expériences tout à fait claires, démontrant que certaines personnes sont capables d'émettre des champs électromagnétiques. Ce sont des expériences qui sont faites dans des conditions qui sont absolument indiscutables. Mais elles sont très rares, et beaucoup moins fréquentes que certains veulent le dire. Bon, un homme comme le professeur Rocard s'était beaucoup intéressé à ces phénomènes, et son livre sur le sujet est tout à fait passionnant. Et permet d'imaginer qu'effectivement, il y a des gens qui sont plus sensibles à ce genre de choses que d'autres, et qui peuvent également être également des émetteurs. C'est tout à fait envisageable. Je vous rappelle qu'il y a des machines très sophistiquées qui captent les ondes électromagnétiques du cerveau et s'en servent pour des diagnostics. Donc, on devrait pouvoir admettre que au moins le cerveau et peut-être d'autres organes émettent des champs électromagnétiques. Voilà, mais ça n'expliquera pas tout.
Non, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'arrive jamais à tout expliquer.
Oh, on arrivera à expliquer un jour beaucoup de choses, mais ouais. C'est une asymptote. On s'approchera de la connaissance sans jamais la rencontrer.
Oui, certainement.
Ils vont faire de la philosophie, là. la philosophie à 3h du matin.
Ben, je vous remercie.
Ouais, je vous en prie.
Merci bien, Christine.
Au revoir.
Docteur Benveniste, vous disiez vous-même que dans vos expérimentations, il fallait se méfier de la présence humaine. Certains opérateurs pouvaient, par leur présence, perturber le fonctionnement. Vous faisiez allusion à des comportements d'humeur, d'énervement, de parasites,
non,
de cette
sorte. Non, pas du tout. C'est complètement indépendant de la volonté des gens. Pour le moment, on n'arrive pas à trouver une caractéristique qui expliquerait que ces gens fonctionnent ou ne fonctionnent pas.
Non, non, c'est indépendant.
Bien. On nous demande si vous connaissez le docteur Lambin d'Ostremont et son alerte sur les effets néfastes du portable au niveau des ondes.
Non, je reçois beaucoup de littérature américaine sur le sujet. Il y a un groupe américain qui lutte contre les effets des portables, mais je ne connais pas cette personne en particulier, non.
On nous demande également si vous pouvez nous dire quelque chose sur le système MORA, autrement dit l'utilisation de champs électromagnétiques pour traiter des maladies ou des problèmes fonctionnels. Le système MORA.
Ah oui, bah écoutez, les gens de MORA qui fabriquent la machine MORA, qui repose sur un principe décrit auparavant par un Allemand qui s'appelle Vol. Tout cela repose sur le même principe, c'est l'étude de la résistivité de cutanée, et notamment de certains points qui sont des points d'acupuncture. Donc au niveau des points d'acupuncture, on pourrait détecter, à la fois appliquer des champs et détecter des fréquences. Alors moi je ne pense pas que l'on puisse résumer, je l'ai dit au début de l'émission, une activité biologique complexe, enfin celle d'une molécule, par une fréquence. Bon, c'est vrai que si on ne peut pas caractériser 95.2 par une fréquence, mais par la modulation de cette fréquence. C'est-à-dire qu'il y a une fréquence qui est d'une porteuse à 95.2, et puis si je parle, eh bien, on entend ma voix, et si on joue un disque de musique, on entend la musique. Donc, sur la même fréquence, on aura deux effets complètement différents. Il est vrai aussi que si on balance sur le poste de radio qui reçoit une fréquence de une porteuse de 95.2 très puissante, elle va couvrir, elle va brouiller l'émission et on n'entendra plus rien. Donc on peut imaginer que dans ces conditions, on puisse influencer un système biologique. Si on balance une onde d'une fréquence donnée, on puisse modifier le comportement, peut se concevoir. Alors maintenant, c'est toujours la même histoire, si vous voulez. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus dans mon laboratoire avec des machines MORA, qui m'ont fait des démonstrations que je considérais comme scientifiquement non valables parce qu'elles n'étaient pas faites en aveugle. Et lorsque j'ai demandé qu'elles soient faites en aveugle, les gens sont partis et n'ont plus voulu faire la démonstration. Alors je ne dis pas qu'ils trichaient, mais je dis qu'ils ont peur parfois de se rendre compte, comme nous rendons compte, que nos systèmes ne fonctionnent pas tout le temps. Et j'ai même reçu une lettre un jour de fabricants de MORA me disant « Monsieur, vous avez piqué notre idée, c'est nous qui... » Bon, j'ai dit « Écoutez, moi je serais ravi de citer vos articles, envoyez-les-moi. » Et je ne les ai jamais reçus. Donc je dirais que pour le moment, je ne connais pas de publication d'ordre scientifique démontrant que les gens qui utilisent des machines MORA font exactement ce qu'ils prétendent. J'ai eu moi-même un diagnostic il y a plusieurs années avec une machine de type MORA, et on m'a diagnostiqué un cancer d'évolution mortelle en 6 mois, donc ce qui m'a quand même un petit peu déstabilisé pendant quelques heures ou quelques jours, mais bon, a priori, le cancer en question, il paraît guéri. C'est-à-dire que si on m'avait appliqué une thérapeutique de ce type ou d'une autre, j'aurais été guéri d'un cancer très grave. Oui, il faut se méfier beaucoup de gens qui utilisent ces systèmes complexes sans parfois complètement les dominer. Pour résumer ma pensée, je dirais que si on me propose un article scientifique, même pas publié, parce que c'est difficile à publier, mais au moins écrit, montrant exactement dans quelles conditions on peut arriver à détecter des maladies ou à influencer des maladies comme cela, eh bien, je l'accepterai. Et je peux vous dire que des études très sérieuses ont été faites, notamment en Angleterre, et que peut-être dans un cas on aurait vu un succès diagnostique, mais évidemment ça demandait à être confirmé. Voilà, c'est une histoire très floue, et je pense que les gens qui utilisent machine MORA ne font pas beaucoup d'efforts pour scientifiser leur démarche.
De toute façon, je conçois assez mal qu'on puisse se fier à un seul diagnostic, surtout s'il est grave, sans...
Ah ben là, on m'a annoncé très clairement que j'avais un cancer du pancréas, et que voilà, point final, quoi.
Bien, on s'achemine vers la conclusion de cette émission. C'est vrai que l'heure est assez avancée, on a passé un long moment ensemble.
Alors, oui, pour un vieux monsieur de mon âge, c'est peut-être pas très raisonnable.
Oui, vous me disiez ça en 95 à la même heure.
Ah bon.
Et nous allions continuer une heure de plus. On va pas attendre 7 ans pour se retrouver. Je reproche à votre site de ne pas couvrir l'année 2002. Vous vous arrêtez à un bilan 2001.
Ah oui.
Au moment où la première machine sera à disposition de laboratoires étrangers, c'est maintenant chose faite en 2002. Voilà, je vous encourage à mettre à jour pour vos lecteurs un peu plus souvent.
Eh bien, je transmettrai vos reproches à la personne qui, chez moi, est chargée d'animer le site et qui, bien qu'il travaille 35 heures par jour, n'arrive pas, effectivement, à couvrir l'ensemble. On est une équipe ridiculement petite, de 4 personnes et demie, là où il en faudrait 15 ou 20. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier parfois un peu le site. On n'a pas fait de lettres d'information depuis janvier 01. Mais il faut dire aussi que par quelques détails, il faut bien comprendre que nous faisons toujours la même expérience. On n'a pas évolué. Et que notre seul but, c'est que ces expériences marchent d'une façon tellement régulière qu'on puisse la faire reproduire à l'extérieur. C'est là où le complot, entre guillemets, a réussi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer, en fait, on est encore en train d'essayer de démontrer, 15 ans plus tard, ce qui avait déjà été reproduit, encore une fois, dans 8 à 10 laboratoires différents déjà, mais on est en train d'essayer de refaire la même chose, et toujours d'une façon de plus en plus complexe, et avec des laboratoires de plus en plus haut niveau, afin d'emporter la conviction. Donc on n'a pas grand-chose à raconter, de plus que ce qu'on faisait il y a un an, on fait toujours la même chose. Alors disons qu'on a eu des résultats positifs, intéressants, on a eu des problèmes, mais c'est effectivement pas tout à fait dans notre priorité. Il faudrait qu'on s'y mette un petit peu plus.
Et ces 8 labos vont, tôt ou tard, vous passer comment dans l'automate?
Ah ben non, les 8 labos, ce sont les 3 labos qui ont travaillé en 88 avec moi, et les 5 labos, les 4 labos, dont un l'a fait 2 fois, de l'équipe pan-européenne, de résultats pan-européens, dont on peut trouver un compte-rendu sur notre site. Ces gens-là, ils ont vérifié que notre système fonctionnait, mais c'est pas du tout leur truc, ils travaillent plus dessus. Comme par ailleurs, il faut aussi voir ce phénomène tout à fait extraordinaire, c'est que moi je ne reçois évidemment aucun soutien du monde scientifique institutionnel, mais aucun soutien non plus du monde alternatif. Je reçois énormément, mais 10 par jour, de messages d'encouragement. Bravo mon vieux, ce que vous faites est formidable, continuez. Mais personne ne se mobilise pour, en particulier la communauté des homéopathes qui aurait tout intérêt. Enfin, moi je crois que s'ils réfléchissaient, ils feraient comme avec la GACAN. Vous savez, chaque année on le pesait et puis on lui donnait son poids en or, mais moi il me donnerait mon poids en diamant, parce que si je réussis, vraiment, ça leur apportera quelque chose. Ben, ils sont totalement indifférents.
Non, ils ont entendu 2 siècles, ils s'attendent patiemment que vous fassiez tout le travail.
Oui, j'ai proposé à une firme homéopathique, vous savez, nous on a le moyen de trouver l'activité dans des produits homéopathiques, puisqu'on ne regarde pas évidemment la molécule, mais on détecte l'activité par nos systèmes. Et donc je leur ai proposé de simplement de faire un contrôle de qualité, parce que les homéopathes ont un problème majeur, c'est que c'est la seule activité humaine qui est capable de mettre un produit dans une boîte sans savoir si le produit est dans la boîte. Il n'y a aucun moyen, à partir d'une certaine dilution, s'il y a une erreur, ils peuvent s'en apercevoir. Et bon, je pense que beaucoup d'échecs de l'homéopathie, c'est tout simplement dû au fait qu'il n'y a rien dans les granules. Mais c'est pas de leur faute, ils peuvent pas le savoir, c'est comme ça, ils se fient à un procédé, et puis voilà, ça marche, ça marche pas. Alors nous, nous leur proposons de pouvoir le faire. Et ben, ils nous ont répondu qu'ils pourront faire la recherche qu'à partir du moment où la recherche sera faite, c'est-à-dire qu'on leur montrera que ça marche.
Vous pouvez évaluer la dilution de...
Non, je ne peux pas évaluer la dilution, mais je peux simplement dire, vous avez un produit qui est histaminum ou apis mellifica ou arnica, et ben je retrouve sur mon système l'activité apis mellifica, histaminum ou arnica, ça on peut le faire, puisqu'on dissout les granules dans l'eau, on les passe au système, on les enregistre sur notre ordinateur, et à l'inverse, on peut fabriquer aussi des granules à partir du système d'ordinateur, ce qui simplifierait beaucoup les choses.
Bien sûr. Mais vous avez déposé combien de brevets?
On a déposé 7 brevets sur l'ensemble des choses, pas seulement là-dessus. Mais ça les intéresse pas, et puis en tout cas, il n'y a aucun financement dans ce domaine. Voilà, c'est assez spécial.
Une autre question sur le chatroom de ici-et-maintenant.com. Le professeur de physique français Arsène d'Arsonval utilisait il y a un siècle les champs électromagnétiques pour soigner les gens, enfin il met les guillemets à soigner, oui. Et le médecin Jean Gauthier, quelques décennies après, constatait que cela normalisait l'activité cellulaire. Qu'en pensez-vous?
Voilà, c'est vrai, d'Arsonval a été un des pionniers de l'utilisation des courants électriques plutôt que des champs électromagnétiques. Et donc, c'était des procédés qui étaient très très utilisés dans les années 20. Les médecins utilisaient des procédés comme la diathermie, comme les, c'est tombé en désuétude. Possible que c'était mal étudié ou que finalement il y a eu un peu vertige de la chimie. On a cru qu'on allait tout résoudre avec avec des molécules chimiques, avec des comprimés, avec des produits. Actuellement, on n'en parle plus beaucoup. Moi je ne pense rien comme d'habitude, je ne m'autorise jamais à penser. Déjà sur mes propres résultats, alors sur ceux des autres. Je pense que ce sont des gens que je connais qui utilisent des machines de très haute fréquence, dérivées des travaux d'un monsieur qui a travaillé entre les deux guerres, qui s'appelait Lakowski. Et on trouve des gens qui utilisent des machines Lakowski en ce moment. Et parfois, ils m'annoncent des résultats tout à fait formidables. Alors je dis, c'est très bien, tu vas publier, tu vas nous montrer une bonne série clinique, parce que là c'est facile, il suffit de faire croire aux malades que la machine est en marche et puis voir s'il y a un effet. Pour prendre des pathologies qui sont pas très très graves, quoi. Bon, si quelqu'un vient et qu'il a mal au cou, il peut attendre 2-3 jours si véritablement la machine doit le guérir ou l'améliorer. Et non, je peux pas le faire parce que tout le monde, j'ai pas le temps. Tu vas peut-être me dire simplement combien t'as vu de malades et quels sont les résultats, simplement ouvert comme ça, juste pour avoir une idée. Non, je n'ai pas le temps, et puis tu sais, mon ordinateur est plein, et j'ai pas de place pour entrer ces résultats. Voilà, alors c'est ce type d'attitude qu'on trouve le plus souvent, qui fait qu'on ne peut pas évaluer ces produits, et qu'on trouve trouver la machine Rife, qui soi-disant guérit le cancer depuis 1930, sur le site Rife, essayer de trouver une étude clinique depuis maintenant 70 ans, et ben vous ne trouvez pas. Donc, alors moi je me fais engueuler des deux côtés, quoi, parce que mes collègues, mes ex-collègues du Léviathan institutionnel, des systèmes de recherche, me considèrent comme un illuminé tout juste bon à chevaucher les balais dans les clairières les jours de pleine lune, les nuits de pleine lune. Et puis les autres, comme je leur dis sans arrêt, mais faites de la recherche et donnez-moi des résultats et montrez vos résultats et que je les engueule, ils m'aiment pas non plus. Alors je suis un petit peu embêté là, je suis en panne d'amour, mais je m'en passe très bien, ne vous inquiétez pas.
Néanmoins, on peut vous aider si on était sensible, entre autres à cette émission ou à des publications et des écrits divers, parce que vous occupez la scène depuis tant d'années et... vos supporters sont heureux de voir que vous battez avec constance, avec persévérance. Il y a donc un point de rendez-vous qui est votre site.
Oui. Et je dirais que dans l'autre sens, si les gens ont des informations précises à me donner, hein, pas du genre j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il a entendu quelqu'un qui a dit qu'une machine faisait ci et ça. Mais si des gens ont des résultats que l'on peut montrer, et même entre nous, moi je suis tout prêt à les examiner, et si je peux aider à quelque chose, ce qui n'est pas obligatoire, je suis tout prêt à le faire. Mais on peut pas travailler sur des impressions. J'ai acheté une machine comme ça, et puis depuis, je me sens beaucoup mieux, et ma femme est de meilleure humeur. Ça, c'est pas...
Non, je pensais à des aides concrètes, pour par exemple du courrier.
Oui, bien sûr.
De la mémoire informatique à disposition, si vous avez des...
Non, on n'a pas trop de... Enfin bon,
faut
être honnête, s'il y a des gens parmi les auditeurs qui ont envie de donner de l'argent au Téléthon, on préférait qu'ils nous le donnent à nous, quoi. Ça me paraît plus intéressant et moins, en tout cas, moins sujet à caution. Non, on a surtout besoin de petits, de gros investisseurs, de soutien matériel pour faire tourner une boîte qui coûte pas très cher, mais surtout besoin de ça. Il faut pas se raconter des histoires, quoi.
Par rapport qu'après avoir quitté l'INSERM, là, tout récemment, vous êtes en train de faire le premier pas avec un nouveau démarrage dans le domaine privé. Donc, on va bientôt voir des étincelles.
Ah ben, ça fait longtemps qu'on a démarré, là. On a fondé la société en 97.
Vous étiez parallèle dans les deux domaines, hein.
Non, moi, je travaillais comme chercheur INSERM, recevant de l'argent d'une structure privée comme l'immense majorité des chercheurs maintenant. Mm-hmm. Donc, c'était un système tout à fait classique. J'en avais averti l'INSERM. Le sujet ne les intéressait pas. Lorsque j'ai pris des brevets, je suis fonctionnaire, j'ai averti mon administration. Et quand j'ai eu un refus de prise en compte des brevets, je les ai pris moi-même. Mmh. Donc voilà, Donc la société nous tient, jusqu'à une période récente, on avait jusqu'à il y a 2 ans plus d'investisseurs qu'on pouvait donner d'actions. Mais depuis 2 ans, c'est de plus en plus difficile.
Et pour ceux qui ne disposent pas d'Internet, mais sont bien intentionnés, est-ce qu'il y a une adresse postale ?
Bah oui, il y a une adresse postale qui est à mon nom, 32 rue des Carnets, comme un carnet, 92-140 Clamart. Mais franchement, qui ne s'attendent pas, s'il y a des gens qui m'envoient parfois des lettres de 18 pages... très bien faite, très intéressante, mais que j'ai parfois même pas le temps de lire et que je pose sur mon bureau. Et je dispose pas de secrétariat et moi-même, je devrais travailler un peu moins que je le fais et on n'arrive pas à faire l'ensemble de ce qu'on a à faire. Donc ils s'attendent pas à ce que... Le l'email est quand même intéressant parce qu'on peut taper 3 mots en disant merci pour votre lettre, et puis là, pouf, ça part et puis on n'en parle plus. Mmh. Une lettre, c'est plus compliqué. Donc si vraiment des gens ont des choses importantes à dire, ils peuvent le faire. Mais je crois qu'actuellement, la plupart des gens qui sont un peu actifs et ont accès maintenant à ordinateur, ils peuvent envoyer un courrier.
Donc éviter les questions, apporter plutôt du concret, apporter plutôt des solutions.
Oui, non, les questions sont intéressantes, mais enfin, encore une fois, moi, je suis pas pique de la mirandole et je peux pas répondre à absolument toutes les questions qui sont posées.
Très bien.
Voilà, ben on va peut-être terminer là. Je pense que il est l'heure de...
Oui, il est 4h de moins. Vous venez de rentrer dans le studio et voilà ce que ça donne. C'est maintenant que nous commençons la boucle. Pour non seulement ceux qui étaient à l'écoute depuis le début, mais qui ont besoin de se l'entendre dire 2 fois, c'est comme la relecture d'un bon bouquin. On comprend toujours davantage de choses la 2e fois en disant, tiens, ça m'avait échappé la première. Alors, vous travaillerez plus tard demain, c'est pas grave. Jusqu'à 7h du matin, nous sommes toujours en compagnie de Jacques Benveniste. Mais ça reprend, là, juste maintenant. Vous êtes à l'écoute d'ici et maintenant. Alex à la réalisation, Didier Deplège pour la présentation. Notre invité, le docteur Jacques Benveniste et son site internet pour communiquer avec lui, rester en contact avec lui, c'est www.digibio.com. Digibio.com. À bientôt.